journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est DJ Marius qui vous parle. Nous sommes le dimanche 27 avril et il y a un an maintenant, je faisais ma première présentation façon DJ Boîte de Nuit Nightclub Super Délire. Afin de fêter l'événement, je remets ça avec un peu de réverb dans la voix et une musique Disco Night. Ce soir dans la boîte, elle monopolise autant le bar que la piste de danse. La sueur dégagée par ses mouvements frénétiques coule le long de son corps façon chute du Niagara. Le week-end dernier, elle a gagné un autocollant Camel et une boisson gratuite, j'ai nommé Didouille. Il est ici pour votre sécurité, impassible, discret, relié par son kit oreillette, toujours impeccable dans son complet noir. Il sait repousser les assauts des jeunes midinettes qui le regardent avec envie, car sous ses allures de bodyguard, c'est un homme bien. J'ai nommé Freddy Panembrouille.
Salut.
Il est présent le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi afin de rentabiliser au mieux sa carte membre de club exclusif, cotisation annuelle de 775 euros qui lui donne droit à l'entrée et une consommation gratuite le jour de son choix. Le week-end dernier, il a gagné en dansant sur un cube pendant plus de 2 heures d'affilée, 2 consommations et un t-shirt. Dieu de la nuit, j'ai nommé Christophe.
Waouh, bonjour.
Il a mis un an à être accepté dans l'entrepôt Night. Il se présentait toujours chaussé de baskets d'un goût douteux, d'un col roulé jaune moutarde et d'un pantalon pince bleu pétrole, au père, qu'on ne fait même plus tellement c'est pas beau. Le dernier week-end, il n'a rien gagné. Mister Lulu,
je t'emmerde.
L'invité du jour va être surpris par ma présentation énergique et un peu loufoque. Lui qui est plutôt habitué des ambiances feutrées, douces, calmes de sa boutique, le rêve de l'escalier. Où rencontres de lecture et mini-concerts font de cet endroit un point d'arrêt emblématique de la rue Cauchoise. J'ai nommé Monsieur Rêve. C'est à elle que je vais vous adresser pour commander vos boissons, bouteilles de champagne et autres cocktails. Quand elle entend dans les enceintes Patrick Hernandez chanter Boy to be alive, elle monte instantanément sur le bord de son bar et une mini émeute éclate pour que Freddy, pas d'embrouille, essaie de la canaliser. J'ai merdé, j'ai nommé Starlet. En un an, il a su gérer les soirées les unes après les autres. Il a distribué pas moins de 114 consos gratuits Marlboro, Malibu Orange, 54 autocollants Marlboro, 23 sweatshirts Camp, sa capuche jaune canari. Et pour les plus chanceux, un pare-soleil bleu nuit à coller sur son pare-brise afin de se protéger des rayons du soleil, offert par la maison Gaulle Louveau. Appât, verre de terre et canne de pêche de qualité, Louveau, les hameçons qu'il vous faut. Je lui laisse la parole et lui souhaite un bon anniversaire pour cette première année podcastique. J'ai nommé Nico.
Ouais.
Merci, wow.
Les enfants, la drogue, c'est mal. Hein. Déjà, je vais prévenir tout de suite.
Alors, moi, j'adore cette présentation qui est juste complètement fausse, puisque ça fait pas un an qu'on enregistre. Le premier enregistrement était.
Ah bon?
L'épisode 1 doit dater du mois d'août, je crois.
Et je n'ai jamais.
Ouais, mais c'est. Je peux le refaire.
Boy to be alive n'a jamais été un tube, Marius.
Et parce que Starlet et moi, on peut lire le texte en même temps. Et on lit
à
Boy
fois...
to be alive.
C'était quoi? Il est quoi?
Boy to be alive.
Boy to be alive.
C'est oui, c'est la version c'est... des Village People. Bon,
c'est Born. Ah oui. Ouais, ouais, mais pourtant, j'ai fait des recherches sur Internet, comme d'habitude.
Mais puis moi, je Boy pense pas puer la sueur comme ça.
Tu moi, j'ai pas dit que tu sentais la sueur. J'ai dit que tu dégoulinais la sueur. Comme la guerre.
Bah écoute, Marius,
ça y est, j'ai retrouvé un voix normale.
Très très belle présentation, oui, je termine.
Ah ouais, voix normale.
L'anniversaire, on peut le refaire?
On le refera en août, pas de soucis.
En août, je peux refaire la même avec ma voix de crooner. Et,
ouais, de crooner.
Bon, ouais, crooner. Non, DJ,
discutera.
DJ.
Alors, on discutera du crooner. Bah encore, merci Marius pour cette présentation que t'as dû bosser à fond.
Ah non, j'étais dessus cette nuit.
Bien rigolo, donc bah. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Entrepode, donc qui n'est pas celui de l'anniversaire ou de quoi que ce soit. On a le numéro 8, mais c'est déjà pas mal. Hein, mais
c'est bien planté sur ce coup-là encore. Mais...
Non, ça mais fait un an qu'on a lancé le projet, mais on a mis quelques mois avant de le bon, bref, de concrétiser. Donc, comme l'a dit Marius, aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité, donc la personne de Mickaël Ferron.
Ah mince, il vient de dévoiler mon identité.
Ouais,
mince alors. J'ai mis 10 ans à avoir un pseudo. Et...
Ah mince, bah, quelques secondes. Ça se coupe au montage. Il faut vraiment garder une...
non, du tout.
Un anonymat.
D'ailleurs, comment doit-on t'appeler?
On m'appelle Monsieur Rêve dans le cadre de la boutique de ou à l'extérieur de la boutique. C'est un bon moyen aussi de se mettre derrière. Oui, parce que Monsieur Grognon, ça aurait fait.
C'est clair. Oh non, non, monsieur Grognon, il est à ma gauche.
Ah, ça y est. Il fallait rentrer dans le truc. Là, ça va y aller. On chauffe un peu. Là, voilà. Un peu d'échauffement, non, et ça va être bon.
Donc, ben, pour ce, au sommaire de ce numéro, on va retrouver un petit peu, comme d'habitude, un retour sur les épisodes précédents. Donc, je pense que ça va être assez rapide. Ensuite viendra le moment d'actu habituel, un petit tour d'actu. On échangera avec notre invité, donc Mickaël, sur justement ses activités professionnelles et ses passions. Viendra le moment de la rubrique à briques, au cours de laquelle on présente un focus sur des sujets spécifiques. Ce mois-ci, c'est pas Starlet qui a testé quelque chose pour nous, ce sera Didouille qui est allée faire un tour de l'autre côté de la Manche et qui nous racontera ce qu'elle a ramené avec elle. Comme à son habitude, Freddy nous a concocté un petit quiz. Et enfin, ce sera le moment des coups de cœur et des coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono. Et puis, bah, pour pas y couper, Monsieur Lulu nous a présenté un petit sujet de choix.
C'est
poste,
pas faux.
Post-générique. Patrick se rapproche toujours de plus en plus de la falaise, mais oui. Il ne veut pas sauter le bougre.
Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est un sujet plutôt campagnard cette fois-ci.
Oui. Voilà.
Et que pour une fois, ce sera bien chanté.
Ça sera. Ça se discute, oh. Mais bon.
Mais nous y reviendrons plus tard.
Eh bien, après cette petite présentation, je vous propose de passer directement au retour sur les épisodes précédents. Donc pour ces résumés, sauf erreur de ma part, personne n'a de choses à dire à part moi.
Si, on a plein de trucs à dire, mais en fait, on n'a pas eu le temps.
T'as pas rempli le conducteur, toi.
Si, j'ai rempli
ça
ce matin.
Ça s'est passé sans le vouloir, c'est ça?
C'est vrai, non.
Et tu fais ça tellement bien.
Avez-vous des sujets, vous, de votre côté, sur les épisodes précédents, des compléments ou quoi que ce soit?
Rien.
Non, je tourne de
on a juste passé un très bon moment.
T'en as plein, vas-y.
Moi, j'en ai quelques-uns, ouais, comme d'hab, donc essayez de ne pas perdre de temps. Je voulais déjà revenir sur Inoxydable de Steve Baker notamment, mais aussi de Sébastien Floch, que Freddy nous a présenté lors du précédent épisode. Alors moi je suis allé l'acheter dans la foulée en fait, et j'ai bien aimé. Je sais pas si d'autres l'ont lu, mais j'ai trouvé ça vachement sympa, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Alors quelques réserves sur la narration de mon côté. Je trouvais que c'était pas toujours très très fluide à mon goût dans l'enchaînement des sujets. Ça passait un petit peu rapidement d'une séquence à l'autre, un enchaînement en fait. Mais bon, et puis la fin qui m'a un petit peu laissé sur ma fin. Mais bon, c'est rien de très très grave parce que ça se lit quand même de façon très sympathique.
De quoi tu parles là?
Inoxydable.
Ah, Inoxydable.
Putain, mais alors...
j'ai eu un blanc.
Ouais, dis-moi. Et par contre, pour le dessin, j'ai trouvé vachement sympa. Je suis très très fan des couleurs, notamment de certaines planches qui sont vraiment très jolies dans
du changement d'univers, du passage d'une page à l'autre justement. Ouais.
Et avec justement des thématiques chromatiques par page, et c'est vachement sympa quoi.
C'est ça, c'est ce que je voulais dire en fait.
J'ai juste le placement de la bouche de temps en temps du personnage principal qui me déstabilisait. Après c'est des détails qui me bloquent, mais de temps
en temps.
Il
a mis la bouche où?
Tu te dis,
il l'a mis sur le front, alors forcément c'était moins.
Mais ouais, ça reste du détail. Hein. Je te le passerai, Christophe. Tu te dis,
ouais, ça m'intéresse.
Mais c'est du détail, hein, franchement, parce que le truc est vraiment sympa. Puis j'ai envie de découvrir un peu plus ce que font justement ces deux auteurs, parce que je les connaissais pas. Est-ce que tu nous en parles? Donc c'était intéressant. Toujours dans le rayon BD, je me suis offert aussi la BD, le premier tome de Siegfried dont nous avaient parlé les frères Valentin la dernière fois. Donc Siegfried, c'est une histoire mythologique nordique, donc réalisée par Alex Alis, qui avait travaillé notamment sur le Troisième Testament, que tu avais lu, je crois, avec Xavier Dorisson.
Oui.
Dorisson, je ne sais pas. Et c'est une série en trois tomes, et j'ai lu le premier, qui est vraiment très sympa. Pareil, je l'ai ici, si tu veux, Christophe, ou
ah oui,
qui d'autre.
Ça m'intéresse.
N'hésitez pas. Je veux bien vous le prêter, il n'y a pas de souci.
Eh, plutôt que de prêter tes livres à tout le monde, tu peux envoyer les acheter chez Monsieur Rêve aussi.
Oui, je ne sais pas s'il est. Si tu fais du.
Oui, on fait de la BD. On fait un...
Ah, même beaucoup de BD comics.
Oui, ouais, ça tourne pas mal. Ça tourne pas mal. On fait de la BD.
C'est une première accroche sur laquelle, voilà, Freddy, on rebondira tout à l'heure, il nous rentrera dans le détail, effectivement. Mais
je fais gaffe, j'ai mon gamin qui a repéré des trucs et déjà il est là.
C'est ça. Mais effectivement, je ne sais pas si ce que je viens de citer, tu les as lus toi-même.
J'ai pas encore lu hein, Steve Baker. J'ai lu quelques pages. Je trouve ça vachement intéressant au niveau du graphisme. En termes de narration, je pourrais pas dire exactement l'histoire, mais je trouve ça vachement intéressant. J'ai vu passer ça aussi pas mal sur Internet, parce qu'au fur et à mesure, il a fait des petits teasings, et je trouvais ça bien aussi d'accrocher les gens à la future BD.
Mais vraiment, moi, le conseil, c'est vraiment sympa en fait à regarder quand même. Et puis donc le dernier sujet BD que je voulais aborder, c'était par rapport au coup de cœur que nous avait fait Ludo lors de l'épisode avec Jean-Edouard, qui était Lock and Key.
Ah oui.
Et dont le dernier tome est sorti il y a une dizaine de jours maintenant, et que j'ai dévoré jusqu'à la fin. Et bon,
t'as
fini de bout en bout, c'est une série. Enfin, Moi, le dessin, j'avais pas forcément accroché sur le premier tome. Je dirais les visages me dérangeaient, et je trouve que sur la fin, là, les derniers tomes sont vraiment excellents.
Et sans révéler quoi, sans rien dévoiler, la fin est intéressante.
Zéro spoiler là.
Je te dirais que la fin, contrairement, paradoxalement, à ce que j'ai dit sur Inoxydable, là, il y a pas de goût d'inachevé. La boucle est bouclée. Enfin, ça se termine. Pour moi, c'était.
Mais la fin, toi, t'as plu.
Oui. Après, c'est subjectif, mais
c'est dommage qu'elle se fasse décapiter quand même.
Qu'on appelle tout ça le pharmacien et laquelle, pas la violoniste, comme on pensait tous en fait.
Oui, voilà.
Donc, un autre petit, autre petite chose que je voulais vous présenter, c'était par rapport à un de nos précédents invités également, qui n'est autre que Gaëdic Chambrier, puisque Gaëdic a sorti avec sa compagne. Eleanor Billy, son premier album, enfin oui. un album en tout cas, je ne sais pas si c'est le premier.
Bah Nico, on te sent un peu en galère là.
Que j'ai ici. Tu veux méchant bordel. Donc,
j'ai écouté également.
Tu l'as écouté alors?
Ouais.
Donc, ce que j'ai trouvé original, alors clairement, c'est pas la musique que moi j'écouterais naturellement comme ça. Mais ce que je trouve original, c'est la découverte de nouvelles sonorités. Ça a un côté médiéval nordique un petit peu.
Oui, enfin moi j'ai trouvé que le côté médiéval était pas trop prononcé, c'est ce qui me faisait peur, oui.
Ah moi je trouve beaucoup par contre. Ah bon, c'est marrant.
Ouais, moi j'ai pas senti.
Mais ça se rapproche un peu de Korn, non?
Arrête un peu avec ça, putain. Donc par exemple, c'est Eleonore, je crois, qui utilise des instruments que je ne connaissais pas, donc notamment le nickel harpas alto et ténor ou un hard Dingfell.
Enfin, c'est très connu, tu dis des conneries. Voilà,
mais je pense que tu les connaissais pas parce que je sais même pas les dire non plus.
Non, voilà, c'est clair, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça sympa. Puis bon, j'ai une petite dédicace sur le boîtier, donc c'est toujours sympa. Et puis d'avoir un petit retour, oui.
Non, juste pour les instruments, je crois que c'est dans l'épisode 42 de Game of Thrones, deuxième saison. Et juste, je vois sur la jaquette justement de ce groupe que je ne connais pas, puisqu'il vient juste de sortir son EP, je pense, ou c'est un album.
C'est un album.
Qui en a invité spécial Jean-Philippe Viré, qui est vraiment extraordinaire, qui avait fait un album sublime qui s'appelait Le Temps qu'il faut. Et c'est vraiment super, c'est vraiment une grosse pointure et j'ai hâte de découvrir.
Bah écoute. Ça a quand même un petit côté voilà.
Oui, mais globalement, sur la totalité de l'album, je trouve que ça a plus un côté celtique, nordique.
Oui, c'est vrai.
Que médiéval.
Mais
c'est,
bon, un, peu,
c'est un point de
c'est
vue.
C'est un peu les visiteurs en Norvège, quoi.
Exactement. Okay. Chacun a les références qu'il peut sortir.
Moi, je trouve ça vachement moderne, c'est ce que je disais. C'est des vieux instruments, mais je trouve que ça fonctionne très bien.
Oui. Et puis bon, ça donne envie de voir un peu comment il manipule ces instruments, parce que quand on va un peu sur les pages d'Octantrion, etc., on voit quand même ces instruments qu'on ne voit pas tous les jours. Et donc c'est assez intéressant à découvrir. Voilà, bon, bah, pour information, vous pouvez avoir plus d'infos sur le site d'Octantrion pour voir quelques vidéos ou acquérir le CD. Voilà. Et puis un dernier petit clin d'œil pour un de nos précédents invités, donc c'était pour Anthony Quindroit qu'on avait invité. Je crois à l'épisode 3.
Ah oui, moi aussi, j'ai trop pensé à lui. Ah. Avec l'incendie qu'il y a eu à Valparaiso.
Oui,
ça m'a tout de suite renvoyé.
Par exemple, d'ailleurs, il a pas mal communiqué dessus sur Facebook à faire suivre un petit peu les sujets. Moi, c'était pour autre chose, c'est plus pour son actualité hors Chili. Puisque Freddy. Pas Freddy. Bon, ils sont tellement proches.
Freddy est pas l'embrouille.
On n'est pas emboîté non plus.
Parce qu'Anthony, justement, c'est pas qu'un passionné du Chili, c'est aussi un grand passionné de cinéma. Et d'ailleurs, depuis quelques semaines maintenant, oui, parce qu'il est au numéro 15, il anime une petite rubrique vidéo hebdomadaire sur les sorties DVD ou Blu-ray d'ailleurs, pour les films et les séries. Et donc, les vidéos sont disponibles sur le site du Paris Normandie, donc le journal dans lequel il travaille. Donc, c'est plutôt sympa, ça dure pas très longtemps. Puis en plus, ça donne régulièrement envie de visionner les œuvres qu'il met en avant. Ça donne un petit coup de frais salvateur pour ce site qui en a bien besoin.
Oui, c'est de plus en plus drôle. On sent qu'il est de plus en plus à l'aise. Il se lâche un peu et du coup, moi, ça me fait.
Il nous a fait une petite imitation de Gollum l'autre jour qui était plutôt sympa. Là, sur le dernier encore, qui était pas mal aussi.
Mon précieux.
Oh, bien.
Ouais.
Ah, j'y ai cru.
Il le fait très bien. Du coup, maintenant, un petit retour aussi sur les commentaires de nos auditeurs, parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent. Non, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais remercier un peu tous ceux qui nous font des retours, que ce soit positifs, mais aussi ceux qui nous font part des points d'amélioration, parce qu'il y en a aussi, et puis on en a certainement aussi besoin. Comme par exemple la partie d'interview qui mérite d'être un petit peu plus peut-être cadrée en termes de timing et de rythme. Du coup, là, on va essayer d'être un petit peu plus rigoureux dans la...
C'est mal barré
sur,
quand même.
Sur la forme.
Entre la présentation.
Ok, bah à bientôt. C'était une petite révision.
Attendons de voir.
La pression.
Puis, on va essayer donc d'avoir un petit, un peu plus de fil conducteur et pas avoir un brainstorming de questions qui était peut-être un petit peu plus fouillis à suivre. Donc on va voir tout ça. Et puis je voulais aussi faire un petit merci à Monsieur Cousbou et Monsieur Obi qui ont fait des commentaires très sympas sur le blog, assez longs en plus. Mais qui sont vachement
trop longs d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il a dit Monsieur Obi, c'est quand même notre
et qui manque de rythme aussi.
Monsieur Obi, tu l'as pas lu, je l'ai pas là, mais
c'est notre fervent.
Blablabla. Et d'ailleurs, justement, puisque tu en parles, Monsieur Obi, on le remercie encore parce que il s'est prêté au jeu de la notation et du commentaire sur iTunes pour mettre en avant l'Entrepod sur iTunes dans le catalogue des podcasts. Donc on le remercie, il nous a mis un 5 étoiles, c'est vraiment sympa.
Ah ouais.
Et puis deux personnes, je vais citer particulièrement deux personnes qui nous ont fait des commentaires sur Twitter. Donc Walter Proof qui nous dit « Je me suis encore fait avoir par les invités de l'Entrepod. Je pensais juste jeter une oreille et je me suis fait embarquer. »
Ça, c'est,
donc, c'est ce qu'on disait avec Freddy l'autre jour.
La méga pression.
On a quand même, encore une fois, effectivement, avec Freddy, on se faisait la remarque qu'on avait des amis qui avaient du talent, des connaissances autour de nous à Rouen qui avaient du talent. Donc, on a encore la preuve aujourd'hui. Vous allez tous vous en rendre compte.
Ouais.
Donc, c'est vraiment sympa. Et puis, un nouvel auditeur qui nous a fait remarquer qu'il avait découvert l'Entrepod sur l'épisode 5. Il avait empilé sur l'épisode 7 et du coup il a tout téléchargé depuis le début. Et il trouve ça sympa et sympa.
Il y a des mazos.
Il y a des mazos.
Il y a des mecs qui sont pas bien quand même.
Cette personne-là, j'ai voulu la citer parce que alors son pseudo c'est Blast & Co. Il travaille dans l'équipe des Sondiers. C'est un podcast sur l'audio numérique. Donc j'ai pas encore eu le temps de l'écouter parce qu'ils sont un peu comme nous. Ils font des épisodes de près de 3 heures les bougres. Ouais. Donc c'est pas toujours évident. Je me rends compte que c'est pas facile à suivre. Mais je pense qu'on va apprendre pas mal de choses. Mais j'ai bien aimé son petit commentaire qui dit « Si les premiers épisodes, c'était pas 100% joie sur le son, vous avez fait de gros progrès et j'ai plus de conseils à vous donner. » Donc
je pense que
c'est un petit peu exagéré. On va pouvoir en faire encore. Mais je trouve que c'est des commentaires qui sont vraiment très sympas. Donc on va essayer d'avoir un niveau toujours au même niveau. Même niveau. Voilà.
Même niveau. Là, niveau
c'est
niveau.
Un peu con
je
quand.
Je me répète, mais c'est mal barré.
Voilà. Je sais pas, là, on va en perdre un paquet d'auditeurs.
Et sur ce bafouillage de début d'épisode, je vous propose de passer directement à l'actu.
Salut la compagnie, ça va ?
Et donc, pour cette rubrique actu, je propose à Marius...
Eh ben voilà, c'est encore moi qui commence.
Par exemple, par exemple.
Elle est fait péter.
On a toujours le droit de chier la rubrique de Marius ou pas?
Ah, ouais. Non, fracturer la rubrique,
c'est une obligation.
C'est même recommandé, oui.
C'est même recommandé. Tu peux y aller aussi, hein, Michael. Jusqu'au jour où je vais te plaisir.
Jusqu'au jour où il trouvera une rubrique super intéressante.
Ça me fait plaisir et ça m'excite. Donc moi... Je voudrais parler de l'album de Timber Timbre. Alors, vu qu'il y a les deux anglo-saxons à côté de moi, est-ce que ça se dit comme ça ou quoi?
En tout cas,
Timber
ça s'écrit comme ça.
Au moins, c'est bon?
Ça s'écrit comme ça, en tout cas.
On peut continuer?
Je dirais ça aussi.
Donc, Timber Timbre, Hot Dreams. Donc, je vais essayer forcément de vous le décrire avec mes mots à moi, qui ne sont pas évidents, forcément. Donc, alors, l'album, ça me fait penser à un voyage sur les routes américaines, une décapotable.
Le micro.
Tu me dis pas micro. Donc, ouais, un voyage sur les routes américaines, une décapotable, ma femme assise à mes côtés, sur des longues routes vallonnées qui nous emmènent vers l'océan Pacifique à basse vitesse, les cheveux dans le vent dans les cheveux.
Vous ne voyez pas, mais il se caresse la cuisse.
Vous en voulez encore ?
Est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont pas canadiens ?
Oui, canadiens, ouais.
Ouais. Ça y est,
c'est une bonne question.
Ouais, non, et donc ils ont une actu, c'est
mange du sirop.
Donc un long voyage en terre de long. Si on voilà, bah oui, voilà. Ils sont canadiens, je recommence. Donc un long voyage en terre de l'oncle Sam, bercé par l'univers de Tim Burton, mélange de musique aux allures 60s.
C'est pas plutôt Tim Burton ?
Douce et simple. La plupart des morceaux de cet album vous plongent dans des photos sonores de bord de route US, de villes fantômes, de terres arides où il fait bon se perdre en fermant les yeux. La voix douce et pesante de Tim Burton, Stumber, accompagnée par les guitares sur le titre Bring. Tu peux changer un peu de chanson aussi là ? J'ai quasiment fini moi.
On est d'accord, c'est un peu chiant. Quand même. c'est les longues étendues, parce que au bout d'un moment, avec ta femme à côté,
donc, oui, alors la voix douce et pesante de Timber, accompagnée par les guitares sur le titre. Sur le titre Bring Me Simple Man. Ouais, je dis mal avec l'anglais, je parle dans pas longtemps. que ça va être beau. Pourrait me rappeler les guitares d'un groupe montant se prénommant Kenkyu. Et donc le mélange est un pur régal. Voilà. Donc il y a des mélodies distordues, il y a des, ça part dans tous les sens, mais très lentement,
très lentement,
en fait.
Oui.
très super lentement.
Oui, ah ouais.
Je t'en avais dit un troisième ou pas, non? Non. Bon bah alors il y a pas le troisième.
Mais
nous, pas
ne
grave.
Compare pas Kenkyu à Tim Burton. Voilà.
Si, il y a les guitares sur le morceau que je voulais faut écouter, Bring Me Simple Mind. Et il y a des guitares.
Bring Me Simple Mind. Ouais. Ils ont
ouais, ils sont plein, je sais pas. Et écoute ça et tu verras.
D'accord.
Tu verras. Donc voilà la phrase de la France. Et vous voilà prêt au voyage. Mais casque fait... sur les oreilles, sans sortir de votre canapé.
La voix un peu grave comme ça me fait penser à la chanteuse de Kenkyu, un peu de cette espèce.
Avant ou après son opération?
C'est une espèce de timbre un peu dans le genre, tu sais.
Et en fait, je me rends compte que j'arrive à me foirer moi-même les chroniques en fait. C'est ça qui est génial.
Ils sont vraiment méchants.
Donc l'album est sorti.
Non, mais c'est moi. L'album est sorti, ouais. Ouais. Deezer, toujours. Je fais une grosse pub pour Deezer.
Spotify aussi. Vous l'aurez sur la playlist de Spotify.
Ouais, Spotify, Deezer, mais c'est excellent. J'avais le premier album. Enfin, je sais pas si c'était le premier.
C'est un peu chiant,
tout à l'heure.
Je aussi, mais bon,
ils en ont fait plusieurs.
Spotify, ouais, c'est chiant. Hein.
Le rappel, le nom, c'est Tim Burton, c'est ça?
Timber Timbre, ouais, Timber Timbre. Hot Dreams.
Hot Dreams.
Attends, à chacun de se faire son avis. Hein. Après, il y aura la possibilité de l'écouter à tête reposée sans les conneries.
Ça
des
ressemble
des
un peu à du Jeff Barbara. Et...
Ah non, à choisir entre Jeff Barbara et ce que tu viens de faire écouter, je préfère ça. Moi.
Largement.
Jeff Barbara, c'est bien aussi. Hein.
Ah, j'aimais bien le côté de Jeff Barbara un peu.
Monsieur Rave, il connaît forcément Jeff Barbara. Hein.
Je connais Anna Barbera.
Santa Barbara. Côté
Capitaine Caverne.
Voilà. Ou Santa Barbara.
Jeff Barbara, il aurait pu faire l'objet d'une rubrique de Ludo, je pense. Moi, j'en suis.
C'est pas faux. Oui, c'est vrai.
Pourquoi pas une prochaine?
Je vous signale quand même que Jeff Barbara, avec un petit retour, je vous l'ai mis au jour de l'an cette année quand on était tous ensemble et tout le monde a apprécié sans savoir ce que c'était.
On était tous bourrés.
Oui, c'était ça, à 3h du matin, plus personne ne se souvient.
Donc voilà.
Après, on a fait la chenille, arrête.
Avec Jeff Barbara. Bon, bah voilà. Mais arrête, c'est chiant maintenant.
Hein? Toi-même, tu le dis.
Ouais, non, c'est bien au début.
Donc, bah, en fait, dans la foulée pour rester dans le cercle. Non, t'as encore.
Hot Dreams, tu l'avais pas mis? Si, elle était dedans ou pas? Oui, si.
Moi, ça me fait penser à Brian Ferry, je sais pas pourquoi.
Elle était mieux tout à l'heure.
Tu sais, les balades de Brian Ferry.
Ouais, mais toi, t'as été à Londres il y a pas longtemps, donc
c'est
t'as pris le ferry.
Brian Ferry, ah oui, t'as pris le ferry.
Non, l'Eurostar.
Wow. Bonne blague.
Ouh. Bah, c'est quand même celle de l'invité.
Ah, j'avais pas entendu le début, mince, pardon. Excusez-moi. Bon, ça m'étonnait que ça vienne de moi.
Tout ce que je peux piocher, moi, je prends.
Maintenant, je propose donc pour. Parce que j'étais bien les conneries, mais maintenant on va parler un peu sérieusement. Voilà. Je propose à Ludo de.
L'enfoiré.
De nous présenter. Non, mais vous allez voir pourquoi je dis ça, je connais son sujet. Il y a des choses qui peuvent prêter à la déconne, mais il y a des choses sérieuses.
Il y a des choses sérieuses. Parce que toi, c'est bien joli, tes petites blagues, là, tes machins, tes albums qui sortent, tout ça, ces mecs. Là,
mes mères sur la banquette arrière.
Mères sur la banquette arrière. Ah, tu fais chier. Moi, ce que je veux te parler plutôt, c'est une petite news assez courte, mais.
Et qui va intéresser tout le monde, j'ai l'impression.
Qui va intéresser tout le monde, puisque Dodo la Saumure vient d'ouvrir son 5e établissement qu'il a appelé. Devinez, mettez-le dans le mille,
DSK.
C'est ce que je veux dire. DSK pour Dodo Sex Club. Et ça, il faut quand même le faire. Alors, ce cher Dodo la Saumure, il faut savoir qu'il est toujours en examen en ce moment dans l'affaire du Carlton de Lille et qu'il prévoit d'ouvrir un 6e établissement qui s'appellera le Carlton. Ce type, je trouve au moins beaucoup d'humour. Et donc, ça me fait beaucoup rire.
Il ne peut pas être ennuyé avec le nom de son club, là.
Écoute, il assume complètement le clin d'œil. Alors,
je pense que Strauss-Kahn, il n'a pas déposé son appellation. Donc, elle est ouverte à tout le monde, elle est publique. Oui.
Alors, effectivement, tu as raison, sur les temps, je pense que de toute façon, ça lui fait une pub tellement énorme. Le buzz qu'il génère
d'être. Dodo la Saumure, mais pas ADSK quand même.
Ah non, bah, DSK c'est mort. Non, c'est clair. Oui, c'est clair.
DSK n'est pas d'accord.
En Belgique, donc. Raison de plus pour pas être embêté.
C'est à la frontière, c'est à la frontière entre frontière française, frontière belge. Alors, ce qu'il faut juste savoir, il y a un truc qui est important quand même. Je tiens à la précision. Le DSK emploiera 7 filles, dont un transsexuel. C'est important. C'est pour ceux qui souhaiteraient avoir le détail. J'ai pas encore la couleur des cheveux ni la taille de la poitrine, mais en tout cas pour le transsexuel, je ne sais pas. Je ne sais pas beaucoup plus non plus. Mais voilà. C'est quand même plutôt pas mal.
Est-ce que Nafouta Diallo, elle est embauchée?
Alors, Nafissatou.
Nafouta.
Alors, Nafouta Namana Muna Una.
Ouais, enfin, c'est pareil.
Non, effectivement.
Voilà, la personne concernée.
Nafissatou, non, elle coule des jours heureux pour l'instant aux États-Unis. Enfin, j'espère heureux pour elle.
Ah bah, je pense. Elle a pris du fric, pour une turlute.
Ah, bah oui, elle a pris du fric.
Salope!
Ça, c'est la classe.
Donc. Alors, j'en profite.
Notre invité est atterré.
Il y a de quoi, il y a de quoi. En tout cas, ce que je peux dire, par contre, pour rebrancher sur l'actualité des
SK, sponsor que, officiel d'équipe de France.
Non, c'est que le film, donc, il y a un film qui va sortir
avec Depardieu.
Avec Depardieu.
Ah oui.
Et
ah,
ce
oui.
film ne sera a priori pas diffusé dans une salle de cinéma.
Que sur Internet.
Mais sur Arte.
Accessible. Hein, c'est le film d'Abel Ferrara, qui ne sera accessible qu'en VOD, a priori. Voilà. Donc, ah ouais, mais c'est un vrai film de cinéma.
Moi, je propose que Starlet nous fasse le j'ai testé pour vous, le DSK.
Ah, c'est super sympa.
Je me demandais sur quoi il allait tomber, j'ai eu peur.
Chiche.
Et allez, moi, j'ai un avec toi.
Je pense que.
Enfin, en même temps, allez,
je pense fois-ci. Que l'idée, c'est qu'on y aille tous.
Voilà.
Parce allez, Christophe, vas-y, dévoue-toi.
Ah, moi, je me dévoue, moi.
Par contre, ça dépend comment
ça
on dit.
Ça ne pose aucun
c'est...
problème, au
voilà.
contraire.
A priori, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas d'hommes dans le.
En gros, ils sont en train. Ludo, ils sont en train.
Ça
ne
sert à rien de vous venir, quoi.
Les filles, n'y allez pas. On peut y aller pour
vous.
On peut y aller pour vous, on vous fera un reportage.
Il n'y a pas de souci.
De toute façon, moi, c'est bon. On est combien? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e, le transsexuel pour Marius. Voilà. C'était
Paolo,
ma news du
Paolo.
Jour. Paolo. Hola, Paolo de Brasil.
Ah, cet homme maîtrise les accents à la perfection.
Voilà.
Bien, bah écoute, merci beaucoup.
Écoute, c'était un
plaisir. Je pense que ça valait le coup quand même d'être soulevé comme sujet.
On est d'accord.
On serait passé à côté de quelque chose d'important. Dans un tout autre domaine, je pense.
Là,
je vais passer la parole à Freddy.
Pas facile d'enchaîner, mais je vais le faire quand même.
Pas de transition comme ça.
Alors tiens, je vais commencer par le guide du routard.
Mais oui,
tout le monde connaît le guide du routard.
Ah, moi, je suis
depuis,
une fan.
Combien on va dire depuis 35 ans?
Oui, au moins.
Bon, alors là, vous savez qu'il y a le guide du routard, le débarquement et la bataille de Normandie qui vient de sortir il y a une dizaine de jours. Gros carton, puisqu'il est déjà en réimpression.
Ah oui?
Donc je vous le conseille évidemment parce que c'est très bien raconté. C'est assez historique par rapport à un routard classique. Mais il y a toujours la spécificité du routard.
Oh, laissez lui parler comme moi.
Il va falloir qu'on change les places.
Une spécificité du routard qui est de toujours donner les bons plans de où on peut manger. Casser la croûte, dormir, tout ça, tout en visitant les points forts du débarquement de la bataille de Normandie. Dans le coin, on peut par exemple retrouver la bataille de Dieppe qui avait été un flop pour les soldats canadiens qui avaient voulu débarquer à Dieppe. Voilà, en plus, je crâne un peu parce qu'il est dédicacé par le fondateur du guide du routard, qui est Philippe Glohagen.
Il est dédicacé par Churchill.
Ils sont allés chercher.
T'es un peu fait avoir.
Non, voilà, 14,95 dans toutes les librairies, sur internet aussi, leroutard.com.
Ça peut être un test aussi. Enfin, nous, à chaque fois qu'on voyage, c'est notre Bible et ils sont toujours bons conseils. Et clairement, on habite en Normandie. Je défie qui que ce soit autour de cette table de nous dire. S'ils ont écumé tous toutes les choses relatives au débarquement. Et moi, je suis la première, je pense que j'ai l'acheté.
Déjà, qui connaît bien Rouen?
Mais au-delà de Rouen, il y a Caen, regarde
c'est
Dieppe.
C'est parce qu'on est ici qu'on connaît bien le coin.
T'as raison. Maison,
non, mais il y a plein de choses dont on ne sait pas l'existence, Bref, bravo le guide du routard. Grâce à vous, Londres a été...
Non, c'est
une belle expérience.
Libérée. Ah non, pardon. S'il vous plaît. Pour compléter, il y a aussi une carte à la toute fin du guide qui est très très bien faite parce qu'on voit simplement les mouvements du débarquement des troupes alliées, tout ça. C'est très bien, c'est très simple, c'est accessible à tous. Hein, il n'y a pas besoin d'être un érudit.
Marius peut le lire.
Marius peut le lire.
Voilà, un deuxième sujet rapidement, on va prendre le temps d'en parler quand même. Et là, je vais demander de l'aide un petit peu à notre invité puisque je voulais parler du dernier livre de Dorothée Piatek.
Oui.
Voilà, qui s'appelle Le silence des oiseaux.
Le silence des oiseaux.
Michael, monsieur Rêve, peux-tu nous en dire un peu plus?
Sans dévoiler trop de choses, ça sort le 15 mai exactement.
Le 15 mai,
ça a été repoussé, je crois. C'est annoncé au 15. En fait, c'est un livre qui est extraordinaire en soi, notamment pour la thématique qui a jamais été traitée. Ça concerne le bagne pour enfants de Belle-Île-en-Mer. On ne sait pas beaucoup, mais il a existé jusqu'à 1960. 17, hein, quand même. C'est aussi un livre qui est accompagné d'une bande son par le rappeur Arm de Psyche Clarica, qui est absolument fabuleuse. Honnêtement, c'est disponible sur Bandcamp, hein, je crois, au niveau de la bande son. Honnêtement, pour avoir lu quelques quelques lignes.
T'as eu la chance de lire.
Oui, j'ai eu cette chance de lire quelques bribes et surtout d'entendre la BO. Ça faisait longtemps que je m'étais pas identifié à un personnage plus jeune que moi. C'est-à-dire que généralement, on personnifie par rapport à quelqu'un qui a notre âge ou plus vieux, mais se retrouver dans la peau de quelqu'un qui a, parce que le héros de l'histoire, il a 12 ans. Et on ressent les émotions. Et des fois, c'est vraiment très anxiogène dans le sens où on ressent vraiment les émotions qu'il a pu avoir. C'est très documenté. Et puis on attend ça avec impatience. Ça sort aux éditions du Seuil.
Très bien. J'ajoute simplement que Dorothée Piatek, c'est une auteure locale. Tout elle habite Petit Queville, l'endroit même où nous enregistrons.
Tu nous en avais parlé.
J'en avais déjà parlé.
Le premier ou le deuxième épisode.
Exactement.
Peut-être on pourrait la convier.
Absolument. Auteur notamment de L'Horizon Bleu. Je marchais malgré moi dans les pas du diable et bien d'autres. Elle a fait beaucoup de livres qui s'adressent à la jeunesse, mais pas seulement. Hein.
Elle a écrit des romans qui s'adressent un petit peu plus âgés, hein, comme Le Cercle d'Or, mais généralement à la jeunesse. Et on a cette chance aussi au Rêve de l'Escalier. C'est notre marraine, je dirais, animatrice de notre atelier jeu d'écriture.
On en reparlera tout à l'heure.
Oui. Qui existe grâce à elle et qui est animée de main de maître.
Voilà, donc à surveiller dans les librairies le 15 mai, ça s'appelle Le Silence des Oiseaux.
Et là, c'est un roman plus pour les adultes, c'est pas un roman jeunesse.
Non, c'est un roman jeunesse.
C'est traité de manière roman jeunesse, mais finalement, ça s'adresse à tout le monde. C'est comme L'Horizon Bleu, par exemple, que je conseille vraiment à tout le monde. Hein.
Voilà, qui est d'actualité, puisque ça traite de la guerre 14-18.
Tout à fait. Voilà, pour
ma part. Merci beaucoup, Freddy.
Et merci, monsieur Rêve, de m'avoir épaulé. Oui, je savais qu'il en parlerait mieux que moi.
Non.
Oh, vous êtes mignon.
Oh là là.
Arrête.
Je lâche mon micro, on sort deux secondes.
Tu lâches ton micro pour prendre le mien.
Christophe, occupe le terrain pendant ce temps-là. Je te propose de nous parler.
Je peux filmer
de...
De Applause.
De quoi ? De musique.
Alors en fait, je voulais à la fois parler d'Applause comme exemple, parce que à travers cet exemple d'Applause, il y a une nouvelle stratégie qui est mise en place par un certain nombre de groupes, qui est de sortir tout au long de l'année plusieurs EP. Et donc Applause en est l'exemple typique. Ils viennent de sortir un premier EP, 4 titres. Un deuxième est prévu fin août. Et enfin, un dernier fin novembre. Ça leur permet, en fait, c'est une stratégie qui est pas bête, qui peut être frustrante pour les fans, parce que quand on attend un album et qu'on a que 4 titres, ça peut être un petit peu frustrant. Mais pour eux, l'idée, c'est d'être présent tout le temps, toute l'année, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont une actualité régulière. Genre, tous les 3-4 mois, ils ont une actualité, sortie du premier EP, deuxième EP, troisième EP. Et probablement qu'à la fin de l'année, ils feront une espèce de fusion de ces trois EP pour sortir l'album de ces trois EP, donc en 2015. Je trouve que c'est super intelligent, parce que voilà, ils existent toute l'année.
Peux-tu nous rappeler juste qui est Applause ?
Alors Applause, évidemment, c'est un groupe franco-belge, enfin plus belge que franco, puisqu'ils sont 4 bruxellois, un français. Ils existent depuis 2010, ils ont sorti un magnifique album en 2011 que moi j'avais vraiment aimé, et j'attendais avec impatience la sortie d'un nouvel album. Donc je fais partie des gens un petit peu frustrés, parce que finalement 4 titres, quand on attend depuis 3 ans...
Imagine si l'album était juste sorti en fin d'année, tu n'aurais rien eu. Là, tu vas avoir 4 titres.
C'est ce que je trouve intéressant, ça va revenir en plus.
Bah oui, voilà, donc ça te fait patienter.
Oui, mais si tu veux, 4 titres, c'est un petit peu c'est frustrant, t'as envie d'en avoir plus. Oui. Tu dis, voilà, j'ai 4 morceaux.
C'est
un peu comme voir 20 minutes d'un film et puis 20 minutes plus tard.
Bah, tu les écoutes 3 fois et c'est bon.
Non, mais c'est vrai que c'est.
Moi, ça me parle tout de suite. J'aime beaucoup le.
Disons que c'est plus sympa que ce que tu nous as présenté tout à l'heure.
Ouais, j'aurais fait ça, moi.
Disons que, objectivement, je trouve l'idée vraiment intéressante, parce que pour un groupe qui n'est pas forcément très connu, avoir de l'actualité pendant toute une année complète, avec que des nouveautés, genre tous les trimestres ou tous les 3-4 mois. Je trouve que c'est intelligent. Mais voilà, je trouve malgré tout que quand on attend, quand on aime un groupe, quand on est fan d'un groupe et qu'on attend leur nouvel album, surtout après 3 ans, voilà, c'est un petit caprice de ma part.
Voilà. Reconnais-le.
Mais l'idée est vraiment intéressante, et surtout c'est que donc Applause lance une nouvelle stratégie marketing, mais qui est en train de se multiplier sur pas mal de groupes, en tout cas à Rouen. un ami, Christophe, pour pas le nommer, nous en a parlé, j'ai plus le nom du groupe, mais il fonctionne de la même façon.
Je crois que c'est Willow.
C'est Willow, peut-être.
Il me semble, semble que c'est Willow.
Donc Willow a décidé de fonctionner de la même façon. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment, sur les réseaux sociaux, par exemple, ça super intéressant.
Moi, je trouve pas ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, Brigitte a lancé un EP avant de lancer l'album. Il y en a d'autres, des groupes.
C'est pas pareil. Lancer un EP, lancer trois EP tous les trimestres, c'est pas la même façon.
Ah, oui. Là, il y a une vraie démarche régulière. Si tu
j'avais
veux.
Pas compris.
Là, ce sera trois EP pour l'année 2014, qui sera ensuite finalisé par la synthèse de ces trois EP sur un album en 2015. Donc, en fait, ils sont tout le temps en actualité.
Mais tu sais, ça revient.
System of a Down l'avait fait aussi avec Hypnotize et Mesmerize. Hein. C'était sorti genre à 6 mois d'intervalle.
Mais c'était deux albums, c'est encore différent.
Il y avait combien de titres?
Il y avait un paquet, 2x12 quasiment.
Ils sont très courts, mais
on n'était pas habitué à ça pour la musique.
C'est ça surtout. Voilà. C'est que c'est une nouvelle pratique.
Voilà, tout à fait.
Mais qui permet peut-être justement de pallier aux baisses des ventes et des choses comme ça pour garder.
Ou téléchargement illégal. Ouais.
Mais je sais plus qui disait tout à l'heure. On a du mal à imaginer ça pour un film en 3x30 minutes, par exemple.
Ouais, là.
Mais c'est encore un petit peu différent. Un film. Et pourtant, c'est une histoire.
Après, ça s'appelle une série. Ouais.
Pourtant, ça existe quand même.
C'est pas faux.
Ah ouais, merde.
Une trilogie.
Pourtant, ça existe des trilogies ou un film coupé en deux. Avec,
mais ça n'empêche que c'est frustrant quand même.
Mais qui fait pas 30 minutes du coup.
Non. Effectivement.
Mais est-ce que c'est pas lié à la non-prise de risque des grands majors maintenant aussi? C'est-à-dire qu'ils sont obligés, les artistes, de sortir peut-être assez régulièrement des EP pour faire voir de quoi ils sont capables. Et après, les majors les signent, ce qui n'était pas vrai avant. C'était
mais
avant,
eux sont déjà signés.
C'est exceptionnel. Ouais.
Là, c'est vraiment une stratégie marketing. C'est-à-dire que, comme le dit Freddy, ils sont déjà signés. Ils auraient pu sortir leurs 12 titres là en avril.
Qui sont prêts visiblement.
Ils sont prêts.
Les 12 titres sont prêts.
Ah oui, ils sont prêts.
J'imagine.
Ils sont prêts puisque.
Ouais, c'est un peu bizarre quand même alors du coup.
Non, je pense que non. Ils occupent le terrain c'est médiatiquement pendant un an.
Voilà, exact. C'est ça l'idée.
Ils vont...
Les morceaux sont prêts puisque. Ils sont prêts, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés et à chaque fois ils travaillent, ils font des séances de mixage, mastering pour le P suivant. Donc en fait, le travail.
Le
est
P
réduit.
Suivant Pardon
le travail est réduit en fait, puisque toute la phase enregistrement est faite. Voilà.
Ok. Bah
écoute, hein. on verra si c'est.
Ça mériterait un débat, hein. Des fois on cherche des débats.
On verra si c'est un challenge payant ou pas. Mais peut-être que c'est.
Ça sera pas gratuit, hein.
L'avenir leur donnera raison. Il est con. Je propose à Starlet de nous parler de sa petite partie actu, ou pas petite d'ailleurs.
Oh, c'est, ça va être très très petit, c'est juste parler. Pour.
Une actualité.
Pour vous parler en fait de la reprise de Game of Thrones, ça y est, c'est reparti pour la saison 4. Générique.
Pas de spoil.
Non, mais pas du tout. Donc toi, tu fais partie de ceux
pas
qui
vu,
attendent
hein,
d'en avoir
j'ai
plusieurs.
Rien vu.
Ouais.
J'ai rien vu encore.
Donc t'attends d'en avoir combien toi?
Moi aussi, 4.
Il y en a beaucoup qui font ça en fait. Ouais. Donc oui, ça peut, parce qu'effectivement il se passe encore plein de choses. Et là, ça faisait longtemps que ça ne me l'avait pas fait, mais à la fin du premier épisode. Non, du deuxième épisode.
Vous vous trompez mille fois.
Plus personne.
8 milliards, 230 millions. Non.
8 milliards. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi impatiente de voir la suite d'un épisode en fait. Ça, il se passe
autant,
dès le début, paf.
On n'attendait pas forcément la quatrième saison, mais dès qu'on a vu le premier épisode, t'es renclenché dans le truc quoi.
Ah, moi je l'attendais quand même
moi
pas
aussi.
Mal.
Moi, moi quand même.
Moi je l'attends beaucoup.
Ouais. Mais tu sais,
faudrait que tu commences la première.
Retour dans le vif du sujet dès le début et bah, voilà, je suis très impatiente de voir la suite. Là il nous en manque un et franchement j'aurais bien aimé le voir.
C'est quoi qu'il nous en manque? C'est qu'on n'a pas le temps de le voir.
Oui voilà.
Ah, j'ai lu un petit article là-dessus sur la pression qui est mise à cause de cette série sur les traducteurs.
Ouais. Du coup c'est fait n'importe comment.
C'est Marius qui fait la traduction.
Non, les gens qui font les sous-titres ils avaient à peu près une semaine de travail.
Là c'est immédiat.
Et là on leur demande de faire les sous-titres pour le lendemain. Donc ils ont à peine une journée pour faire.
Mais qui leur demande?
Au CS.
Leur boss. Ils sont dans des boîtes.
Non, mais ils les ont un petit peu en amont quand même. Mais
c'est des boîtes. Non, ils refusent. HBO refuse de diffuser les épisodes.
Pour éviter que ça fuite.
Voilà, pour éviter que ça fuite aux boîtes qui traduisent. Et donc, tous les traducteurs qui travaillent dans des maisons spécialisées pour ça.
Quasiment en réel.
ont vraiment une pression, donc la journée pour traduire.
Pas bête. En même temps, une journée pour traduire, ça va, non?
Ah, mais je sais pas, je suis pas traducteur.
Mais je crois qu'il y a un nouveau précédent aussi sur une autre série qui va ressortir là, c'est la série 24 heures chrono, là, qui oui. sort, où, ils font en temps réel, c'est-à-dire, la sortie est aux États-Unis et ça sort en même temps sur Canal. Wow. C'est-à-dire ouais. en France, ah, oui. avec le doublage, presque instantané. Donc d'accord. ça, c'est une, là, c'est vrai. Une vraie performance.
Mais bon, il y a des solutions, effectivement.
Donc, bravo aux traducteurs.
Oui. Oui, oui. Enfin, surtout que ça va pas être facile, effectivement, parce que c'est quand même du texte dans cette série.
Je pense que c'est plus dur qu'on l'imagine.
Hein. Ah oui, bah,
je pense.
Oui, enfin, leur métier, ils l'ont choisi. Ouais.
Alors, c'est
en forme. Tu vas avoir un avis sur tout comme ça ou quoi?
Pour finir sur la partie actu, moi j'ai quelques petits sujets. Comme d'hab, j'ai pas été très très concis. Le premier, c'est une exposition, deux expositions qui s'appellent dans le cadre d'un événement qui s'appelle D'une guerre à l'autre. Qui sont deux expositions commémoratives sur dans les archives départementales à l'initiative de la région Haute-Normandie du département de Seine-Maritime. Donc je reste un peu dans le sujet de la guerre que j'avais déjà évoqué la dernière fois avec Apocalypse. La Première Guerre mondiale d'ailleurs à l'occasion du centenaire. Donc les archives départementales proposent à Rouen donc du 7 avril au 12 juillet 2014 deux expositions commémoratives intitulées D'une guerre à l'autre. Donc il y a une exposition sur la Première Guerre mondiale, une exposition consacrée à l'année 1944. Les deux expositions comportent à noter un parcours spécialement prévu pour les enfants de 7 à 12 ans à travers des dessins et des textes adaptés. Donc pour plus d'informations, les programmations, les horaires, les conférences, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui gravitent autour de ça, je mettrai le lien sur le billet du blog parce que c'est quand même quelque chose qui est assez assez touffu, il y a pas mal de choses à voir, donc c'est un peu pas s'étaler là-dessus, mais c'est assez ça paraît assez assez intéressant.
Assez touffu donc.
Exactement, assez touffu. D'accord. Je sens que ça te perturbe ce mot. Non, un peu comme ton torse qui dépasse de ta chemise.
Je pensais les poilus, les touffus. Tout ça, voilà.
Un autre sujet, en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu une marotte BD. Les 16 et 17 mai, je ne sais pas si Monsieur Rêve participe à cet événement, mais ce sont les 48 heures BD. Je sais pas
oui,
si
tout
tu...
à fait, on participe.
D'accord. Attends, il est en train de commander ce qu'il va boire, donc, il peut pas tout faire en même temps non plus.
Donc j'en parle un petit peu le temps que Monsieur passe sa commande et puis on rebondira dessus derrière pour dire si j'ai pas dit de conneries. Donc les éditions Casterman, Dargaud...
Stop Dupuis. Ah non, c'était pas tout de suite, il fallait pas que j'intervienne.
J'ai pas encore dit de conneries. Merde.
Ça c'est bon.
Dupuis, Fluide Glacial, Grand Angle, Jungle, Le Lombard, Urban Comics mettront la bande dessinée à l'honneur avec l'événement 48 heures BD dans 1000 librairies en offrant 100 000 BD. Donc les 8 éditeurs proposent chacun un titre. Donc Alix Senator chez Casterman, Aldébaran tome 1 chez Dargaud, Luca tome 1 chez Dupuis, un collectif pour Fluide Glacial, un ouvrage collectif, Une nuit à Rome chez Grand Angle, Débordez-moi plus jamais chez Jungle ou chez Jungle, je ne connais pas, Torgal Louvre tome 1 chez Le Lombard et Batman Saga hors série numéro 1 chez Urban Comics. Donc actuellement les libraires souhaitant participer à l'événement peuvent faire parvenir leur candidature sur le site et la liste des participants définitif sera disponible en ligne le 1er mai sur le site 48heuresbd.com je crois. Voilà, donc moi c'est un truc qui m'intéresse, donc je pense que j'irai faire un petit tour chez un de mes libraires favoris de Rouen, ou voir peut-être, allez, j'irai chez Monsieur Rêve ce jour-là pour changer un peu.
C'est pas ton libraire préféré.
Bah, pour l'instant,
pas.
Bah,
en fait, si on peut faire une différenciation, vas-y. Je ne suis pas tout à fait libraire.
Voilà. Ah, c'est pour ça.
Je suis bouquiniste, voilà. Et je tiens à cette particularité car bouquiniste a pas cette même dénomination parce que le libraire vraiment il est là sur du neuf pour conseiller ce qui va sortir en neuf et nous on est amené peut-être à commenter ou à partager sur des choses qui ne sont peut-être plus éditées non plus et qui sont très bien aussi.
Exactement. Mais donc tu participes à cet événement?
Alors je pensais que c'était celui-là, mais c'est un autre événement. Non, celui-là.
Je pense que c'est plutôt pour ceux qui font du neuf.
Voilà. Mais il y a quelque chose qui va arriver au mi-juin, qui fait participer bon nombre de libraires, notamment au niveau de la BD, que ça soit le Grand Nulle Part, Funambule, Lumière d'août, nous-mêmes, où on va recevoir un dessinateur ou un scénariste dans nos boutiques pour faire découvrir aux gens, et ça sera un parcours dans tout Rouen. Et je pensais plus à ça quand tu as annoncé le.
D'accord, bah écoute, je ne connaissais pas ce.
Et peut-être on pourra en parler au sommaire de la prochaine émission, puisque niveau timing,
si
on
c'est
sera
en juin,
pas mal.
Ouais. On sera peut-être dans le sujet. Une autre partie actu qui est aussi pour juin, mais je voulais l'aborder tout de suite. Donc, c'est un événement qui s'appelle Podren. C'est la deuxième édition. qui aura lieu le 14
chute
juin.
Chute de micro, chute.
Qui aura lieu le 14 juin à l'auberge de jeunesse de Rennes. C'est l'après-midi du podcast. Donc on en parle parce qu'effectivement, nous, on est un peu.
On est invité, j'imagine, parce que. Bah, potentiellement. On fait quand même référence dans le milieu du podcast.
Je dirais c'est pas ça, mais cela étant, nous sommes quand même invités.
On est même les invités d'honneur, je crois. Hein.
Ah bon, ah ouais, c'est la moindre des choses.
Le problème, concrètement, pour moi, dans mon cas particulier, c'est que c'est à Rennes et que bon, c'est un petit.
Ah ouais, tu m'avais dit la ville pourrie, tout
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Moi, les alcooliques bretons, merci bien. Non, c'est que les alcooliques normands, ça va.
On est grillés.
On est bien chez nous. Non, sans déconner. Donc, au programme, donc c'est des rencontres, des débats, des enregistrements en live tout autour du thème des podcasts. Donc, les podcasts indépendants, pas forcément la radio en réécoutable, enfin le replay en fait. Plutôt les gens qui font un peu comme nous, quoi, une passion, qui partagent selon des thèmes, etc. Donc, moi, c'est vrai que ça m'intéressait. La problématique, c'est que bon, le mois de juin est hyper chargé et puis qu'aller à Rennes, c'est pas tout à fait la porte à côté. Mais je pense qu'une prochaine édition, j'irai bien. Puis bon, c'est l'histoire de leur faire un petit peu de pub à notre échelle. Mais je pense que c'est sympa d'échanger un petit peu, d'avoir justement sur la technique par exemple, ou sur la façon d'aborder des sujets, ou la façon de communiquer, etc. Donc une prochaine fois j'essaierai peut-être de m'y rendre, mais si vous voulez y aller, hein, vous êtes les invités, je mettrai le lien, il y a un doodle là pour
j'aime pas les bretons
pour se connecter. Donc on n'ira pas.
Fais gaffe, tu penses un peu fort, Didouille, je crois.
Je t'avais pas
non mais je les
micro.
Connais pas en plus, je dis ça vraiment pour le fun, hein.
Mais non, en plus ça se passe à Rennes, mais ce ne sont pas que les bretons, il s'avère que la personne qui organise non, mais
c'est Rennes n'est pas la Bretagne, hein.
Que les choses soient claires, la personne qui organise ça est un breton, donc ça s'organise là où
ah quand même, quand même. Attends.
Mais sinon tout le monde est invité, des bretons, des picards, même les picards certainement,
ah oui.
Les normands, non mais ça va loin quand même, hein. Ça déconne pas, hein. Au lieu de pouvoir podcaster picard de toute façon.
Et puis hier, yeah.
Donc voilà, non mais leur faire c'est un petit peu de pub parce qu'en plus la personne qui organise ça est vraiment très sympathique, péremptoire pour ne pas le citer, donc entre autres et puis dernier sujet d'actu que je voulais aborder, voilà, ouais non mais celui-là il est bien, attention, hein. N'en déplaise à Marius, il n'y a pas que Kenkyu dans la vie, ni dans ce podcast.
Et si pourtant.
Et non, et
je
non.
Je suis désolé.
Et donc je vais faire moi aussi. Je vais faire moi aussi mon auto-promo, puisque Wisdom, le groupe dans lequel j'officie, jouera le 24 mai prochain au Charivari à Rouen.
Oh yeah.
Wow. En compagnie d'un autre groupe rouennais, Distort de Décadence. Exactement. Donc c'est une soirée qui sera donc plutôt un
métal.
Peu bruyante, on va dire. Voilà, faut le dire clairement.
Plutôt
avec des amplis et puis sponsorisé par je sais pas
Heineken, Belfort,
Blue Garden.
Tu bois quoi là? Tu me rappelles? Ah non, il prend un thé, merde.
Alcoolique.
Donc la soirée devrait commencer aux environs de 21h30. La page Facebook et puis le site internet de Wisdom seront mis à jour, donc je ferai un petit peu de pub là-dessus, mais voilà, parce qu'il n'y a pas que Kenkyu dans la vie, monsieur Marius.
Bravo Nico.
Voilà.
Ouais.
Point.
C'est bon,
merde alors.
J'ai rien dit, je t'en bien.
Eh ben non, sur ces belles paroles,
l'interview.
Je vous propose de passer
l'interview.
À l'interview.
Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
Alors ouais, plutôt poisson l'invité. Rouge ou plutôt guimauve à balai.
Camoulox.
Je.
Très bien
joué.
Je passe.
Je mets une frite et je recule de 3 cases.
Désolé Nico, vas-y.
Ah non mais c'est très bien ça. Et je propose donc à Freddy, parce que je pense que justement, on parlait de rigueur dans l'interview, donc ah c'est oui. pour ça que c'est Freddy qui reprend la main là-dessus. Je pense que c'est le plus discipliné d'entre
comment
nous.
Comment c'est super.
C'est ce que j'allais dire, hein, qu'il reprenne
en
sa main
temps,
parce que ça fait un quart d'heure qu'il est sur ma jambe.
Il a quand même bu deux bières comme tout le monde, hein, Freddy.
Ouais. Il a bu deux bières comme moi. Pardon.
C'est étonnant, non, lui.
Bah ben non, moi j'ai rien préparé, je croyais que c'était toi, non?
Ah non.
Ah bon, je vais le faire quand même alors. Notre invité s'appelle Michael Ferron, on l'a dit tout à l'heure, mais en Rouen et dans la région, on le connaît plus sous le pseudonyme de Monsieur Rêve. Un nom qu'il emprunte à sa boutique, Le Rêve de l'Escalier. C'est une bouquinerie, un lieu de passage, de partage, un lieu de rencontre aussi.
Un lieu de perdition.
J'hésitais à le dire. En tout cas, un endroit idéal pour chiner des livres en tout genre, mais aussi DVD, CD, BD. Vous l'avez compris, son truc, c'est le système D. D comme dormeur, quand vous le croisez à 7h45 dans le métro de Rouen.
Et qu'on me tape sur l'épaule sans que je réagisse.
D comme dreamer, lorsqu'il organise le concert de la harpiste.
L'accent un peu, Marius.
Lidwin, dans son rêve de l'escalier. Enfin, D comme généreux. Ouais, je sais, ça colle pas. Mais j'ai pas trouvé de synonyme convenable commençant par D. Alors, faut savoir que Monsieur Rêve n'hésite jamais à mettre en place, par exemple, le système du livre en attente, peut-être qu'il nous en parlera tout à l'heure, ou à distribuer des places de spectacle, comme ça, juste pour faire plaisir.
C'est gentil.
Oui. C'est vrai.
Oui, oui, c'est vrai. Pas.
Moi, je veux bien deux places pour Ibrahim Malouf.
On met son nom où ? Elle est où, la liste ?
Alors, je te les offre volontiers contre 45 euros.
Ah oui, mais j'ai pas dit que les offrais comme ça, gratuitement.
Moi, je croyais que je suis naïf.
Non, si, je l'ai déjà vu offrir des places.
Il joue de la trompette.
Quelqu'un très généreux. Donc, Monsieur Rêve a à peu près 40 ans. Mais sur son visage, un éternel sourire d'enfant.
Oh, c'est beau ça.
Ouais, je sais, ça fait un peu poésie
CM2. Non, ça colle mais... totalement avec le pseudo.
C'est vrai, c'est vrai.
Il faut rester dans cette ligne.
Mais s'il est parmi nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de son activité, ou plutôt devrais-je dire de sa passion, et même encore devrais-je causer de ses passions. Personnage attachant, même s'il me force à raturer ma présentation. Monsieur Rêve, bienvenue à la maison.
Oh, c'est beau.
Oh. Tu verras peut-être dans cette humble demeure aussi un escalier derrière.
Avec une tenture rouge.
Celui-là.
Si ça, c'est pas une invitation.
Et où mène cet escalier ?
Eh bien, tu vas le savoir. Celui-là vit chaque soir un cauchemar plutôt qu'un rêve.
Celui de voir passer. Tu dis, toi.
Celui de voir passer Nico en caleçon trop large. Ici, pas d'intégrale de Jules Verne en édition brochée de 1925, pas même un vinyle de Charlot posé fièrement sur une étagère,
connecteur,
mais une bande de chroniqueurs prêts à faire ta connaissance. On est prêts, monsieur, faites-nous rêver.
Oh, oh, quel talent !
Bravo !
Alors, pour faire ma connaissance, il faut que je monte l'escalier avec eux ?
C'est ça. D'accord. Il faut que Nico se mette en caleçon trop large.
Pour un con,
ça, c'est facile.
Surtout qu'on lui en a ramené un du salon de l'érotisme, il n'était pas très large.
Ah non, il était ah ouais, parfait.
Pour commencer, je voulais dire que Monsieur Rêve, c'était toi, mais c'était aussi ton acolyte, ton collègue, oui. Jérémy.
Tout à fait. En fait, Monsieur Rêve, c'est une entité. C'est pas moi qui me suis dénominé ainsi, hein, parce que ça ferait un peu mégalo de s'appeler Monsieur Rêve, même si la boutique s'appelle Monsieur Rêve de l'escalier, enfin, le rêve de l'escalier. En fait, c'était lors d'un reportage de France 3 où on a eu ce petit sous-titrage avec Monsieur Rêve en dessous et c'est resté. Et je dois dire que ça m'arrange bien parce que ça permet à la fois de mettre un peu à l'écart et d'avoir une entité qui est là. Et effectivement, j'ai mon acolyte qui est avec moi au quotidien, qui est Jérémy Dupuis, voilà, qui m'accompagne tous les jours, qui est un peu mon Jiminy Cricket, voilà, qui me rappelle à l'ordre quand ça va pas, ou voilà, ou qui est là aussi pour découvrir avec moi tous les gens qui viennent à la boutique.
Et puis aussi, quand tu vas boire un petit coup à la cave, c'est lui qui.
Je ne bois jamais.
Assure...
Je ne bois jamais. Je tiens à rassurer tout le monde.
Juste si tu peux situer un petit peu la boutique où ça se trouve.
Alors la boutique, elle est au 14 rue Cauchoise. Elle est en bas de la rue Cauchoise et en fait, elle est à la lisière du vieux marché, quoi. En gros, là où était brûlée Jeanne d'Arc. Enfin, où on croit qu'elle était brûlée. Enfin, si elle a été vraiment brûlée.
Si elle a vraiment existé. Oh là là.
Oui, voilà.
En fait, elle n'existe pas.
Allez, ça y est, débat. Ludo, je te sens.
Ça fait oui.
Non, vas-y.
Ça fait combien de temps que tu exerces l'activité de bouquiniste ?
Alors, ça fait moi 7 ans que j'ai repris la boutique. C'est une boutique qui existait déjà, le rêve de l'escalier. Elle existe depuis 17 ans. Parce que moi, initialement, je ne viens pas du milieu du livre.
Comment ça ? Tu fais quoi ? Avant ?
Alors, avant, parce qu'il se passe des choses.
Un peu d'histoire.
Non, en fait, moi, j'ai fait des études qui se rapportent au livre, puisque moi, j'ai un master de philosophie et j'ai travaillé longtemps pour l'éducation nationale.
D'accord.
D'accord. En tant que prof de philo ou...
Non, j'étais...
T'étais au CDI, forcément.
Voilà. Je faisais fonction de... faisant fonction de CPE. Voilà.
Wow.
D'accord.
D'extérieur, c'est un peu...
le principal d'éducation.
Qui peut être un peu méchant, des fois, d'extérieur.
Ouais, la grosse saloperie du collège, quoi.
Ouais.
J'ai du mal à t'imaginer avec ce rôle-là, mais moi, je me rappelle de mes CPE.
Fonction très difficile, je le dis.
Ouais, mais arrête-toi.
Et pédagogique.
Je vois qui tu penses, du coup.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'est quoi le déclencheur qui fait qu'on passe de CPE à bouquiniste ?
Alors en fait, ça s'est fait un petit peu de manière fortuite parce que mes prédécesseurs qui étaient là 10 ans avant moi sont devenus des amis. J'étais un des premiers clients de la boutique et en fait, je passais tellement de temps dans cette boutique qu'au moment où ils ont pensé à vendre, et ben ça s'est imposé comme une évidence, quoi.
D'accord.
Et comme moi, je suis parti de l'éducation nationale, ce qui est assez rare,
oui, c'est
puisque
ça,
j'ai
ouais.
démissionné. Voilà, c'était une évidence de reprendre quelque chose qui me tenait à cœur et qui est foncièrement une passion et qui reste une passion à l'heure actuelle.
D'accord.
D'accord.
On le sent, ouais, c'est la passion. Enfin, quand on suit un peu les statues et tout.
Excuse-moi pour la question un peu terre à terre, mais être bouquiniste aujourd'hui, à l'époque de la FNAC, des grandes enseignes, d'Internet, tout ça, ça marche ?
Bah, ça marche très bien dans le sens où FNAC, Internet, s'il y avait pas de neuf, il y aurait pas d'occasion déjà. Le fait qu'il y ait Internet joue pas tellement parce qu'en fait, ce qui joue en notre faveur, c'est que les gens viennent dans un lieu et ils viennent découvrir. Enfin, ils viennent chercher quelque chose et ils tombent pas forcément sur ce qu'ils viennent chercher. Et donc, après, c'est à nous de les orienter, peut-être de les conseiller, de partager en disant « Vous aimez telle chose, on l'a pas ». Parce que foncièrement, on est bouquiniste, on peut avoir un exemplaire et 10 demandes dessus. Mais par contre, on a des choses qui peuvent rentrer dans votre champ d'investigation ou dans votre demande de lecture.
Puis surtout, c'est pas cher.
Et c'est pas cher.
C'est vrai, ça c'est joli.
Alors, les gens qui écouteront cette chronique, qui me connaissent très bien, ils connaissent cette histoire de c'est pas cher. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais effectivement, c'est pas cher puisqu'on a pris le fait que on vendait tout au tiers du prix du neuf pour essayer aussi de permettre à tous les gens d'avoir accessibilité au prix du livre parce que le prix du neuf, c'est quand même assez énorme.
Tout à fait.
Je sais que, enfin, en tout cas, je sais pas au niveau de ta clientèle, est-ce que c'est majoritairement des jeunes ou est-ce que c'est tout âge confondu?
Alors il y a en fait
plutôt
dans ta...
comme nous plutôt comme
pourquoi
Ludo.
Je pose la question parce qu'en fait non mais
alors où te situes-tu, jeune ou vieux?
Parce que non mais quand j'étais étudiant, lycéen étudiant, les bouquinistes c'était l'endroit principal, sinon le seul endroit où j'allais m'approvisionner en bouquins.
Ouais, alors effectivement t'as une question où il y a une double question, c'est-à-dire que moi ma clientèle,
c'est Ludo,
les gens qui viennent, et en fait j'ai toutes les tranches sociales et aussi tous les âges. J'ai du clochard qui n'a pas beaucoup de sous, hein, du SDF, qui vient chercher son livre à 50 centimes, et du prof d'université, de la maman qui vient chercher un livre pour ses enfants. Mais la plus grosse partie de ma clientèle sont les 8-15 ans qui lisent beaucoup. Alors, ils lisent très ciblés, ça c'est une chose, ils lisent beaucoup d'heroic fantasy, de comics, mais on s'aperçoit, nous, avec le recul, qu'en fait, dès qu'ils ont fait le tour de ce genre de littérature, eh ben, ils attaquent les classiques d'une manière extraordinaire.
D'accord. Vas-y, Freddy, oui.
Oui, non, je voulais savoir comment tu t'approvisionnais, est-ce que t'allais... Ah, c'est la question de ça. Vas-y, tu vas la poser mieux que moi, je pense.
Alors, comment t'approvisionnes-tu?
Quelle élégance, Freddy. Quelle élégance.
Très bien formulé.
Alors là,
franchement, ta douce voix porte cette question.
Mieux que moi. C'est beau.
En fait, 95% sont des particuliers qui viennent nous vendre des livres. Généralement, ils se déplacent directement à la boutique. Ils viennent avec des cartons, des sacs. Et au quotidien,
ils t'offrent ces livres ?
Non, rien n'est offert. Non, je rigole. Des fois, des gens veulent nous offrir des choses. Mais moi, je pars du principe où s'il y a quelque chose qui m'intéresse, déontologiquement, je peux pas le prendre gratuitement pour le revendre derrière. Donc, je leur dis généralement, soit je vous l'achète, soit je vous fais un avoir pour reprendre autre chose. Mais par contre, les livres qu'on ne veut pas, soit les gens repartent avec, soit nous on travaille avec une association pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas acheter des livres et qu'il y a des associations qui sont bien contentes de les avoir.
C'est bien.
Alors les livres que tu ne prends pas en général, c'est...
ceux qui sont dans ma bibliothèque qui l'ont refusé une fois.
Mais tu avais tous les Nadine de Rothschild et j'avais en double.
Non, mais c'est vrai que c'était... Mais par contre, pour revenir sur ce que tu dis...
Attends, laisse-le parler, merde.
C'est juste, je suis venu une fois chez toi et je fais partie des exemples des gens qui se sont fait par autoquer, parce que c'est pas le mot, moi j'avais des bouquins et comme tu dis...
Boulé, plutôt.
Psychologiquement, moi je sais pas... J'étais un bouquin, c'est con, mais je sais pas le faire. Et du coup, ils sont toujours dans ma bibliothèque, ils attendent, etc. Mais c'est vrai que tu te rends compte qu'effectivement, tu sais pas quoi en faire. Donc, les associations et les choses comme ça, c'est intéressant d'orienter vers ça.
Donc, tu as refusé toutes ces annales du bac. Donc,
pas tout à fait ça.
Sinon, moi, je suis preneuse de très vieux bouquins que vous ne voulez plus.
C'est vrai?
Oui, parce que moi je recycle, je fais des hérissons porte-papier.
Ah, mais j'en ai.
Hérissons, ça intéresse Marius, je crois.
Ah, joli. Joli.
C'est pas facile, Marius, c'est pas facile.
Je l'ai vu relever les yeux comme ça.
Marius fait un peu de bave au coin de la bouche.
Mais tu as raison de le préciser parce qu'il y a des choses qu'on met aux associations qui sont encore lisibles, mais des fois on nous offre des livres où il manque des pages, où ils sont trop vieux, ils sont abîmés, et beaucoup d'artistes nous demandent du vieux papier pour les recycler, pour faire des choses avec.
Et je vous assure, c'est très joli, c'est utile.
Mais c'est très bon, Gilles.
Vas-y, Ludo, t'avais commencé une question, t'as tout interrompu.
Non, tu la poseras jamais, ta question, jamais.
Allez, pardon, cousin.
Je suppose évidemment qu'il y a la question au niveau de l'état du bouquin, etc. Mais c'est certainement aussi, c'est quoi? C'est le fait que tu en aies déjà plein en stock, par exemple, qui ne se vendent pas. Est-ce qu'il y a des critères de...
Alors, comique de répétition, il y a une double question dans ce que tu viens de me faire. J'ai l'impression de me répéter.
Parfois, tu peux avoir triple ou quadruple.
Magnifique.
Et comme dirait un de nos anciens invités, si tu continues à poser des questions, tu vas trouver la réponse tout seul. Ouais.
En fait, c'est pas l'état qui nous arrête, puisque nous, cette particularité dans cette bouquinerie, c'est qu'on a été formé à restaurer les livres. Donc même un livre abîmé, même dépouillé, on peut le restaurer, on peut le remettre en état. Et si vous vous passez à l'occasion dans cette boutique, vous verrez que les livres sont restaurés, nettoyés et généralement couverts. Et pour le choix, en fait, il est subjectif, forcément, le choix. Il est lié, au stock qu'on peut avoir. Et puis après, il est lié aussi à la connaissance des gens qu'on va avoir. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que, par exemple, le samedi matin, on change la vitrine parce qu'on sait les gens qui vont passer voir la vitrine.
D'accord.
On sait qu'il faut mettre tel ou tel livre pour telle personne qui viendra à telle heure. On sait telle ou telle chose pour telle...
C'est parce du marketing.
Du marketing, mais c'est surtout de la connaissance des gens qui viennent et qui viennent de plus en plus nombreux et qu'on arrive à connaître de mieux en mieux parce qu'il y a un dialogue qui s'instaure et donc on sait les thématiques qu'ils recherchent et les choix qu'ils engagent.
On parle marketing mais un peu d'humour aussi des fois. Qu'est-ce qu'on trouve dans la vitrine du rêve?
On essaie, alors là c'est une question piège parce que il y a plein de choses à partir de quelle heure?
Des bandeaux ou des choses comme ça des fois?
Par exemple,
les bandeaux. Ah oui, alors les bandeaux, ça c'est une chose qui avait été initiée il y a quelques temps sur un 1er avril. Et en fait, on avait fait des faux bandeaux comme on peut trouver à la Fnac, à l'Armitière, qui mettent en valeur le livre en disant le meilleur livre de l'année, livre extraordinaire signé James Ellroy, Patterson qui dit qu'Ellroy c'est un géant. Et donc, on avait détourné toutes ces jaquettes en, par exemple, mettant une jaquette prix Femina pour Sade. Voilà, on avait mis du sang, du sexe, du meurtre, un roman fabuleux pour la Bible. On avait mis numéro 1 au Botswana ou déjà 3 exemplaires vendus au Burkina Faso. Voilà, c'est le genre de choses qui nous ont fait rigoler parce que en plus 80% des gens n'ont rien vu. Et il y a même des gens, il y a un monsieur qui est entré en disant « Ah, je savais pas que ça avait eu le prix Femina !» Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, on a réitéré il y a pas longtemps et ça marche toujours aussi bien.
C'est super bon, ça.
Oui, c'est sympa. Et alors, puis, clientèle d'habitués, essentiellement, donc, alors?
Une grosse clientèle d'habitués et une grosse clientèle aussi de touristes, notamment sur juillet et août, parce que beaucoup de gens pensent que les vendeurs ou les marchands ou les commerçants de Rouen pensent qu'il faut fermer en juillet et en août. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Et en fait, comme nous, on est ouvert et que les autres sont pas ouverts, bah, tout le monde vient chez nous, ce qui est pas mal. Ouais. Mais il y a beaucoup de touristes russes, beaucoup de touristes italiens et beaucoup de touristes anglais toute l'année.
Et donc, tu vends des livres de toutes les langues?
Oui. Enfin, j'évite le norvégien, le suédois, le swahili. Non, on vend toutes les langues. En majorité, sont des livres en langue anglaise, en langue espagnole aussi. Malheureusement, plus trop.
Après
en...
le français, quand même.
Oui, après le français. Oui. Mais beaucoup de livres anglais. Et bizarrement, beaucoup de livres en russe aussi, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui vont partout en Europe. Pendant longtemps, il y a beaucoup de livres qui étaient encore interdits en Russie. Donc les gens les achetaient partout en Europe, les ramenaient dans les datchas qui n'étaient pas en Russie, et voilà, ils se constituent leur...
Mais il faut se faire référencer dans le guide du routard.
Mais nous sommes dans le guide du routard, dans... non, je ne sais pas, on y est peut-être.
Tu y es peut-être.
Tu es une bonne enseigne,
peut-être,
en fait,
on ne le sait pas, mais... Ouais. Mais voilà, après,
Et toi, parce qu'évidemment, tu tiens des domaines de prédilection, je suppose.
Alors, c'est pour ça que la question de Freddy tout à l'heure, qui était Monsieur Rêve, on est deux, et effectivement, on est deux, chacun de nos domaines de prédilection. C'est-à-dire, mon collègue Jérémy, lui, il est plutôt très polar, il est plutôt heroic fantasy, moi je suis plutôt science-fiction traditionnelle, je suis plutôt philosophie, sociologie, et ainsi de suite. Dans le roman, on est chacun dans notre domaine, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes lectures. Moi je suis plutôt dans le fantastique, lui il est beaucoup plus dans les choses un petit peu à la Jim Harrison, les grands espaces. Donc nous, on se complémente vraiment beaucoup. Et on apprend beaucoup des gens surtout.
Oui, parce que je suppose que enfin quand les gens viennent te demander un conseil, enfin tu es pas non plus t'as pas la science infuse, mais au bout d'un moment t'es bien obligé d'avoir une un panel quand même très très large de lecture.
Tout à fait. Alors il y a des gens qui croient qu'on a lu tous les livres hein, qu'on a, ce qui n'est pas possible vu qu'on en vend quand même 30 000 à l'année et qu'on en a 60 000 en permanence.
Quand même. Ouais.
Donc il y a un gros roulement. Après, moi j'ai eu cette chance quand j'étais dans l'éducation nationale de beaucoup lire puisque j'avais beaucoup de temps.
Ah, voilà, ça c'est dit.
Voilà. Donc,
donc j'ai du mal à comprendre pourquoi Didou n'arrive pas à remplir le conducteur de l'ordre pas.
Alors moi, contrairement,
enfin, surtout en vacances.
Non, non. Mais bon. Bah, moi, j'explique. J'ai lu énormément avant. C'est effectivement avant.
Oui, oui, au pays des.
Mais depuis que j'ai ma classe. Oui, mais moi, j'ai des grandes sections CE1. Je fais un grand écart, donc je prépare deux classes.
Tes excuses nulles.
Mais je comprends ce que tu dis. De par ta formation en plus, en ayant suivi des études philosophiques, j'imagine que la lecture, c'était quelque chose de très
important.
Très important.
Et par rapport à ça, deux choses, c'est que moi, j'étais capable, comme beaucoup de gens le sont, de lire plusieurs livres à la fois. Il faut pas que ça soit dans la même thématique, mais voilà. Et puis, j'ai eu beaucoup de temps pour lire tous mes classiques. Donc, tous mes classiques, je les connais. Après, effectivement, on se laisse pas mal porter par les gens qui viennent en boutique parce que eux sont des grands lecteurs. Et quand j'entends deux, trois fois quelqu'un dire, ce livre, il est extraordinaire, faut le lire. Et effectivement, ça nous permet de lire très ciblé et d'aller beaucoup plus vite dans les lectures.
Moi, je voulais revenir sur des actions que tu mènes aussi au sein de ta boutique, notamment le livre en attente. C'est comme ça qu'on l'appelle ?
Ouais, le livre en attente.
Tu peux nous en dire un peu plus ?
Le livre en attente ou le livre suspendu. En fait, c'est l'idée au départ de quelqu'un que vous avez reçu ici, qui s'appelle Monsieur Anthony Quindroy.
D'accord. Je ne connais pas cet homme.
Voilà. qui un jour est passé
vous
en boutique.
Vous avez ruiné le bar. Hein, je me souviens.
C'est clair. Oh là là.
Et en fait, on faisait déjà ce qu'on appelle le livre voyageur, c'est-à-dire un livre qui est distribué dans la rue comme ça sur un banc. Donc on faisait ça depuis des années, surtout l'été, de distribuer entre 150 et 300 livres tous les étés, qu'on empaquetait dans des petits paquets personnalisés pour que les gens aient pas peur de le prendre et ainsi de suite. Puis un jour il passe, il dit ouais, il y a le café suspendu, ce qui serait génial c'est de faire le livre suspendu. Et là bing, on se dit pourquoi pas, et bizarrement, on est les premiers en France à l'avoir fait.
Le principe, tu le rappelles ?
Oui, oui.
Alors le principe, c'était de donner 2 euros, on met un livre en attente, et en fait, la personne qui vient chercher le livre en attente peut choisir n'importe quel livre dans la librairie. C'est-à-dire que s'il coûte 1,50€, il coûte 1,50€. Par contre, s'il coûte 6€, eh ben nous, on prend en charge la différence. Voilà. C'est pour permettre aux gens de pas se faire imposer un livre et en plus de se dire c'est moi qui le choisis pour le coup.
Pour résumer, je me mets des deux côtés de... Donc il y a quelqu'un qui vient, qui donne 2€ en plus de son achat, qui dit tiens, ça sera pour le livre suspendu.
Tout à fait.
Une autre personne qui a peut-être pas forcément les moyens d'acheter un livre passe à la boutique et dit j'aimerais bien...
Tout à fait.
Profiter d'un livre suspendu.
Tout à fait.
Et là, il peut profiter de ça.
Donc, ça veut dire que si je viens tous les jours, je peux avoir un livre gratos.
Ouais, alors on essaie quand même de privilégier.
Je vais te reconnaître.
Je vais peut-être le reconnaître, mais.
Ouais, mais moi, j'ai l'art du déguisement.
C'est pour ça que je me disais tout à l'heure, tu avais une perruque rousse et maintenant tu as une perruque blonde.
Donc,
en fait, alors, c'est pas tout à fait. Enfin, c'est pas facile. Tout le temps de demander un livre parce que la démarche est pas simple.
Oui.
Donc il y a des gens qui nous le demandent parce qu'ils ont pas beaucoup de sous et voilà, comme certains SDF ont, voilà. Sinon nous on le fait volontiers, on le fait directement, c'est-à-dire ça m'est arrivé il y a pas si longtemps d'avoir une maman qui est venue avec ses trois filles, elle a pas beaucoup de sous, elle fait à ses filles prenez un livre un chacun mais pas plus quoi. Et quand ils sont arrivés à la caisse, j'ai dit celui-là il est gratuit parce que vous avez des livres en
D'accord,
attente.
Oui.
Donc c'est plus facile aussi des fois de le faire et le contexte fait que ça se fait naturellement.
J'adore.
C'est bien, c'est la démarche.
Je trouve que c'est vraiment démocratiser une culture auprès des gens et puis de la rendre accessible et leur. Enfin, la démarche, elle est juste judicieuse.
Celle que tu évoquais tout à l'heure. Enfin, moi, je l'avais. Ce que tu disais, les livres, les voyager et les livres.
Le livre voyageur.
Le livre, c'était ce que
le book crossing en anglais.
Book crossing, voilà, c'est ça. Moi, j'avais découvert ça justement en 2012. J'avais fait dans le cadre de mon blog, j'avais trouvé ce truc-là et j'avais suivi un peu. C'était août 2012, je crois, un truc comme ça. J'avais suivi un peu le truc. J'étais en déplacement ce jour-là, j'avais pas pu voir, mais on voyait que ça. Dans Rouen, en tout cas, les gens suivaient un petit peu ce truc-là, et je trouve que c'est pas mal pour découvrir le côté. Et puis j'en ai parlé avec des gens qui me disent c'est marrant, il y a des livres qui traînent un peu dans Rouen, et puis. la démarche que tu disais.
C'est dégueulasse, il y a plein de livres qui traînent.
On n'a pas non plus partout, mais c'est vrai qu'un livre qui traîne, je dirais, on peut croire qu'il est oublié, alors que c'est vrai que s'il est empaqueté, etc., on voit que c'est pour une démarche. Et c'est,
alors
c'est
le book crossing, nous on voulait pas justement, comme tu le soulignes là, que ça soit limitatif comme le principe initial. C'est-à-dire que le book crossing, normalement, il y a une étiquette dedans, on peut suivre le livre sur internet, faut que les gens disent qu'ils ont ramassé tel livre. Ça nécessite quand même qu'il y ait une démarche particulière, ce qui peut des fois gonfler les gens de faire ça. Voilà. Nous, on voulait juste dire, on distribue des livres, peu importe qui va les prendre, c'est pas grave. Ils les lisent, ils les lisent pas, et ainsi de suite. Des fois, on n'a pas de retour tout de suite. Par contre, des fois, on a peut-être 6 mois après des gens qui nous disent, je vous l'ai pas dit, mais j'ai lu un super livre et je l'ai pris il y a 6 mois et je l'ai lu, quoi. Mmh. Donc ça, c'est génial. Et on a des livres qui sont partis loin. On a des livres qui sont partis en Hollande, au Japon, enfin, qu'on voyageait parce qu'on a fait un petit empaquetage, qui est assez visuel et du coup, il est un peu collector, on va dire. Donc les gens le prennent parce que c'est un petit peu collector en plus du livre.
C'est une démarche de partage, quoi.
Ouais. En fait. Ce que je trouve très très bien, c'est que c'est couplé en plus avec une.
Dans ton micro.
Pardon, oui. Avec la communication que tu mets en place. C'est-à-dire que ce que je trouve vraiment très très fort, c'est la com qui est faite sur Internet. C'est-à-dire que tu allies ce genre de démarche avec une présence très forte. Alors c'est via Facebook. Alors, moi j'ai surtout vu Facebook principalement. Je sais pas s'il y a d'autres supports.
Principalement, je crois.
Mais principalement parce que c'est véhicule très rapide. Ça touche aussi beaucoup de gens. Et puis là, ça s'étend de plus en plus.
Combien d'amis, monsieur Rêve?
Plus de 1000, 1500.
Entre le rêve de l'escalier, la page Facebook du rêve de l'escalier et la page de Monsieur Rêve, parce qu'il existe une page Monsieur Rêve, on est presque à 5000 personnes qui
marchent. Je voyais, il y a
quand même.
Il y en a 2000 pour le rêve de l'escalier quasiment. Et puis plus de 2700 pour Monsieur Rêve.
Soit le nombre d'auditeurs de l'entrepôt quand même.
Non, c'est énorme. Voilà. C'est demain.
Suite à la venue de Monsieur Rêve.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire que ça a une dépense d'énergie conséquente. Parce que, je veux dire, il faut être présent, il faut...
Alors oui et non. C'est-à-dire que moi, sur Facebook, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Enfin, ça ne me prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, moi, avec mon café le matin, je déconne à faire des jeux de mots sur le rêve de l'escalier, justement, à cacher plein de choses. Donc, ça me prend le temps du café, c'est-à-dire une quinzaine de minutes. Je suis en présence boutique 65 heures par semaine, donc du coup je suis connecté en permanence, donc dès que ça réagit, j'aime bien aussi réagir et avoir des interactions. Et tu soulignais un truc qui est important pour moi, mais dans la vie de tous les jours et d'autant plus dans la librairie, c'est qu'il y a deux choses qui me tiennent à cœur. C'est un, la curiosité, c'est être curieux de tout, et ça enlève pas mal de choses, de préjugés sur plein de choses, et le partage. Et en plus, ça va ensemble. La curiosité et le partage, ça va ensemble.
C'est un peu l'objectif qu'on a, nous, ici.
Plus modestement.
Toute proportion gardée, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que...
Non, pas toute proportion gardée, parce que ce que je fais, j'espère que d'autres le font à côté. C'est tout ce que j'espère. Et je sais qu'il y en a d'autres qui le font sous différentes formes. Moi, je le fais sous la forme de la librairie, mais on reçoit des artistes dans la librairie, on fait des ateliers de jeux d'écriture. Mais c'est juste pour montrer que, en fait, la littérature, elle est vecteur de plein de choses. La littérature, elle est présente dans les scénarios de cinéma, elle est présente dans les paroles de musique, elle est présente dans plein de choses. Donc, du coup, je veux juste montrer que c'est juste un vecteur. Après, qu'on le fasse différemment, il y a des gens qui font des spectacles, il y a des gens qui s'intéressent qui font de la radio, il y a des gens qui font de la télévision. C'est juste un moyen, ça.
Oui, c'est notre pote de création.
Oui.
Et puis, sur ta page Facebook, ce qui est sympa, c'est toutes les petites... petite citation quotidienne qui sont jointes avec une image l'illustrant à chaque fois, avec un côté
très bien choisi, toujours
un petit peu décalé toujours. Et moi j'adore tous les matins quasiment pareil hein, quand je
alors l'optique d'avoir un petit peu, alors c'est un peu l'humeur du jour, toujours l'humeur du jour, et il y a un mot choisi, c'est-à-dire le matin je me dis tiens, ce matin ça sera j'ai vu quelqu'un et sourire, voilà. Et je vais chercher une situation où il va y avoir le mot sourire dedans. Et je vais essayer de coller à l'image, soit décalé, soit complètement approchant du truc. Et c'est vrai que moi, on m'en parle pas souvent sur Facebook. Il y a des gens qui mettent j'aime et ainsi de suite. Par contre, on m'en parle beaucoup en boutique. C'est-à-dire, les gens se déplacent pour me le dire. Et ça, c'est assez nouveau, je trouve.
Et c'était quoi le mot du jour, alors, aujourd'hui?
Le mot du jour aujourd'hui, j'ai posté un petit teaser pour le dire que je venais cet après-midi faire de la radio. Donc si vous regardez, vous verrez qu'il y a ça, et puis il y a un petit.
Il y a des fois, musical. Je me dis, va falloir que je me crée un compte Facebook en fait.
Mais il serait temps.
Je sais bien.
On peut vivre sans, mais c'est sympa aussi.
Tu parlais d'atelier tout à l'heure. Quel est le genre d'atelier que tu organises chez toi?
Alors, c'est un atelier. Alors, c'est un atelier sans être un atelier. C'est-à-dire que c'est un atelier qu'on appelle atelier de jeu d'écriture, où le but, il est vraiment de prendre du plaisir et de s'amuser. Cet atelier, il est mené de main de maître par Dorothée Piatek, on en a parlé tout à l'heure avec Freddy, qui est une très grande auteure jeunesse. Et à chaque fois, dans cet atelier, on a 25 places.
Voilà. Plus un invité prestigieux.
Exactement. C'est un invité prestigieux qui est toujours un invité mystère. On ne dit jamais qui va être l'invité mystère. Les gens s'inscrivent. Alors, l'atelier commence à prendre un petit peu de l'ampleur et ainsi de suite. Donc, on a trouvé un système pour faire en sorte que tout le monde puisse, à un moment donné, venir à l'atelier. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent. On essaie de pas prendre les gens qui sont déjà venus précédemment, mais de privilégier les gens qui ne sont jamais venus. Après, s'il reste des places, on fait un tirage au sort par rapport aux gens qui sont venus. Et après, on communique sur l'invité mystère. L'invité mystère, il est toujours lié soit au cinéma, soit à la musique.
Tu peux en citer quelques-uns, peut-être, qui sont déjà venus.
Le premier, c'était notre parrain, c'était Christian Clerc. Donc, c'est un scénariste. Il a collaboré au dernier film de Claude Duty. Il a été surtout la plume de Claude Villers pendant longtemps sur France Inter. On a eu Anthony Anérins, qui est grande carnettiste. On a eu Béatrice Eguémard, qui est très grande auteure aussi, mais historique et beaucoup plus pour adultes, pour le coup. Et le principe, c'est les gens viennent, c'est gratuit, ils s'installent, ils mettent les pieds sous la table, on s'amuse, les jeux sont tout à fait différents à chaque fois, puisque c'est Dorothée Piatek qui les crée. Et on boit, et on mange, et on a deux petites cuisinières qui nous font des trucs fabuleux, des macarons, des...
Donc là, on est vraiment dans l'atelier de partage total.
Ouais, mais c'est toujours le principe, c'est-à-dire tout événement qui se passera à la librairie sera...
On a testé pour vous l'atelier de
l'escalier. J'étais en panne cette semaine.
Attends, on va y aller là.
Chargé à bloc. Hein. Ouais.
Et moi, j'ai eu la chance de voir la préparation de la première. C'est quand même très convivial. On installe les tables au milieu de la boutique et c'est bon enfant en plus. Hein.
C'est l'optique. C'est-à-dire que comme on fait tout pour que les gens soient à l'aise, donc les bancs, ils sont faits avec les tables qui maintiennent les CD au fond de la boutique. On a des caisses en bois qui servent de bancs, on a les tables qui sont modulables, on essaie d'installer tout le monde pour que les gens prennent le plus de plaisir possible. Et au final, je pense qu'on a réussi un petit peu ce pari, c'est que tous les gens qui sont inscrits ont envie de se réinscrire à l'atelier suivant, parce qu'on passe une bonne soirée, ça finit très tard, et qu'en plus, ils peuvent rencontrer les invités et discuter avec eux. Donc, ça a été ça aussi sur les gens qu'on a pu inviter musicalement, que ça soit Lidwin, que ça soit Jeff Alam, qui était le bassiste de Dominica, qui est venu avec tout son groupe, Amara, qui est venu faire un showcase, et le lendemain, il joue aux Folies Bergères en première partie de Julien Doré. Les gens étaient bluffés et baba, quoi.
Moi, je voudrais justement rebondir sur l'activité musicale du lieu. Donc, j'ai cru comprendre que tu organisais, donc, par rapport à ce que tu viens de dire, des concerts dans la boutique.
Oui.
Ça m'intrigue.
Comment
c'est possible?
Alors, c'est possible? En fait, on a fait en sorte que...
Parce que nous, on connaît un petit groupe.
non, pas du tout, non.
Alors, il y a de la place, mais en 2022.
D'accord.
En fait, le lieu, on a fait en sorte qu'il... Oui, alors la taille...
Ce sont les voisins, enfin, je pense que c'est ça que tu veux dire, Christophe?
Oui, c'est-à-dire que quand... Bon, la musique, c'est fort, ça peut être fort. Il y a une histoire de place à la fois pour l'installation du groupe, mais pour le public potentiel.
Bien sûr.
Il y a de la maintenance, il y a de la logistique quand même.
Alors oui, c'est-à-dire que le lieu a été fait en 7 ans, on l'a modulé. C'est-à-dire toutes les tables sont roulantes, on peut les glisser sous plein de choses. Donc on fait en sorte que l'espace que tu vois dans la journée ne soit pas le même le soir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui dépasse dans la boutique. Le soir venu, quand on fait un concert, la preuve étant que, par exemple, Jeff Alam, ils sont venus à 4, et on était plus de 65. En général, on est entre 50 et on a été jusqu'à 65-70 personnes.
D'accord.
Après, quant au son, on a cet avantage d'être dans une librairie. Et en fait, les livres
absorbent le son.
Absorbent le son.
Ce que je voulais savoir.
Alors, absorbe le son et le renvoie. C'est-à-dire, tous les gens qui sont venus jouer.
C'est-à-dire, quand tu ouvres le livre après, il ressort la musique. C'est
exactement.
Ça.
Wow. Et tu crois pas si bien dit, on croit beau. Entendre encore les murmures de certains chants dans les livres. Mais pour le coup, il y a des gens comme un grand guitariste qui s'appelle Olivier Mélano, qui est venu nous faire ce grand plaisir, qui a joué avec les plus grands, qui était guitariste de Dominica, il a joué avec Jan Tiersen. Et ben, il est venu de Rennes, il a pris le train le matin, il est venu jouer le soir, il est reparti le lendemain matin, juste pour jouer à la librairie. Donc ça c'est et lui-même trouve que l'acoustique est extraordinaire parce que ça rebondit sur les livres, ça assourdit quelque part et ça crée une ambiance encore plus cosy.
Et on l'a pas dit mais c'est gratuit quand on quand c'est, tu voilà, organises quelque chose.
Et le principe c'est que ça soit gratuit. Moi je pars du principe en tant que bouquiniste et commerçant forcément parce que c'est une librairie et je prends tout à ma charge pour que les gens se disent pas je peux pas y aller parce que j'ai pas de sous et je veux pas que le prix soit limitatif, c'est-à-dire il y a plein de choses qui se font mais des lieux qui sont encore gratuits comme ça, il y en a pas beaucoup et j'ai envie que ça soit vivant pour ça.
Et la fréquence de ces manifestations, c'est-à-dire c'est plutôt, notamment pour les ateliers d'écriture, c'est plutôt hebdomadaire, mensuel, idem pour les concerts, est-ce qu'il y a une fréquence mise en place ou c'est un petit peu aléatoire ?
C'est complètement aléatoire. Un, deux, trois. C'est bon. Ouais, c'est bon. Mieux. En fait, c'est complètement aléatoire parce que ça se fait au débeauté des rencontres que je vais faire.
D'accord. Voilà.
Quand Jeff, il est venu, ça s'est fait au débeauté. C'est-à-dire, ça s'est fait deux semaines avant. On savait qu'il allait passer tel jour. Paf, on l'a fait. Amara, quand elle est venue jouer, il a dit j'ai qu'une seule date pour venir, c'est le 12. On peut pas faire autrement. C'est la veille de mes trois jours de Folie Bergère derrière avec Julien Doré. Donc on va pas dire oh non, on peut pas. Excuse-nous. D'accord. Non, ils nous font grand.
Décale les Folies Bergères. Fait quelque chose.
Oui, voilà. Il y amène Julien, il peut venir. Mais en fait, non, ça se fait comme ça et c'est très bien que ça se fasse comme
mais
ça.
Mais pour les ateliers d'écriture, en revanche, il y a.
On essaie d'avoir une quantité qui soit tous les trimestres, mais elle est dépendante aussi des invités mystères. D'accord. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir, je peux pas trop les dévoiler parce que c'est des invités mystères, mais qui sont des gens très connus, et ces gens-là, il faut pouvoir les caler à un moment donné en fonction de leur actu, donc c'est pas toujours très simple.
Tu m'avais parlé de Robert De Niro ? Ah non, pardon, c'est mystère, pardon.
Are you talking to me ? Mais non, on fait en sorte que, comme disait Freddy, tout soit gratuit pour que les gens viennent assister de manière détendue à quelque chose qu'ils ne seraient pas venus forcément voir. Il y a des univers, il y a des gens qui viennent en disant « moi, la harpe, pas terrible, hein. Je pense à Nana Mouskouri en entendant de la harpe. » Et je dis venez voir. Et...
Nana Mouskouri, la harpe.
Ouais, je sais pas, moi j'ai une idée de Nana Mouskouri à la harpe, je sais pas pourquoi.
Non, mais... petit tambour, mais c'est pas de la harpe.
Alors je m'inscris en faux, je sais pas si vous avez déjà écouté les premiers albums de Nana Mouskouri.
Ave Maria.
Qui sont, mais magnifiques.
Quoi faire, ah bon
c'est bizarre. Mais vraiment. Hein.
Non, mais là tu me dis ça, mais. À... Ne m'invite pas, j'ai vécu avec Nana ma petite enfance donc.
Ah oui.
Non, cherche ouais, vraiment. La harpe.
Si j'avais pensé qu'on dirait ça un jour à l'anthropode.
Non mais moi je pensais harpe grec.
Je présenterai un public prochainement.
Oui, pardon. Bon, oui, t'as raison.
Non mais dans mon esprit c'était ça. Mais on mais pour revenir sur Lidwin, effectivement, on a eu cette chance grâce à un monsieur qui je veux le citer parce que c'est aussi quelqu'un qui est vecteur de beaucoup de choses, c'est Seb Petit sur Rouen qui par avis de passage fait beaucoup de choses, qui va filmer plein de choses, qui va avoir plein de concerts, qui met en place plein de choses. Je pense que Freddy
qui fera un bon invité à cette table.
Voilà.
Je trouve,
ouais. Et un jour, Freddy m'a dit, j'ai quelqu'un qui s'appelle Lidwin, elle est extraordinaire, elle joue de l'harpe et de l'harmonium indien.
C'est Petit qui te dit ça, pas moi.
Oui. Ah, tu me l'as peut-être dit dans mes rêves, mais mais non, c'était ça, Petit. Et je lui dis, voilà. Et elle est venue de Paris. Voilà, elle est venue de Paris, elle est venue jouer et les gens étaient baba. Et tellement baba et tellement détendu que je crois qu'elle a jamais vendu autant de CD dans une soirée puisque les gens, il y avait tous les âges, il y avait des gens qui étaient âgés, il y avait des gens jeunes. Ça aussi c'est important parce que ça brasse aussi, ça casse des codes culturels. Et les gens se sont dit, si c'est ça l'arbre, j'ai envie d'écouter ça. Et Lidwin sort son album dans pas longtemps.
J'allais te le dire, elle fait quand même pas mal parler d'elle en ce moment. J'ai l'impression de la voir un petit peu.
C'est-à-dire qu'elle est passée à France Inter, sur RFI. Et là, elle commence à monter en puissance. Lidwin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais vraiment beaucoup de talent qu'on, à mon avis, qu'on va entendre dans pas longtemps sur son album. Elle a une voix très reconnaissable. Souvent, elle l'apparente à la voix de Björk. mais elle a une voix qui
ça
est
va,
propre à
la comparaison.
Ouais, ouais, ouais. Elle a une voix qui est
pas plus dégueulasse, quoi.
Et puis c'est une excellente musicienne. Et tout ce qui a été fait au rêve de l'escalier en termes musical a été filmé par Sepp Petit. Donc on peut le retrouver sur Internet. Donc on peut
sur YouTube. Sa chaîne YouTube s'appelle Sepp Petit.
On mettra le lien vers ça.
Donc si on passe chez lui, on vend des albums, ça tombe bien, je connais un petit groupe qui cherche à se produire, ils ont sorti un truc il y a pas longtemps.
Ils vont sortir un truc.
Depuis tout à l'heure, on parle de bouquins principalement, là on commence à dévier sur la musique, mais c'est aussi un sujet qui a l'air de t'intéresser. Enfin, j'ai pas mal suivi aussi à une époque par rapport à quelqu'un que t'as l'air de plutôt bien connaître, c'est Lady Arlette.
Oui.
Avec qui je crois que vous aviez joué d'ailleurs, vous, les Kinky.
Nous, on a fait un concert avec Lady Arlette.
Ouais, donc,
pour rejoindre un petit peu. Tu vois, je rejoins Marius un petit peu sur le truc, mais effectivement, t'as été même sur son clip, je crois.
Sur les deux clips.
Oui. Sur les clips. Donc, la musique, c'est aussi quelque chose qui.
D'ailleurs, si tu pouvais venir laver les vitres chez moi, la semaine prochaine.
J'étais laveur de carreaux sur le premier clip. Mais en fait, c'est pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je suis curieux de tout. Je m'arrête à rien et j'ai pas envie de m'arrêter à quelque chose. Et pour la petite anecdote, par exemple, Lady Arlette, on s'est connus il y a que un an et demi. Et en fait, on s'est connus de manière très fortuite parce qu'elle devait faire une interview dans la boutique. Et en fait, la personne qui devait l'interviewer, le journaliste n'a pas pu venir. Et donc, on m'a demandé de faire une interview. En fait, on n'a pas fait d'interview. On a parlé. On a parlé pendant 4 heures. On s'en est pas aperçu. Les gens étaient partis et on était toujours là. Et donc, du coup, c'était un peu un coup de foudre parce qu'on avait la même façon de voir les choses en disant, voilà, je connais pas, mais je vais apprendre à connaître. D'autant plus qu'elle est dans la vie professeure de français.
Oui, vous êtes trouvé des affinités.
Donc, on s'est trouvé des affinités, mais surtout musicalement, cinématographiquement. Et moi, j'aime tout. J'aime la musique, j'aime le cinéma, j'aime la lecture. Mais
la culture.
La culture en général. Artistique. Voilà. Il faut que ça me touche, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de gens, je pense.
Je voulais justement y venir rebondir là-dessus. Tu m'offres une transition toute trouvée.
Magnifique. Non,
mais oui, c'est.
Combien de questions dans ta question? Mais
décompose ma question en 8 points.
Taquin, aujourd'hui.
Tu t'es tué pendant longtemps, donc on appréhende un petit peu.
Premièrement, pas du tout. Premièrement, petit A.
Voilà.
Allez, lâche tout.
Un sujet du bac.
Je développerai mon propos en 12 points.
Vas-y.
Non, c'est l'Omnia.
Oui, c'est dire.
Mais oui.
Bon, du coup, un mot.
Et oui. Parce que je sais que
c'est formidable.
Moi, en fait, j'ai eu l'occasion de te croiser, je crois, pour la première fois, c'était la nuit Retour vers le futur.
Tout à fait.
Et
pourquoi t'as pas donné le cadeau à mon mari, d'ailleurs?
Et surtout,
parce qu'il
fils.
A mal répondu à la question.
Non, parce que mon fils, Marius, avait la réponse.
Oh, la vieille rancœur. La vieille rancœur.
Elle est terrible, là. Ouais. Ça fait 20 ans. Ouais. Oui, donc voilà, ça m'intéresse de savoir comment tu as aussi développé des contacts avec l'Omnia et avec les manifestations que l'Omnia organise.
Et ta passion pour le déguisement aussi, qu'on a pu partager.
Ah, le déguisement, les films, bref.
Voilà.
Raconte-nous tout.
Garth Algar, nous t'écoutons.
Très bien déguisé en Garth Algar à l'occasion de la nuit Wayne's World.
Tout à fait, méga tough, excellent.
Dont on avait parlé ici même d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Comment tu as né les contacts avec l'Omnia? Comment ça s'est fait?
Eh bien, toujours sur le même principe de curiosité, de partage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Omnia, ils sont ouverts depuis 3 ans en fait. L'Omnia existe depuis longtemps en tant qu'entité cinématographique, mais ils ont vraiment ils sont revenus sur le devant de l'activité il y a 3 ans, puisqu'il y a une direction qui est arrivée, un programmateur qui s'appelle Jean-Marc de la Cruz, un directeur qui s'appelle Hervé Aguillard. Et en fait, on s'est rencontrés lors d'une soirée spéciale FJO Sang, qui est un très grand réalisateur que je ne connaissais pas à l'époque et du coup que j'ai appris à connaître. Et du coup, on a développé des liens d'amitié parce qu'on a la même façon de voir, c'est-à-dire la curiosité, c'est-à-dire s'émerveiller de choses. Moi, potentiellement, je vais au cinéma depuis l'âge de 8 ans, voir plein de films parce que j'ai eu cette chance d'avoir des grands-parents qui nous offraient le cinéma toutes les semaines. Mais par exemple, le cinéma pakistanais ou Kaboul, je connaissais pas du tout et j'ai appris à connaître. Et en fait, tous ces liens-là se sont tissés, mais que ça soit pour l'Omnia ou que ça soit sur d'autres personnes, sur le Hangar 23 où on connaît des gens, sur le 106 et ainsi de suite. Il y a tout un travail de curiosité, de passerelle qui fait que ça se fait de manière naturelle parce que moi, je fais ça pour le fun, c'est-à-dire je fais ça pour m'amuser. Voilà. Tout ce que je fais à l'Omnia, par exemple, parce que pour en revenir à l'Omnia, je suis plus présent là-bas parce que parce qu'il y a plein de choses à faire, on rencontre plein de gens. Voilà, j'ai eu ce privilège de rencontrer des grands cinéastes ou...
À ce sujet, une petite anecdote qui me fait sourire à chaque fois, mais tu as une petite pensée pour l'inviter, quand il y a un réalisateur ou un comédien qui vient, il y a toujours une petite attention de ta part pour lui?
Alors, on essaie toujours de leur faire des petits cadeaux et on fait des badges personnalisés en fonction des réalisateurs ou des acteurs. Ce qui nous a valu, par exemple, quand on a rencontré à l'époque de The Artist, Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius. Donc, j'ai eu cette chance de dîner avec eux et de leur faire des badges. Et ils ont tellement plu que Bérénice Bejo a porté ce badge pendant toute la promo du film.
Voilà.
Et ce badge, c'était juste des guillemets avec rien. Et j'avais mis une réplique culte du film. Voilà. Ça lui a beaucoup plu. Et on a eu cette chance de rencontrer Alain Cavalier, Fanny Cottençon.
Voilà. Ah ouais, je ne peux pas poser de questions.
Mais tu
pour,
peux parce
pour
que.
Pour pallier Wayne's World, on est à chier.
Non mais.
On n'y arrive pas.
Ceci dit, t'as une toile d'araignée de connaissances absolument hallucinante.
Mais elle
même,
se
parce que.
Mais elle se fait en fonction des rencontres. C'est-à-dire que on rencontre des artistes. Des fois, on a cette chance de pouvoir les mettre en relation les uns avec les autres. Ça a été le cas avec Lady Arlette il y a pas longtemps, avec des amis qui sont musiciens et notamment une violoniste qui maintenant joue avec elle. Pour la nuit Wayne's World ou la nuit Retour au futur, bon bah c'est aussi que les liens qu'on a tissés avec l'Omnia, notamment avec Hervé et Jean-Marc, font que moi pendant 2 ans je les ai tannés pour Retour vers le futur. Il n'y avait plus aucune copie disponible de Retour vers le futur, c'était soit en argentique et en numérique, ils n'étaient pas numérisés. Il a fallu attendre 2 ans qu'ils soient numérisés pour faire cette nuit-là. Et c'est fun, ça. Et Wayne's World, c'est pareil, c'était très très
c'était
fun.
C'était très drôle.
Et moi, j'étais même pas reconnu. Hein.
Non, non, Nico, moi non
mais
plus.
C'est lui ou c'est pas lui?
Mais c'est donc en fait, t'as plus un côté passeur, en fait. Enfin, t'aimes bien cette passion.
Ben, moi, j'aime bien ça. J'aime bien mettre en relation les gens. Voilà, c'est pas de la cooptation. J'aime bien le côté. Oui, on tourne sur DSK.
Hein.
C'était la chronique.
Attention, hein, ça fait dodo la saumure.
Non,
vous êtes
trop sérieux là. T'as raison.
Non. Mais je veux juste montrer que on connaît tous des gens et qu'à un moment, si on écoute un peu les autres, on peut tous se mettre en relation les uns avec les autres et que ça peut faire avancer les choses. Il y en a certains qui disent bah moi je connais telle personne et il me manque telle personne. Ah bah tiens, je connais telle personne. Ou est-ce qu'ils passent telle chose à l'Omnia, ou est-ce qu'ils vont passer telle chose sur d'autres salles de spectacle. Et ça j'aime bien, et faire découvrir des lieux ou des programmations ou voilà, ce qui a été le cas aussi, on participe à l'absurde séance voilà, où on jette des DVD XYZ au public
tout en étant je pense au départ Tu sais, t'as ceux qui décident d'organiser quelque chose et qui sont organisateurs, et les autres se laissent porter en disant on va te filer un coup de main, puis bon, on attend toujours le coup de main. Mais je pense qu'au départ, il y a aussi une part de caractère et de volonté de faire se rencontrer les gens, d'être assez ouvert d'esprit. Je veux dire, tu peux demander à 2 personnes de se rencontrer sans que l'alchimie se crée. Je pense qu'il y a aussi le lien, il vient aussi de la part de la personne qui décide de faire rencontrer les autres.
Certainement, mais je pense qu'on est tous capables de ça, alors de manière différente, de l'extérioriser ou pas. Mm-hmm. Mais après, je pense qu'on est tous capables de le faire. Après, c'est les moyens qu'on engage. Il y en a qui le font de manière sur les associations. Il y en a qui s'engagent dans des associations de manière humanitaire à l'extérieur, qui vont faire des combats politiques ou autres. Mais on s'engage tous à un moment donné. Après, moi, cet engagement-là, il est dans le milieu culturel, dans le milieu du partage, et je m'aperçois d'autant plus que ça se limite pas qu'au culturel. Ça va bien au-delà. Ça va dans l'échange. Ça va dans le fait que les gens à un moment se disent oh, bah j'étais content de venir ce soir et j'étais content de découvrir ça. Et ça c'est le plus beau cadeau, je pense, dise c'est comme je reviens à l'éducation nationale, quand on fait quelque chose, on voit pas instantanément la répercussion directe que ça peut avoir sur l'enfant, sauf que quand on les revoit peut-être 10 ans après, qu'ils disent bah j'ai pas été très sympa parce que à l'époque j'étais pas super, mais j'ai bien compris ce que vous m'aviez dit, je l'ai gardé en tête. Et ça a une valeur très importante,
inestimable,
et je pense que il ne faut pas le perdre de vue, et c'est ce que j'essaie au quotidien de faire par la boutique, parce que j'ai une boutique, donc elle permet de le faire. Mais c'est surtout, je voulais un peu dépoussiérer aussi l'image du bouquiniste vieux, même si j'ai une barbe blanche, qui est au
ça
fond de son magasin.
Ça te va tellement
magasin.
Bien.
Ouais. Non, mais là, pour le coup, ça fait un petit côté Richard.
Non, mais en plus, à Noël, tu fais quelques extras.
Honnêtement,
en plus.
Pour le coup, c'est là, la façon dont tu décris ta boutique, en tout cas, c'est pas du tout celle de le... C'est pas
le truc,
du tout l'image que j'ai.
Quoi, ouais.
Voilà.
Ouais.
Autant Ludo est un fan de bouquiniste, il rentre tout le temps.
Il est pas fan de bouquins, il est fan de bouquiniste.
Non, il est allé dans une.
Il m'a dit qu'il était fan du père Fouras tout à l'heure.
Oui, Patrice.
Non, mais moi, ce qui me déplaît, c'est l'idée de rentrer dans un truc. Alors, tu sais que tu vas effectivement peut-être trouver.
On en revient sur DSK.
Tu vois très bien l'image.
Mais je rentre dans rien, moi, je me laisse rentrer.
Oh, bravo.
Là. Ça nous parle. Et...
Pourquoi je n'aime pas que les choses poussiéreuses hein, vous
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est, moi j'aime l'odeur du.
Ah bah oui.
Ça y est, l'odeur du pneu cramé.
Même pas du tout.
On a perdu le fil. Non, là, ça y est.
Après, t'as,
allez,
t'as...
Bah, c'était trop.
Effectivement,
trop
c'est
sérieux.
Une atmosphère qui va faire que je vais y passer du temps. Et je vois Ludo, il est entré facilement dans des boutiques de bouquins, de bouquinistes.
Oui.
Et moi, ça me parlait pas parce que en plus, t'as une personne absente. Elle est plus ou moins là pour dire qu'elle est là. Moi, j'aime bien l'idée de quelqu'un qui soit attentif à ta façon de regarder les choses ou qui va venir t'inviter. Est-ce que vous connaissez et t'inviter à rentrer dans ce monde qui est ton monde au quotidien.
Oui. Tu sais où elle est maintenant.
Non, mais oui. Et ben, tu vois.
C'est pas cher.
Clairement, mais sans forcément parler de prix, l'idée de l'échange me plaît plus que l'idée de rentrer dans un livre pour rentrer. Enfin, d'entrer dans une boutique de livres pour rentrer dans une boutique de livres. Je veux dire, cette démarche-là, je vais à la Fnac et basta, on n'en parle plus.
Mais l'idée de
on
savoir que des gens comme Monsieur Rêve existent
exactement.
Encore, c'est quand même rassurant, quelque
mais
part.
Carrément.
Mais je pense
carrément.
Qu'il en, est, il en existe après. On a, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas tous la manière de l'extérieur et autres. Moi, j'ai un lieu, j'ai voulu vraiment que ce lieu-là soit ça. C'est-à-dire un véhicule de quelque chose. C'est juste un moyen, c'est pas une fin en soi. Peut-être que dans 10 ans, je ferai peut-être plus métier parce que physiquement, ça, c'est difficile aussi. Et puis de porter des cartons toute la
journée. De se faire rentrer dedans.
Voilà, exactement. Voilà, mais en même temps, je voulais aussi qu'il y ait une participation qui soit équivalente de chaque côté. C'est-à-dire que moi, j'en apprends autant que ce que je donne aux gens. C'est-à-dire, voire même plus. C'est-à-dire, moi, je conseille des choses, mais on m'en donne tellement aussi. On me dit, ah, tiens, lisez ça, ou vous avez pas lu ça, c'est vachement bien. Et je m'émerveille aussi de voir pas mal de jeunes qui me disent, bah, voilà, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça. Et puis, de se rendre compte aussi que ça fait sauter des préjugés. Un, que les jeunes ne lisent plus, ce qui est tout à fait faux. Ils lisent de manière très ciblée. Et souvent, quand on me dit ça, je dis, mais regardez, vous avez une armitière jeunesse et vous avez un rayon Fnac enfant qui est encore agrandi. Donc, c'est que les jeunes lisent. Et puis, ils s'émerveillent. Ils ont ce pouvoir de s'émerveiller. Et nous, on l'a perdu en tant qu'adultes. Et je pense que c'est important de le retrouver.
Oui, tout à fait d'accord.
Bien, merci, je pense qu'on a fait un bon petit tour et puis c'était... Ouais.
On va y aller, on va y aller. Moi, du coup, j'ai envie d'aller voir un atelier.
On ira faire un petit tour.
On va tester. Est-ce qu'on peut tester un atelier
de jeu d'écriture?
Ouais.
Ben inscris-toi.
Ouais. On y va, on essaye.
Et bah, allez-y.
On le mettra dans.
Et puis vous nous ferez un petit tour, un petit retour,
ouais.
Ce que vous avez testé pour nous. En tout cas, mais merci
après,
pour ce.
Mais d'ailleurs, c'est quand le prochain? Parce qu'on n'a pas demandé. Si...
Alors, il n'y a pas encore date de précise parce que notre invité.
Il faut aller s'inscrire.
Non, c'est soit ça sera fin juin. Ou juillet, si on a la chance d'avoir notre invité mystère qui est disponible à cette date-là.
Oui,
sinon,
okay.
Ça reportera au mois de septembre. Mais
en fait, on s'inscrit. Alors, mais on ne connaît pas la date.
Tu ne la connais
pas.
Il n'y
a pas que l'invité qui est mystère. Il y a la date aussi.
Voilà, la date est mystère. Généralement,
je trouve ça génial, moi.
La date, elle est annoncée deux semaines avant, à peu près.
D'accord.
Deux,
d'accord.
Trois semaines avant.
Bah, nous, on fera le relais au niveau de l'entrepode sur Facebook, etc. pour... continuer à suivre ce sujet-là. En tout cas, merci, parce que c'était vraiment intéressant.
On lui avait demandé de nous faire rêver, je crois que...
Moi, si je peux dire quelque chose, c'est que j'étais ravi parce que l'entrepôt...
C'est pas fini, on dit ça à la fin.
C'est pas fini, avant, on dit ça à la fin.
Attends, c'est... Il peut se passer encore mille choses.
Tu couperas.
Je pense qu'avec ce qui vient derrière, on va pouvoir encore échanger avec toi sur certains sujets.
On m'avait dit, c'est Freddy m'avait dit en m'invitant ici, tu vois, c'est comme à la maison. Et ben, c'est effectivement comme à la maison, puisque, voilà.
J'avais aussi dit qu'il y aurait des femmes nues, enfin.
Ça,
j'ai un peu menti
mais
sur
la soirée ne fait que commencer.
Voilà,
c'est bien.
Mais
ah, puis on a gâché un verre de vin.
Non, mais
Et puis elles sont pas chères.
Il y a juste une dernière question. Vraiment, c'est ce qui est une actualité particulière donc, ah oui, qui n'a pas été évoquée. C'est la seule chose.
Vas-y.
Oui, je vois juste une actualité qu'on n'a pas évoquée ici.
Alors, il y a toujours des activités, elles se créent au quotidien, comme je te disais tout à l'heure, en fonction des rencontres qu'on peut faire. Là, il y a une belle rencontre qu'on a fait il y a quelques temps avec un groupe qui s'appelle Mystified. Oui.
Plutôt hard rock, non?
Qui est plutôt hard rock et qui a des sonorités qui sont teintées de Rage Against
the Machine.
Et c'est une chanteuse.
Alors, ils sont trois, c'est un trio. Oui. La chanteuse, ça a cette particularité. Ça a cette particularité de... Elle a créé un roman graphique au départ. Et en fonction de ce roman graphique, les paroles sont issues des dialogues de ce roman graphique. Donc, ils évoluent en fonction. Donc, je trouvais ça super intéressant. Et je dois dire que j'ai écouté ça en voix. C'est très bien fait. Elle a une voix qui est terrible et ça joue extrêmement bien.
Et surtout, ils viennent de gagner, de remporter un tremplin.
Tout à fait.
Tu as suivi ça ou pas?
Oui, j'ai suivi ça.
Dans un Hard Rock Café, je crois.
Oui, exactement. J'ai lu ça dans le...
Un tremplin national qui est plutôt bien coté. Et c'est le groupe rouennais, ou normand en tout cas, qui est Mystified, qui a gagné.
Ouais. Non, mais on va... Et elle a une voix qui est terrible, qui rappelle un petit peu les tonalités de Gwen Stefani sur No Doubt au tout début. C'est péchu et on a eu la chance de les rencontrer. Ils viendront jouer mi-mai.
C'est pour savoir.
Mais voilà. Avec batterie. Parce que j'ai toujours le problème à Rouen de jouer avec le batteur. Est-ce qu'ils viennent en petit...
Ils viendront en petite
formation ou est-ce qu'il y aura le...
Alors, je sais pas. Ils viendront en formation, je pense, électrique, quoi qu'il arrive.
Voilà, d'accord. Okay.
Avec basse, certainement batterie. Et de toute façon, moi, je m'occupe pas ça. Je les laisse faire. Je leur fais entièrement confiance. Le but, c'est qu'ils fassent découvrir leur musique et que les gens...
Et les concerts sont à quelle heure? Moi, je parle toujours pour le bruit,
alors,
en fait.
Les concerts,
l'inconvénient des voisins.
Ouais. Les voisins, c'est pas un problème parce que non, c'est pas un problème parce que
qu'on a plus.
On fait pas des concerts systématiques. Je veux pas être assimilé à une salle de spectacle. Bon, ça se fait au débeauté comme ça.
Rouen, c'est.
On n'a pas trop, ce problème-là parce que c'est pas de manière régulière. Oui. On a un coin qui est vraiment sympa en bas de la rue Cauchoise qui est très vivant. On a une petite vie de quartier en bas qui est vraiment super. Donc c'est pas un gros problème. Et en fait, le concert, il se fait pendant une heure et demie. Donc s'il y a des voisins, généralement, mes voisins du dessus, je les préviens. Et les autres,
l'heure.
20h. Alors,
c'est l'après-midi.
Exactement. C'est plutôt 20h, 20h30.
D'accord.
Après la fermeture de la boutique. Puisque moi je suis ouvert dans la journée. Donc on module tout dans la soirée, et puis après les gens viennent, et puis après discutent jusqu'à minuit, 1h du matin. L'avantage c'est de pouvoir rencontrer les groupes et de leur poser des questions.
C'est sympa.
Et c'est bien. Et tout à l'heure tu soulignais quelque chose, tu disais oui, mais nous par rapport à toi. Mais non, en fait, moi c'est ce que je me disais au début en rencontrant les gens qui me plaisent en termes de cinéma et ainsi de suite. Et je m'aperçois que quand on les traite entre guillemets de manière normale, ça se passe, mais de manière extraordinaire. C'est-à-dire, je peux adorer Fanny Cottençon ou Bérénice Bejo ou Michel Avanis, mais quand on a un dialogue particulier normal avec eux, et ben c'est là où on passe les meilleures soirées. Oui. Voilà.
Oui, en fait.
Encore faut-il pouvoir passer la soirée avec eux.
Mais non, mais c'est surtout que j'imagine que tu dois occuper totalement le côté people parce que toi, t'es juste celui qui reçoit des informations sur ces gens-là qui ont eu des prix, des récompenses. Au-delà de ça, t'as affaire à des gens qui, au départ, partent d'une passion et si tu te mets à niveau en parlant toi-même de ta passion et de leur poser des questions qui sont pas celles forcément du showbiz ou
on leur pose des questions, on passe une bonne soirée.
Il faut juste pas les mettre sur un piédestal et les idolâtrer, quoi.
Exactement, et les traiter comme des gens qu'au quotidien ils ont peut-être on les traite peut-être de manière tellement haute que des fois ils en ont marre eux-mêmes. Il y a eu le cas il y a pas longtemps avec j'ai rencontré Colin Serrault par exemple. Colin Serrault, c'est quelqu'un que moi je connais par rapport à ses films Trois hommes et un couffin, La Belle Verte et ainsi de suite, et on a passé une excellente soirée parce que ça s'est fait de manière très détendue.
Un vrai partage en plus, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Enrichissant,
Ou Eric Cantona qui commence à nous parler de son film avec Ken Loach et puis nous raconter ses anecdotes et puis passer des bonnes soirées en se disant on parle de tout, de rien, mais surtout pas potentiellement du film qui va passer, mais de tout ce qui est autour. Donc, de la vie, de la lecture, de la musique. Et des fois, c'est assez rigolo parce qu'il me pose presque plus de questions que moi je peux en poser. C'est t'écoutes quoi, tu lis quoi, il y a quoi de beau à voir. Voilà, c'est rigolo.
Belle leçon d'humilité, bah, écoute, en tout cas. C'est sympa.
Agréable moment.
Très bien. Eh ben, je vous propose d'enchaîner, mais de toute façon, tu vas être encore à contribution, je pense, parce qu'avec les deux, trois sujets qu'on va aborder.
Oui,
là, c'est notre rubrique à braque, la rubrique à brique, et c'est parti.
Oui, alors donc, je voulais vous parler d'une bande dessinée. C'est assez rare pour moi, mais celle-ci m'a particulièrement touché, glaçante, terrifiante, triste, remuante et nécessaire, un uppercut. Ah, c'est mon ami Daimer de Derf, Back Derf. Donc, pour résumer.
De comment?
Alors, il est assez dur à dire son nom, je ne sais pas pourquoi c'est pareil en Afrique.
Alors, moi, je pense que c'est Fred à l'envers, non?
Non, c'est Derf.
Oui. Oui, mais t'as raison, c'est Fred à l'envers.
Putain, hein. T'es mais trop.
Je viens de le voir sur la tranche du livre.
Mais son vrai nom, c'est John quand même.
Derf Bratt.
Donc l'auteur
a passé. Et son nom, c'est Afterlebeuf.
L'auteur a passé son enfance à Richfield, une petite ville de l'Ohio située dans le Cleveland. Non loin de Cleveland, pardon. En 72, il entre au collège où il fait la connaissance de Jeffrey Daimer, un enfant solitaire au comportement un peu étrange. Les deux ados se lient d'amitié et font leur scolarité ensemble jusqu'au lycée. Jeffrey Daimer deviendra par la suite l'un des pires serial killers de l'histoire des États-Unis. Son premier crime a eu lieu en 78, tout juste 2 mois après la fin de l'année de terminale. Il sera suivi par une série de 16 meurtres commis entre 87 et 91. Arrêté en 91, condamné à 957 ans de prison.
157.
Ça me fait toujours marrer, moi, les trucs.
Plus que 955.
Est-ce qu'il y a une peine de sécurité en plus?
Oui, c'est ça. Ouais.
500 ans de sécurité.
La vie éternelle d'ici là.
Malheureusement ou heureusement pour lui, je ne sais pas trop, le pauvre garçon, Daimer finira assassiné dans sa cellule en 94.
Oh, les salauds!
Donc, mon ami Daimer est donc l'histoire de la jeunesse de ce tueur à travers les yeux de l'un de ses camarades de classe. Précis donc et très très documenté, le récit de Derf, parce que j'en ai marre de son nom, journaliste de formation, décrit la personnalité décalée de Daimer qui amuse les autres ados de cette banlieue, quelque peu déshumanisée, typique de l'Amérique des années 70. Daimer, enfant, vit dans un monde à part, ses parents le délaissent, il est submergé par des pulsions morbides, fasciné par les animaux morts, et mortifié par son attirance pour les hommes.
Je trouve ça sympa, moi.
C'est plus une BD, c'est Fait entrer l'accusé.
Personnage fascinant, voire attachant, car presque victime de son environnement, Daimer vit une implacable descente aux enfers, vers une folie irréversible.
Ouais, pauvre Daimer.
Et donc, je ne sais pas, ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est pas trop le dessin, parce que le dessin
est
assez naïf. Presque enfantin, mais les expressions des visages, c'est étonnant, quoi. Le décalage entre un dessin un peu simpliste et le côté expressif des dessins m'a vraiment bouleversé. C'est surtout cette histoire qui m'a bouleversé, parce qu'en fait l'auteur il raconte juste les années de lycée. Il s'arrête au premier meurtre, donc la suite, on s'en fout complètement, finalement. Et c'est pas voyeuriste, y a pas de complaisance. Et l'auteur essaie juste de comprendre et de mettre un sens un peu à cette incompréhension.
Se dire, j'ai côtoyé quelqu'un comme ça. Quoi.
Voilà. Et on sent quand même que l'auteur, il ressent une espèce de culpabilité quand même, parce qu'il se dit finalement, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Et en tout cas, je trouve cette BD exceptionnelle. D'ailleurs, elle a été sélectionnée à Angoulême cette année. Bon, elle a rien remporté, mais c'est quand même un signe. Donc voilà, Ludo, si tu veux dire d'autres choses là-dessus, moi j'ai particulièrement adoré, je vous la conseille. Donc,
alors Ludo, qu'est-ce que tu en penses?
Ben justement, en fait, Christophe et moi, on se partage un petit peu la rubrique
à braque.
Cet épisode-là, la rubrique à braque.
Parce que il se trouve que coïncidence, en fait, on l'a lu, je pense, à peu près au même moment.
Et il y a de fortes chances.
Voilà, donc je tiens à préciser que j'ai un sponsor officiel, ma moitié, qui donc me l'a offert. Hein.
Donc, elle insiste beaucoup pour que tu le dises.
Moi, je l'avais en fait, j'en avais entendu parler dans Metaluna magazine, où ils évoquaient l'œuvre de Derf Bagderf. Et je te rejoins complètement. C'est vraiment un bouquin. Enfin, je trouve tétanisant, mais à plusieurs titres, en fait, c'est que le livre n'est pas du tout voyeuriste, n'est pas complaisant, ça n'a rien à voir de tout ça, alors qu'en réalité, il faut savoir quand même que Jeffrey Dahmer, les 17 meurtres qu'il a commis, sont particulièrement glauquissimes. Hein.
C'est très glauque. J'en ai pas parlé,
mais non, mais c'est pour ça que je
vais pas. Alors, raconte, moi j'aime bien.
Ah non, tu vas pas spoiler.
Tu veux que je te le dise?
Ouais.
En fait, non,
au moins un, vas-y, fais un.
De toute façon, il n'en parle pas là-dedans.
Mais non,
il n'en
pas
parle
base,
pas, il ne le décrit
fout.
Pas.
Vas-y.
On le sait. En fait, il est attiré par les hommes, comme j'ai pu le dire. Il les tue.
Un peu comme Freddy et Monsieur Rêve, hein, c'est ça? On les sent très proches.
Il les tue, bon, jusque-là, banal. Il les sodomise.
Une fois mort.
Une fois mort, un peu moins banal. Et finalement, il finit par les bouffer aussi.
Ouais, enfin, après, on peut en parler.
Et si je peux me permettre, tu fais quelques raccourcis.
Donc là je pense qu'on s'éloigne un petit peu de Monsieur Rêve et Freddy. Enfin, si
j'ai fait bref.
Non, je voyais pas ça comme ça de votre côté, les gars.
Et encore, Christophe, vous est
on
pas.
On le fait pas dans ce ordre-là.
Non.
Et encore, Christophe, vous épargne certains détails.
Parce que c'était pas glauque, ça.
Oui, c'était déjà pas mal.
Un autre détail glauque, c'est qu'il pouvait se retrouver à. En fait, il droguait en fait ses victimes, et donc pour certaines il leur perçait le crâne ensuite pour leur mettre de l'acide chlorhydrique dans le cerveau pour les rendre complètement insensibles, hein.
Donc c'était
ouais, c'est une pratique
si vous voulez vraiment du détail,
c'est une pratique comme une autre.
en réalité ce qui est
on n'est pas là pour extrapoler,
c'est à fort dans ce bouquin là c'est que
et ça c'est pas abordé dedans par contre.
Non, alors non, en fait, dans ce dans
donc vous avez fait des recherches un peu glauques.
Si non, mais il fallait
bah, forcément.
Non, mais le truc c'est que
à la fin de ce bouquin, t'as envie d'en savoir plus.
Et Jeffrey Dahmer, et quand il a été arrêté en 91, c'était
91, c'est pas si vieux que ça. En plus,
non, c'est pas si vieux que ça. Le personnage était considéré comme un des plus grands monstres de la fin du XXe siècle. Enfin, aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez terrible. À la fin, il tue une personne par semaine. Hein. C'est-à-dire qu'il avait son premier meurtre est en 78. Il a attendu 9 ans avant de commettre son deuxième meurtre. Après, se sont passés quelques mois et plus ça allait. Et à la fin, il terminait un meurtre par semaine.
C'est-à-dire
qu'après, c'était de l'abattage.
Oui, c'est un bon.
Bon sérieux killer.
Jusqu'au moment où il s'est fait arrêter, puisqu'en fait, une personne a réussi à s'échapper. En fait, ça allait de les victimes allaient de 14 ans à 32 ans pour la dernière qui a réussi à s'échapper. Bref. Et ce qu'il explique, c'est que lui-même vivait un enfer assez terrible, en fait. Mais les gens le considéraient comme un monstre. L'intérêt du livre, en fait, c'est que on pourrait dire, bon, alors attends, si c'est un petit truc un petit peu béni oui ou oui, tout le monde est gentil. Non, c'est pas ça que le type raconte.
Non, tout le monde n'a pas l'air gentil, en fait.
Non, mais le livre, tu pourrais te dire quel intérêt de faire un livre qui va essayer d'humaniser un monstre. En réalité, l'auteur qui, donc, le jour où il a appris en 91 que son copain de classe qu'il avait fréquenté pendant le lycée était en réalité un tueur en série. Il l'explique lui-même. Il dit que ça a été un choc d'une violence incroyable, hallucinante. Et même si effectivement le Jeffrey Dahmer était plus qu'un original. Je veux dire, il était déjà en marge. Enfin, c'était un ado qui pour calmer ses pulsions, en fait, buvez, mais...
Oui.
Buvez,
du
mais, mais... Ah non, buvez de l'alcool, c'est-à-dire qu'il buvait de l'alcool.
Tu sens
en fait, le type, il se défonçait à l'alcool pour pouvoir contrôler à minima ses pulsions. Parce qu'elles étaient tellement...
Je vais peut-être arrêter. Alors, ce type-là, il est né comme ça ou il
tu
est devenu
quoi,
comme
là,
ça après un parcours compliqué?
Alors, dans le livre, la vision, en tout cas, de l'auteur, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont concouru à ça. Il avait déjà, si tu veux, des désordres psychologiques. Sa mère, déjà, avait des antécédents mentaux.
Oui, effectivement.
Mais ces désordres psychologiques à lui sont arrivés à cause de sa mère ou il est né comme ça? C'est ça, le truc?
Je pense qu'il avait des prédispositions.
Il a vu tous les vendredis 13 à 5 ans.
Il avait des prédispositions.
Il y a un arrière-âge, ça n'arrive pas tout seul.
Un arrière-âge.
Il avait des prédispositions.
Et en tout cas, c'est pas.
Manger les hérissons, mais à enlever les épines.
C'est pas le petit livre de 20 pages. Hein, c'est,
non, c'est.
Il y a juste un truc à préciser.
C'est en noir et blanc.
C'est que pour répondre à ta question naïve, un peu. Christophe, vas-y, tu voulais ajouter.
Je disais qu'il avait des prédispositions, que son environnement a concouru à accentuer ses prédispositions, et c'est surtout qu'il a jamais aidé par son, il a jamais été aidé par son environnement, parce que ses parents étaient tellement à l'ouest.
Ils l'ont abandonné quasiment.
Ils l'ont abandonné, quoi.
Il faut savoir que son premier meurtre a été commis peu de temps après que sa mère l'ait lâché. C'est-à-dire qu'en fait, le gamin, ses parents se fightaient en permanence. Ils ont fini par divorcer. Un divorce d'ailleurs assez terrible.
Assez terrible, oui.
D'une violence assez incroyable. Et,
c'est terrible, oui. C'est terrible.
Oui, bah, pour te dire, le gamin a donc 17 ans, sa mère lui dit, le père donc n'a plus le droit d'être dans le coin, donc le père s'est barré carrément,
il prend un autre appart,
et la mère à un moment lui dit, écoute, c'est simple mon chéri, bah, je prends le petit, là, ton frère, et je me casse, je me barre. Et toi, tu viens pas avec moi, hein. Ouais. Tu restes dans la maison.
Elle s'est barrée, rejoindre sa
famille. Et tu dis pas ton père où je suis allé. Et elle se barre, elle laisse son fils de 17 ans qui a ses pulsions. Déjà, le gros intérêt de ce livre-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce livre-là ne verse pas du tout dans la caricature. C'est-à-dire qu'en fait, il est basé sur les souvenirs personnels de l'auteur. Souvenirs qu'il a, confronté aux souvenirs. Il a fait toute une interview. Il a mené plusieurs interviews de ses camarades de classe. Il a donc confronté tous ses souvenirs avec les souvenirs de ses camarades de classe.
Avec du factuel pour.
Comme disait tout à l'heure Christophe, il a des études de journaliste. Il a interviewé, il a fait tout un travail de documentation de recherche pour tout croiser.
Avec la police aussi.
Avec la police, le père, la mère, les interviews que Jeffrey Dahmer avait donné de son vivant, aux psychiatres, aux différents journalistes, etc. pour croiser toutes les informations. Et d'ailleurs, dans le livre, à la fin du livre, il y a tout un postface, où, en fait toutes les notes où il explique tous les différentes anecdotes qui sont expliquées dans le livre, ou les différents incidents qui émaillent le livre. Il explique comment il a recherché le travail d'investigation qu'il a fait pour croiser et s'assurer de la véracité. Et même des fois, quand il dit j'ai simplifié là, je vous dis pourquoi j'ai simplifié. C'était pour la structure du récit, etc. Et ce qui ressort de ce livre-là, ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que à la fois tu trouves le personnage. Non, pas, alors, c'est pas que tu le trouves sympathique, c'est que tu as pitié du personnage. Mais à aucun moment, il dit qu'il n'y a pas d'empathie. Mmh. C'est-à-dire qu'il dit, de toute façon, pour moi, j'ai cessé d'avoir pitié de lui le jour où il a tué la première personne. Mais quand tu suis le parcours de cet ado qui est finalement complètement, dont on se moque, qui est complètement brimé par ses camarades, etc. Et tu vois bien qu'il part un peu en sucette, hein, quand même, le gamin. Ouais, il est juste pas net, quoi. Mais, l'auteur explique un moment. Moi, j'ai juste voulu quand même un moment pouvoir poser sur le papier, essayer de pouvoir décrire de l'intérieur un moment le parcours de quelqu'un qui est en marge et un moment dérape. Et d'ailleurs, ce qu'il disait, c'est comme ça que je le vis. C'est un moment où tu te dis, mais où étaient les adultes? C'est-à-dire que c'est vraiment le mot où étaient les adultes, parce qu'à plusieurs moments,
personne n'a rien vu, quoi.
Personne ne voit rien. Personne ne se soucie de savoir. Il y a des choses. Tu te dirais, c'est pas possible dans un film. Tu n'y croirais pas un instant. Personne ne se rend compte que le gamin, il est torché en classe. Il est torché, il est ivre mort.
Parce que le prof était plus torché que lui.
Écoute, à un moment, il parle des années 70. Donc, il décrit aussi l'horreur des lycées des années 70, etc. Où, d'ailleurs, il parle des profs qui sont à limite à se dire, attends, moi, je peux fumer plus. C'est des profs qui sont issus de la contre-culture des années 60, tu sais, qui sont typiquement, qui arrivent là-dedans. Et t'as notamment une scène assez marrante où tu as un prof qui explique, attends, mais moi, je peux fumer plus de joint que toi, de toute façon.
Ouais, oui.
C'est un élève, quoi. Et voilà, et tu as l'enchaînement, tu as les parents qui ne voient rien, les parents autistes qui ne voient pas que leur gamin part en vrac.
Va très mal et il part en vrille.
Ils veulent peut-être pas voir non plus.
Et puis tu as le gamin avec l'éveil de la sexualité, ça c'est un moment aussi assez intéressant où le gamin se rend compte qu'il se dit, mais je commence à avoir des pulsions, ou en tout cas des fantasmes. Commence à pas être normaux, c'est-à-dire que quand je dis pas normaux, pas normaux, c'est vouloir faire l'amour à des morts ou à des cadavres. C'est que là, tu commences à te dire,
oui, ça devient pas normal.
La norme, c'est toute la norme.
Oui,
je suis un peu fleur bleue, c'est vrai, mais quand même.
Franchement, c'est pas un roman d'horreur.
C'est l'horreur ordinaire finalement, en fait.
C'est super intriguant, c'est glaçant.
Tu vois, enfin moi, c'est le chemin psychologique vu par.
Et moi, je trouve. Alors moi, par contre, alors tu disais le dessin est un peu naïf. Moi,
le dessin, c'est. Moi, le dessin, c'est aussi.
Moi, je le trouve.
Mais sur la couverture, on va le regarder.
J'ai dit que c'était intéressant dans le dessin, c'est qu'il y avait un côté naïf, mais que pour le coup, les expressions des gens, enfin des personnages, c'est super bien malgré cette naïveté du dessin.
Tu as des planches, oui, tu as certaines planches
qui sont photoréalistes. Voilà.
Ah oui,
voilà,
et tu as des planches qui sont saisissantes. Quoi. Oui, saisissantes. Et juste pour terminer, donc en fait.
C'est pas fini. Hein.
On va conclure là-dessus, mais en fait, Fred Dahmer donc, a été assassiné alors qu'il était en prison. Il a été assassiné par en fait un. Il a été assassiné avec une autre personne. Deux personnes ont été tuées par
un autre psychopathe.
Un autre prisonnier. Oui, voilà,
un copain, un camarade à eux.
Qui n'avait pas a priori planifié le truc et qu'il l'a signé de la même façon qu'il a tué son premier, qu'il a fait exécuter son premier meurtre assez paradoxalement.
C'est-à-dire
merci, merci d'avoir raconté la fin.
Ouais, merci.
Il s'appelait Hannibal Lecter.
Hannibal. Non, j'ai pas raconté la fin. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, Jeffrey Dahmer, c'est l'actualité. Enfin, sauf si évidemment on ne connaît pas du tout Jeffrey Dahmer, parce que
la BD s'arrête. La première fois, j'entends ce nom-là.
La BD s'arrête bien avant.
Oui.
La BD s'arrête.
Alors, ne dis pas trop, peut-être, Christophe.
Avant son premier meurtre. Donc, on s'en fout, en fait, de la façon dont il a tué, etc.
Oui,
là, c'est le cheminement qui l'a amené.
C'est ce qui l'amène sur le chemin de la perversion et des meurtres en série.
Bah, écoute,
c'est ça. Ouais.
Mettre les références. Et puis,
jetez-y un œil, ça vaut vraiment le coup d'œil.
Ah ouais, vraiment.
En tout cas, vous avez l'air tous les deux vachement. Moi, j'ai tiré en bique sur le truc.
Moi, je l'ai dévoré, franchement.
Didouille, lève le.
Alors, vous avez peut-être trouvé que je fais un parallèle un peu.
Tu fais un parallèle.
Juste pour vous dire que le mardi 29 avril sur Arte, il y a un documentaire fait par une réalisatrice ghanéenne sur les Aryens. Donc c'est une descendante de elle a une grand-mère et un grand-père qui sont SS nazis. Et de l'autre côté, elle est ghanéenne et elle veut comprendre pourquoi il y a un tel engouement pour cette recherche absolue de la race aryenne. Donc, je vous invite à le regarder sur Arte, parce que bien moi, que le teaser m'a carrément
29,
emballé.
T'es
et
chier,
dans la même idée,
ce que j'allais dire en fait. Là, t'es en train de mettre un défi. Temps, attention.
Non, mais dans la même idée, je pense qu'on a toujours eu ces questionnements, c'est-à-dire que comment on peut arriver à devenir comme Dahmer, là, pourquoi il est devenu comme ça. Alors,
c'est un petit peu différent, je pense.
Il y a toujours ces questionnements, c'est comment on peut franchir ce pas extrémiste qui va faire que sa personne va basculer du côté obscur de la force.
Attends, je vais demander à Pierre du hérisson.
Voilà. Et juste le teaser de, je l'ai vu hier, tu la vois carrément arborer les gens.
Aborder
les gens. Non, c'est le rouge.
Elle prend les gens et les met dans les arbres.
Elle abordait les gens et leur dit je cherche des Aryens. Et je trouve que c'est super.
Et des bons, hein.
Et des bons.
Sauf que, est-ce qu'elle définit
et c'est là
avant
tu...
Est-ce qu'elle définit
non, mais
qu'est-ce que c'est que la race aryenne
ce n'est pas elle qui va définir, c'est justement celui à qui elle pose la question
que
et dit
bah,
écoutez,
croit,
je crois
aryenne,
qu'un Aryen, c'est quelqu'un qui a les yeux bleus, qui et est blond. Non. Et je trouvais le teaser tellement bien foutu, je me suis dit, tiens, il faut que je le place
écoute,
d'une manière
envie
ou
d'une
autre.
C'est quand, ouais. C'est quand la date
le, 29... le mardi 29 avril sur Arte.
Ah merde, il y a une rediff de Julie Lescaut.
Il y a Arte plus 7 qui permet de revoir.
À 22h45.
Ok. Bah, merci Didouille.
Voilà. Si je faisais le parallèle, Dahmer.
Puisque tu prends la parole, je te propose de continuer. Explique-nous un petit peu.
Alors, mon actu à moi.
C'est pas la rubrique, c'est la rubrique à moi.
C'est pas grave. C'était au début, ça, le truc.
Le pinard, il pique. Hein,
ma rubrique à moi. Mais je trouvais que mon actu à moi, c'était. Bon, voilà. C'était. Ma petite visite à Londres familiale où on s'est arrêté au British Music Experience. Et là, franchement, je vous en parle parce que je sais pas si en France il existe cela. Enfin, en tout cas, proposé de cette manière-là. Donc, nous sommes arrivés à 4. Nous nous sommes présentés à cette salle de concert immense. Enfin, c'est un gros dôme qui s'appelle The O2. En fait, c'est un truc énormissime. D'ailleurs, vous pouvez aussi vivre cette expérience qui est celle de grimper sur le dôme de cette salle absolument hallucinante.
Sur le dôme de...
Non, mais ça doit être intéressant parce que c'est très haut. Je le dis, c'est très haut parce qu'on a pris des photos. Juste pour vous donner une idée, à l'intérieur du dôme poussent des grands palmiers comme à Palm Springs.
Schwing.
Donc nous sommes allés à la British Music Experience où on nous a remis des badges. Voilà, je vous montre le mien. Engagement.
Oh, c'est parti.
Et donc mon badge, c'est un badge. J'ai il devrait plaire à Christophe.
Anarchie, ça c'est pour
voilà.
Christophe.
Voilà, ça y est. Oh, et donc la jeune dame de nous expliquer que grâce à ce badge, nous allions pouvoir participer à des ateliers interactifs dans le musée. Donc nous sommes rentrés et là, magique, on rentre dans une salle à 360 degrés où sont projetés plus de...
C'est chaud.
Où sont projetés des clips vidéo. Il y a plus de 3000 artistes. Ah oui, parce que le British Museum, il faut quand même que je le dise, c'est, raconte l'histoire quand même de la pop anglaise. Et donc, ça va des plus jeunes années jusqu'à... enfin, pas aujourd'hui, mais on va dire jusqu'aux années des boys band avec les Spice Girls.
Il n'y a pas que les Spice Girls, je te rassure.
Non, mais on est quand même dans un truc anglais. Donc, si vous n'avez pas parlé des Spice Girls, ça aurait été dommage.
Je vois la tête de Nico, là, qui se décompose à vitesse grand V.
Donc, vous avez des...
Je veux le rassurer.
Et vous avez, en fait, une salle qui est découpée selon... des décennies qui sont propres à la musique anglaise.
Du coup, ça commence quand, en fait ?
Alors, ça commence en 1950, je crois.
En fait, en fait, il faut démarrer ça à la période du jazz.
Voilà.
La première séquence, c'est 1940, c'est la première période. Il commence avec le jazz, le skiffle ensuite, dans les années 50-60. Et ensuite, il passe les différentes étapes, c'est-à-dire 60-70, 70-80. Et donc, à chaque salle, en fait, correspond à un univers particulier, correspond à l'univers de cette décennie. Et avec à la fois, bon, évidemment, des objets, des vêtements.
Ils appellent ça « the age zones ».
Une espèce voilà, avec un écran géant où tu as plein d'informations, c'est très interactif, et c'est avec la musique qui tourne, donc t'es vraiment embarqué dans cet univers à chaque salle.
Bah, moi, je veux dire un truc, c'est vachement mieux quand c'est Lulu qui le raconte. Je suis captivé. Alors, quand c'est elle, rien.
Non, je te signale que tu me coupes toujours la parole.
Vas-y, en souplesse, je dors avec elle ce soir.
En fait, c'est découpé par zone et par décennie musicale. Comme et quand vous dit, rentrez Lulu, dans une zone. Quand tu rentres dans une zone, tu as face à toi un mur sur lequel est projeté différentes années, différents donc musiciens, auteurs, compositeurs, et avec une sorte de petite boule interactive et ton badge.
C'est ça qui te plaît. Hein.
Ouais, j'adore toucher la boule. Après,
tu fais la suite.
Ça c'est le côté, c'est le côté. Historique.
Oui.
Historique de la chose. Après, tu as ce qu'on appelle l'expérience avec la salle exclusivement réservée aux instruments de musique. Donc ça c'est Gibson
qui parraine en fait voilà, qui sponsorise l'endroit en fait. Mais Gibson, Sennheiser, Roland aussi.
Roland, voilà, on en a plusieurs, voilà. Et là c'est la Gibson Interactive Studio. Voilà.
Wow.
Et donc là, on met à votre disposition des guitares, des basses, des batteries, une table de mixage, un studio d'enregistrement, un piano, un clavier. Et grâce à votre petite badge, vous le mettez sur une borne et vous expliquez que vous êtes soit débutant, soit plutôt confirmé, soit professionnel. Et là, on vous invite à suivre certaines bases de l'instrument. Et vous pouvez choisir un morceau, donc vous pouvez choisir du Blur, vous pouvez choisir du Queen, vous pouvez choisir plein de choses anglaises.
Ils proposent des morceaux, enfin, si je peux juste me permettre.
C'est à peu près défini.
Oui, les leçons sont prédéfinies. Il y a trois niveaux, et pour chaque niveau, ils te proposent, je crois, trois chansons que tu peux choisir parmi le.
Voilà. Donc moi, je me suis essayé sur du Blur à la batterie. Une fois qu'ils t'ont montré les rudiments et le morceau, comment tu vas les couper, tu es chargé de t'enregistrer, donc tu es enregistré et grâce à ton badge, en fait, tu peux sauvegarder ton enregistrement de ta prestation et quand tu rentres chez toi, eh ben, tu peux sur Internet, en utilisant ton badge, aller voir ta prestation que tu as enregistrée.
C'est assez efficace comme système en fait. Ils sont assez malins parce que je trouve le truc, tu peux garder un peu ta prestation et en plus tu es enregistré avec le groupe qui joue derrière. Donc si tu veux, tu peux réécouter ça sur Internet.
Tu peux jouer avec Blur en fait à la batterie.
Voilà, c'est ça.
C'est ça l'idée. C'est très rigolo. C'est bien vu, c'est bien vu.
Voilà,
bien
fait. Juste pour vous dire que ce musée est juste
donne envie de
bien fait.
En tout cas.
C'est marrant.
Ouais. C'est un musée permanent ou c'est un musée pas permanent ?
Non, mais c'est un musée permanent. Non, mais t'inquiète pas, il ne bougera pas. Et franchement, l'entrée, en plus, Londres, c'est très cher. Les musées sont normalement gratuits, oui, sauf celui-ci. Ah, mais honnêtement, celui-ci, pour le coup, il y a un côté fun parce que je vous ai parlé du côté musique, mais il y a aussi le côté danse. C'est-à-dire qu'en Angleterre, vous aviez le Sky, vous aviez tout ça. Et donc, vous avez une scène centrale où on vous montre les pas des différentes danses qui ont évolué dans les époques anglaises, qui ont fait connaître, bah, je sais pas, les Rolling Stones, Madness et tout ça. Et donc, vous pouvez vous essayer en famille à danser les différentes danses de l'époque. Et franchement, c'est super. Alors, pour revenir aux The Age Zones, c'est-à-dire les zones qui sont propres à une décennie, vous avez une vitrine avec énormément d'objets. Donc, si vous allez dans la vitrine rock, vous allez avoir les Rolling Stones. Et vous avez devant vous un clavier interactif et vous passez votre main. Et cette main-là va s'arrêter sur un objet virtuel. Cet objet, il est dans la vitrine et on vous raconte l'histoire de l'objet parce que ce sont de vrais objets. Et ça va jusqu'au hard rock. On est passé quand même par les Sex Pistols et The Clash. Et on est passé ensuite à Black Sabbath. Et on est passé à Black Sabbath. Et je vous assure que c'est super bien renseigné. Historiquement parlant, c'est super bien foutu. Vous avez aussi des bandes interactives avec ce qu'on appelle les majors de l'époque. Et vous avez des disques vinyles et on vous passe les titres qui ont fait la gloire de la major et comment ils ont évolué. Et c'est super bien foutu. Je vous invite donc à aller au British Experience Museum.
Bravo. Ouais, beau reportage, long.
Juste une petite aparté parce que le couple Fro m'a ramené de leur voyage à Londres. Une choupa choups au cannabis, niveau 5, c'est-à-dire assez forte quand même.
Level 5.
C'était la médium.
C'est pas la forte.
Donc j'ai testé pour vous la choupa choups au cannabis. Alors j'étais super heureux. Je me suis dit, putain, génial. On va pouvoir se défoncer la tronche au choupa choups. Au bureau, je veux dire, mes patrons, tout ça. Génial.
Et finalement,
je suis super déçu. Un vague goût de chlorophylle avec un peu de sucre et au niveau des effets, zéro. C'était trop beau.
Mais c'est parce que toi, tu tournes à la coque et tout. En fait, Christophe, on aurait dû te le dire, t'aurais dû mettre les deux dans la bouche.
Je pense que ça n'aurait rien changé.
En tout cas, tu imites super bien le patron.
C'était trop beau.
Non, mais ceci dit, on trouvait ça très rigolo. Quand on les a achetés à Camden Town.
Oui, c'est drôle.
Juste pour vous dire, Londres, allez-y, arrêtez avec les a priori sur les Anglais, la bouffe et tout. Je vous assure qu'on a passé 3 jours.
Personne n'a rien dit.
J'arrête.
En tout cas, merci. Ça donne envie d'aller à Londres quand même. J'ai jamais foutu les pieds dans cette ville.
Rien à voir, mais à Prague, ils font la vodka au cannabis.
Jamais allé à Londres. Donc pourtant, c'est pas hyper loin.
Je voulais le dire.
J'irais bien.
Je suis très friand des quartiers dont Didou parle, le Camden.
Il y a des graines de Londres et tout.
Bah, j'essaierai.
Et Covent Garden. Tu prends le guide du routard et ils ont de sacrées bonnes adresses.
Il faudrait qu'on se fasse sponsoriser par le guide du routard, je pense, parce qu'on l'a cité dans le aujourd'hui. Je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus rapidement que ce que j'avais prévu, parce que j'ai dû faire 3 pages de trucs. Mais essayer d'aller assez rapidement. Moi, je voulais aborder un sujet en lien avec notre invité. Puisque je voulais partager un petit peu mes expériences de lecture, je dirais alternative. De lecture.
Je vais partager mes expériences avec mon invité.
Mes expériences de lecture alternative. Et puis on verra avec Mickaël s'il a un avis là sur ces sujets-là. Donc notamment, je me suis acheté une liseuse électronique il y a un an. Mm-hmm. Et puis j'ai découvert depuis peu de temps, je dirais de façon un peu plus concrète, tout ce qui est audiobooks. Livres audio, les livres racontés. Donc, je vais commencer par ma liseuse. Donc, j'ai souvent l'occasion en fait d'échanger avec des gens qui sont autour de moi et qui aiment beaucoup lire, comme on peut le voir notamment autour de l'Entrepode. Ça tourne quand même pas mal autour des bouquins, mais il n'y a pas qu'au niveau de l'Entrepode. Et beaucoup de gens ont tendance à jeter un petit peu en vrac l'aspect liseuse électronique en disant que, en gros, c'est de la merde. Le livre papier, c'est plus noble qu'une liseuse électronique, etc., etc. Pour ma part, je pense qu'il faut pas opposer ces deux formats, parce que j'ai une liseuse, mais en même temps, je continue d'acheter des bouquins, assez régulièrement d'ailleurs. Et je pense que Alors, j'ai peut-être choqué des gens, mais je pense que c'est un combat d'arrière-garde d'avoir ce côté le bouquin contre l'encre électronique. Et je pense que chacun a ses avantages, ses inconvénients, et que le livre électronique, c'est juste une alternative à la lecture, et c'est pas une fin en soi, en fait, de lire uniquement sur électronique.
Allez, pavé dans la mare.
Ouais. Non, mais... Voilà, c'est mon point de vue. Donc, beaucoup de personnes, et d'ailleurs, je dis ça, mais je suis d'autant aussi bien placé de le dire parce que j'ai longtemps eu moi-même ce discours.
Tout à fait.
Qui veulent pas entendre parler de la liseuse sans même connaître l'objet. Et j'ai encore fait l'expérience il y a pas plus tard qu'une semaine avec ma belle-sœur.
Parlons-en de ta belle-sœur.
C'est juste un exemple concret, mais pour qui un livre c'est papier, c'est rien d'autre. Une liseuse c'est moche, ça fait mal aux yeux, c'est pas adapté à la lecture, etc.
C'est parce qu'elle en a pas.
J'ai la même à la maison.
Et globalement, tu vois, je lui ai montré la liseuse que j'avais dans mon sac et qui m'a dit et a eu la même réaction que plein de gens en général, même que moi le premier d'ailleurs. C'est ah tiens, c'est marrant, je m'attendais pas à ça. Ça a vraiment l'impression d'un papier, ça fatigue pas, ça brille pas, etc. Et du coup, ce que je voulais dire justement, c'est je parle de liseuse, je parle pas des iPads comme vous avez tous les deux là, vous êtes en train de...
Ça c'est insupportable pour le coup, on est d'accord.
Non, mais justement, c'est vraiment les liseuses à encre électronique. Et je parle pas justement, parce que l'encre électronique, sur les iPads, j'arrive pas à lire un bouquin, c'est fatigant, effectivement. Par contre, sur l'encre électronique, c'est complètement différent. Donc j'avais ce discours-là sur le côté du bruit du papier, l'odeur du papier, tous ces trucs qui finalement, moi, m'apparaissent comme un faux débat. C'est mon point de vue, c'est un faux débat parce que, au final, ce qui est important, c'est ce que je lis, pas sur quel format je le lis. Si je dois faire un comparatif qui vaut ce qu'il vaut, mais est-ce qu'un film est meilleur quand on le regarde sur une VHS, sur un DVD, sur un Blu-ray ou sur un grand écran? L'expérience peut être différente, mais l'histoire reste, c'est quand même le matériau de base reste quand même la primauté pour moi. Enfin, c'est pour ça que
moi j'adore lire les BD en bouquin audio en fait. C'est
ça. Pourquoi je lui parle à lui? Mickaël, si vous voulez.
Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vie.
C'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui, justement.
Alors, je suis d'accord avec toi sur les points positifs que ça.
J'ai des points négatifs.
Voilà, mais j'ai des points négatifs aussi là-dessus. Mais déjà, le point positif, de toute façon, il y a une évolution logique, comme tu le disais. On peut pas rester de la tablette d'argile, du papyrus. Il y a une évolution. Il y a l'imprimerie, il y a le livre, et il y aura peut-être d'autres supports après. Ça, c'est une question de support. Ça, c'est pas important. C'est vrai qu'il y a une belle évolution au niveau des liseuses en termes de lisibilité, de fatigue des yeux et d'aspect tactile, où on puisse tourner le livre. Moi, ce qui me pose le plus de problèmes par rapport à ça, c'est deux choses. Toujours cette notion de partage. Moi, j'aime bien quand les gens viennent chez moi, ils voient ma bibliothèque, ils disent « Oh, t'as ça, est-ce que je peux te l'emprunter ?» C'est pas possible avec une liseuse.
Premier contre-argument que je m'étais moi-même signé, en fait.
Et le deuxième gros problème, moi, qui me pose... Pour l'instant, problème, c'est avec le problème de droit et de traduction. C'est-à-dire que tu peux télécharger librement plein de livres sur Internet via certains sites, sans parler de sites marchands, mais tu n'es pas sûr de sa traduction, de la véracité du texte. Et ça pose un gros problème parce que, je sais pas, tu lis la Bible, le Coran, il y a des traductions, ils sont édités chez certains éditeurs, ils sont plus ou moins sérieux. Là, avec le fait de pouvoir télécharger tout et n'importe quoi, même sur une traduction d'un grand roman, ça a été le cas notamment même en papier.
C'est un problème qui est pas uniquement d'ailleurs qui est valable aussi pour certains bouquins en papier d'ailleurs.
Alors ça a été le cas très longtemps. Il y a un cas très connu, c'est par exemple le Moby Dick de Melville qui avait été traduit par Jean Genet et qui avait coupé 10% du texte. Voilà, il a fallu attendre une nouvelle traduction pour avoir tout le texte. Mais là, ça pose un autre problème, c'est par exemple, tu peux aller au Canada ou autre, ils vont faire des traductions parce que les temps de droit ne sont pas les mêmes qu'en France. Ici, il faut 70 ans et là-bas, je crois que c'est 30 ans ou 40 ans. Donc du coup, les traductions, elles sont libres de droit, mais elles sont pas toujours...
Moi, je note que Ludo vient d'aller se moucher. Il a pas pris un mouchoir en papier électronique.
J'aurais essayé de faire des traces de mouchoir au nez.
Quoique le bruit était très électronique.
J'ai vu un peu. Donc, mais pour revenir, justement, je vais faire un peu le listing. Nous avons une spectatrice très expressive, en fait. Et donc, pour faire le listing, justement, des points forts et des points faibles, parce que j'ai quand même, mine de rien, des points faibles. Donc, point fort, ce que je disais, c'est la qualité des écrans électroniques maintenant. Franchement, faut quand même reconnaître que je parle encore pas de l'iPad. la possibilité d'adapter la mise en page. Parce qu'un bouquin, t'es quand même un petit peu, t'es contraint par la mise en page. L'avantage, c'est que sur un livre électronique, une personne âgée peut augmenter la police, changer la, quelqu'un qui préfère de la police bâton ou de la police autrement peut l'adapter, changer l'interligne, changer la justification. Ça, c'est hyper pratique. Le truc, moi, le gros plus, c'est le dictionnaire intégré. Alors ça, c'est un truc qui est génial.
Ça, c'est pratique.
Tu restes un peu appuyé sur un mot qui te pose problème. D'habitude, sur un livre normal, bah, je vais dire, je vais le comprendre dans le sens de la phrase, mais je vais pas forcément savoir bien sa signification. Là, il y a le dictionnaire qui est intégré.
Sauf quand tu t'arrêtes à chaque mot. Ouais. Je, alors qu'est-ce que c'est?
Ça,
je,
ça c'est pour ça Marius, ça, en latin. Fait.
Une introspection. Voilà.
Ça, ça peut être chiant.
C'est introspectif.
Ça fait combien de temps que tu y es? Oh, bah, 70 ans.
Autre truc assez pratique, c'est dans le côté interactif, c'est le surlignage et le marque-page intégré. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir un calepin à côté pour te dire, tiens, cette phrase-là me plaît bien. Là, bah, tu cliques dessus, il te surligne la page, et puis tu reviens 3 ans plus tard, tu reviens sur le bouquin et tu dis, ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais noté ça à l'époque.
Mais pour retrouver la page, par exemple, c'est.
Là, tu mets le marque ta page.
Tu vas juste dans les marques
page.
T'as un
marque ta page.
Et puis tu les suis.
Intégré.
Tiens, j'avais retenu cette page-là, j'avais retenu ce truc-là.
C'est ce qu'a fait Patrick Poirot d'Arvor, il a été accusé de plagiat.
Donc ça, c'est assez sympa. Un truc qui est vraiment pratique aussi, c'est la possibilité de télécharger des extraits quand on passe par les sites officiels. C'est-à-dire, tu peux prendre, tu télécharges l'extrait d'un bouquin, tu vas voir les 20 premières pages, par exemple. Parce que combien de fois ça arrive que t'achètes un bouquin et puis au bout de 3 pages,
Forcément les 20 premières pages qui sont les meilleures.
Non, mais des fois, ça.
Tu fais comme moi, t'arraches les 20 premières pages de la Fnac, tu lis, ça te plaît.
Je dis pas que c'est un truc qui révolutionne tout, c'est un truc pratique pour découvrir un petit peu un auteur, un style.
C'est du partage, non?
Oui, alors je viens d'avoir le PDG de la Fnac qui est pas très content.
Il te cherchait depuis quelques mois, justement.
Toi.
Ça fait quelques temps qu'ils tombent dans leur viseur.
Oh, je dis, c'est aussi un nouveau truc, quoi. Ça permet.
Après, ça va être plutôt des petits trucs pratiques au quotidien. C'est la lecture rétroéclairée. C'est-à-dire que je me couche après Delphine, plutôt que d'allumer la lumière et puis de réveiller toute la chambre. T'as juste ta lecture et dans ton petit machin.
Tu dors avec plusieurs personnes.
En même temps, pas parce que je te disais.
J'étais d'une connerie, je m'en suis pas rendu compte, en fait. Non. Autre avantage, c'est le coût de certains livres. C'est pas une généralité parce que il y en a qui sont très très chers, mais il y a des livres qui sont très peu chers, comme il y a des livres qui peuvent même être parfois gratuits. Que ce soit des livres qui sont tombés dans le domaine public et comme il n'y a pas de coût, je dirais, de fabrication, on peut les avoir facilement, ou même des auteurs qui se mettent en autopublication et qui les mettent à disposition sur le site de la Fnac, etc.
Et donc en général, c'est à peu près le même coût qu'un
des fois,
livre
non, c'est moins, non, il y en a qui sont beaucoup moins chers. Hein.
Mais beaucoup moins chers.
Il y en a, tu peux payer jusqu'à moins 60%, au moins 70% sur ça. Mais ça dépend des cas.
Par contre, tu n'es pas dépendant de l'outil lui-même. Je m'explique.
Explique-toi. Explique parce que là, je n'ai pas suivi.
En 8 points, s'il te plaît.
Ça n'est pas clair une fois.
Vas-y.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un logiciel, tu prends un logiciel quel qu'il soit, tu es dépendant de l'ordinateur, de l'outil que tu as. Il faut faire évoluer, etc. Est-ce que à partir du moment où tu as téléchargé des bouquins sur ta liseuse Kobo, quelle qu'elle soit, le jour où ta liseuse elle tombera,
t'as un compte. Donc c'est-à-dire c'est un compte Kobo qui est indépendant. D'accord. J'ai une autre. Il suffit que je me connecte avec mes identifiants.
D'accord.
Et tous les livres que j'ai achetés à un instant T sur Kobo ou
tu les récupéreras quel que soit le support. D'accord.
Mais cela étant, enfin, je finis avec mes 2-3 derniers points.
Vas-y,
qui sont assez sympas.
Finis.
Un des gros avantages.
Je m'excuse.
J'avais qu'une question à la con, mais j'avais qu'une question à la con.
Mais mine de rien, c'est le poids. C'est-à-dire que moi, en fait, l'avantage que j'en ai, c'est que, comme je disais, c'est un complément parce que je continue d'acheter des bouquins, mais je suis quand même pas mal en déplacement, etc. Et avoir l'équivalent d'un bouquin de 800 pages dans 200 grammes. Quand on est en déplacement, en avion, à l'hôtel, dans le train, c'est quand même hyper pratique. Mais... Ou le même le soir au lit, un bouquin qui te fait des crampes au bras parce qu'au bout d'un moment,
Ok, d'accord, soit. Mais
je parle pas des films.
Avec... Oui, mais est-ce que tu n'éprouves pas, quand même, avec le bouquin papier, une espèce de jouissance quasi extatique à l'idée de te dire qu'il ne te reste plus que quelques pages et que tu t'es déjà tapé le gros parti, tu vois, le kilo 5
Je suis d'accord.
Je suis moyennement d'accord parce que justement, c'est un des trucs que tu as là-dedans, tu as des statistiques de lecture. Enfin, et tu vois où t'en es dans ton avancement.
Ça répond pas à la question de Ludo, parce que les statistiques de lecture, pour Ludo, ça veut rien dire.
Il n'y a pas le côté extatique.
Mais dis donc.
Bon, en fait, j'ai pas souci.
Non, tu pourrais peut-être faire la chronique façon Michel Chevalet. Ouais. Hein,
20 000 gigatonnes de poussée.
Donc, cela étant, voilà, un des derniers points forts, donc c'est le côté un petit peu sympathique de, justement, des statistiques, de se dire que voilà, J'ai pas lu 50 livres là-dessus, j'en ai lu 12 depuis que j'ai acheté.
Par contre, est-ce que tu peux avoir des photos ou des images là-dessus?
Oui.
Avec des filles.
Avec des grosses seins. Avec des filles.
Même avec des petits seins.
Monsieur me connaît bien. Il connaît bien les goûts. Hein.
Donc, voilà un petit peu pour.
Oui.
Les points,
oui.
Les points positifs. Je vais quand même dire un petit peu les défauts, etc. Ce que tu disais tout à l'heure, Mickaël. Donc, l'aspect un peu social. C'est-à-dire le prêt qui n'est pas possible, tout bêtement. C'est vrai. Oh, que
comment ça,
ça
tu veux pas prêter ta Kobo?
Tu es obligé de prêter le dispositif pour prêter sûr. Un bouquin. Le côté un peu exhibitionniste, c'est un peu un grand mot, mais comme tu disais, il y a quand même un certain plaisir à montrer une bibliothèque, à partager, à te mettre devant une étagère et puis te dire tiens ce machin-là, tu le prends, etc. C'est un truc qui est tout con, effectivement. C'est un côté un peu moins impressionnant de dire je vais mettre 1000 bouquins là-dessus, alors qu'une bibliothèque est 1000 bouquins.
À Londres, c'est quasiment. Les gens ils sortaient leur Kobo et ils lisaient leur.
Enfin, ta Kobo, ta Kindle, on n'est pas là pour faire plus particulière, mais t'en as.
Bon, alors leur liseuse, voilà. Comme ça on est plus général. Ouais, et c'est hallucinant, ils sortaient pas. Enfin, j'en ai vu qu'une avec un gros bouquin, mais s'ils sont psychorigides comme Ludo, il faut pas casser la tranche, donc c'est un peu embêtant. Ah,
Mais je pense que le prix en Angleterre n'est pas le même du bouquin.
Ah, peut-être.
Donc, du coup, la différence, on peut avoir tout Conan Doyle en. Pour 7 euros quoi, aux États-Unis.
Mais clairement, je veux dire, c'était pratiquement un automatisme. Les gens trouvaient une place assise, ils s'asseyaient. La première chose qu'ils sortaient, c'était une liseuse.
Cela étant, ça a quand même un défaut à quel j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec Christophe. Tout bêtement, comme tu disais tout à l'heure, c'est tout bête, c'est de l'électronique. Ton truc, il est.
Il tombe, il se casse.
Donc voilà, il vient de fracasser sa tablette.
Une belle démonstration.
Donc on va regarder s'il marche toujours.
Eh bien non, il ne marche
donc
plus.
C'est quand même du solide.
C'est formidable.
Il est bloqué sur la page là.
Ce truc là.
Mais Nico, refais-le.
Mais Patrice Carmouze sort de ses corps.
Tu le fais tomber.
Pose-le ton truc.
Tu le fais tomber.
T'as vu, c'est chiant quand on nous interrompt tout le temps. Hein.
Tu le fais tomber, tu le casses, il est en panne, il y a un bug, il y a un truc et il n'y a plus de batterie, tout bêtement, parce que ça a une grosse autonomie, mais en déplacement, il n'y a plus de batterie, et tu peux plus lire, parce que tu n'as pas comme problème avec un bouquin, tout bêtement. C'est un des gros problèmes que tu peux avoir avec ce sujet-là. Et puis après, un des débats, c'est est-ce que ça a potentiellement un avenir négatif pour les libraires, les gens comme Mickaël? Est-ce que tu le vois comme une concurrence
pas du tout? Pour moi, c'est pas incompatible. Déjà, ceux qui ont la pratique de la liseuse n'ont pas forcément la pratique du livre et inversement. Et puis, non, je vois pas ça comme un concurrent. De toute façon, le livre, quoi qu'il arrive, même s'il devait disparaître de manière très quotidienne sur des choses très courantes, il deviendrait livre de collection, donc il existerait toujours quelque part.
Allez, notre métier plus encore, enfin je moi ton
ouais il deviendrait différent le métier, mais plus de valeur ou pas, je sais pas.
De toute façon, quand on t'écoutait tout à l'heure, toi ton but c'est de partager.
Oui.
À partir du moment où les gens lisent, t'es content.
Oui. Exactement. Le but c'est de découvrir des auteurs, d'échanger des points de vue et ainsi de suite. Donc après, comme je disais tout à l'heure, c'est un support comme un autre quoi. Donc c'est pas.
Mais par contre. Pour en revenir sur le papier et la liseuse, t'as un bug informatique, qui est indépendant de toi. On imagine le fameux compte dont tu parles fait que y a un bug et tu perds tous tes livres, alors qu'un livre il est dans ta bibliothèque.
C'est ce qu'ils disaient.
Différence, un incendie chez toi, tous tes bouquins crament, avec un compte électronique tu les récupères n'importe où.
Chacun
a son avantage. Je veux pas les opposer, c'est ça que je veux dire depuis le début.
Psychologiquement, je sais pas si tu veux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on a décidé de brûler tous ces livres qui étaient correspondait pas à l'idée d'Hitler.
C'était quand même des bouquins gauchistes, excuse-moi quand même.
Psychologiquement, c'était un truc qui a marqué. Je veux dire, on a tous ces images de.
Oui, mais autant qu'on puisse pas le refaire. Brûlés.
Non, on est bien d'accord.
Ah.
Non, on imagine juste Anne Frank et ses écrits. C'est con, hein, mais je peux pas m'empêcher de penser même à Parole de Poilu ou tous ces écrits qu'on a retrouvés.
Est-ce qu'on aura la même pérennité avec ce genre d'outils? Bah,
je vois pas pourquoi.
Non, je vois pas pourquoi.
Je sais pas. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je doute
en plus,
parce qu'on
pourra peut-être envoyer des livres dans l'espace.
L'avantage,
c'est numérique.
Je suis pas sûr. De toute façon, à la base,
je suis pas persuadé que ça.
Non, mais c'est la pratique de l'écriture, la pratique du.
À l'époque où l'écriture reste. Un livre qui est lisible sur le Kobo et un livre papier. Ils viennent tous les deux d'un fichier informatique.
Je veux dire, de toute façon.
Que les livres soient brûlés ou quoi que ce soit, tu le retrouves sur.
Non, au départ. Alors, moi, ça dépend après
des
clients.
Oui, mais on n'écrit plus sur des tablettes d'argile. Oui,
j'ai arrêté de bouquiner le jour où je ne pouvais plus taper sur mes tablettes, quoi, en fait. Hein. Ça m'a vite fait chier, là. À un moment, c'était bon.
T'en as usé des burins. Non, mais c'est le même débat qu'il y a pu avoir il y a quelques années entre le fait d'envoyer. Peut-être peut-être au niveau du MP3, mais plus au niveau de la carte postale et d'écrire et d'envoyer des mails. Est-ce que ça a enlevé plus ou moins de pratique? Je pense que même les gens sont restés plus en contact avec les mails ou les messageries instantanées qu'ils ne l'étaient par les cartes postales ou autres.
Les gens qui n'envoyaient pas de carte postale envoient maintenant des mails.
Exactement. Donc, la pratique a changé, Esther. C'est une question de pratique.
C'est le support qui a changé.
C'est le support qui a changé.
Mais qui change les habitudes aussi.
Après, les habitudes changent. Après, il y a un contenu. T'as un contenu argumenté qui est celui du multimédia. Donc, tu peux mettre de la vidéo, de la photo, c'est très intéressant. Et il y a un monsieur qui est passé il n'y a pas longtemps à Rouen, qu'on parlait très très bien, c'est monsieur Alain Ray, qui fait le Robert. Et lui, il trouve ça génial parce que ce Robert qui était sur papier, il fallait 10, 20, 50 volumes pour l'argumenter. Maintenant, il fait des entrées à chaque fois. Et il est toujours là. Et il peut mettre plus d'entrées. Donc, ça évolue.
Alors, je vais nuancer aussi, puisque par contre, j'arrive pas à lire de BD sur les tablettes, les liseuses, les dispositifs électroniques, parce qu'une BD, il y a une mise en page, il y a un rythme de lecture, et la forme compte au moins autant que le fond. Contrairement à un bouquin où finalement, c'est le fond qui est important.
Tu m'avais pas dit avoir lu la revue dessinée, par exemple
Mais ça, c'est encore un petit peu différent, c'est une revue. Une BD, tu vas avoir une certaine mise en page. Des fois, la grosse problématique que j'ai avec les BD, c'est par exemple l'auteur qui se fait une double page. Et là, tu te retrouves avec un iPad qui lit, ou une Surface, ou ce que tu veux bien, qui lui est une page. Et du coup, tu mets, t'as le texte qui est mis, qui est au détriment, enfin, la visibilité qui est faite, ou bien sur, au détriment du texte, ou bien au détriment de la mise en page globale. Donc, pour moi, la BD, ça s'y prête pas encore.
Moi, pour parler un peu de mon expérience personnelle, je lis la presse sportive quotidienne. Et, plus pour une question, je me lève et j'ai envie de lire, j'ai pas l'occasion, d'aller acheter le journal à 6h30 du matin, quoi, voilà. Et vraiment, tous les jours, je me dis, quand même, le papier, ça me manque. Quoi. J'aime bien lire le journal, aussi pour cette raison de double page, parce que parfois, il y a des mises en page qui sont comme ça. Et vraiment, je le fais pour une question pratique, mais pas pour une question de plaisir.
Tu ne prends pas ton journal plus tard et tu ne l'ouvres pas plus tard.
Parce que...
C'est le rituel.
Ouais, c'est le rituel, simplement, ouais, tout bêtement.
Pendant ton caca.
Notamment. C'est ce que tu voulais savoir depuis le début, c'est ça? Notamment.
Il y a le côté transmissif aussi qui est important, parce que le livre, moi j'ai des souvenirs, mais peut-être que les autres en auront après, mais moi mon premier vrai cadeau c'était un livre, Le Capitaine Fracasse, je m'en souviens encore, c'est mon père qui me l'a offert à Noël. Donc il y a aussi un affect qui va aller sur le livre, souvent les gens quand ils viennent me vendre des livres, ils me disent mais ça me fait mal de les vendre, pas parce que c'est un livre, c'est parce que ça me rappelle des tranches de vie. Oui. Voilà, on me l'a offert ou c'est quelqu'un qui n'est plus là qui me l'a offert et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des images qui restent par rapport à ça. Oui. C'est peut-être un peu moins vrai avec l'électronique.
C'est complètement moins vrai, je pense, et c'est pour ça que je dis que c'est plus un complément et que c'est pas voué l'un à remplacer l'autre, et ça il y a rien qui m'énerve un petit peu plus, qui m'hérisse le poil en tout cas plutôt que m'énerver, mais de voir des gens qui partagent des statuts et qui opposent les deux en disant il y en a un qui serait plus noble que l'autre, ça serait plus, en gros on serait plus intelligent si on lit un livre papier que si on lit un livre électronique, et ça a tendance un petit peu à m'énerver parce que la forme ne prévaut pas sur le fond.
Bon, t'énerve pas. T'énerve
non, mais ça me
bouffe.
Voilà.
Ouais, c'est bon, tu te calmes maintenant.
Et donc, je vais essayer d'aller un peu rapidement. J'avais un autre sujet.
C'est bien beau de dire à Didouille. Oui.
Merci. Merci, Starlet.
On t'entend plus, on t'entend plus.
C'était ça, j'avais coupé le micro. Les audiobooks, en fait, je voulais aborder. Puisque depuis peu de temps, j'ai découvert les livres audio, donc notamment à travers les œuvres de Howard Phillips Lovecraft, pardon. Donc j'étais venu un petit peu au podcast à cause de mes nombreux déplacements. Et ben c'est pour la même raison que je suis venu un peu au livre audio, histoire d'optimiser, enfin de combler un petit peu le vide de temps en temps, d'être sur la route et puis de
optimiser aussi, tu peux le dire.
Aussi optimiser. Donc
J'ai découvert notamment le site littératureaudio.com, je ne sais pas si vous connaissez ici, qui met à disposition plus de 4000 livres audio gratuits. Donc j'en ai profité pour rattraper un peu mon retard dans des créations, je dirais, un peu plus classiques, notamment Lovecraft, auteur que je connais un petit peu, je dirais, de façon générique, mais dont je repoussais toujours un petit peu la lecture parce que j'avais toujours un nouveau truc à lire, et puis etc. Et puis bah, comme tout, les classiques, on les met un petit peu quand on aura le temps, puis comme à chaque fois c'est des pavés, bref, on les lit pas forcément. Enfin, c'était mon cas. Donc depuis 2004, j'ai lu, écouté quatre œuvres de Lovecraft, et je suis dans
depuis
une...
Depuis 2004 dans
une, depuis 2014, pardon.
Ah oui, parce que là, je me disais, merde, t'as pris ton temps, mon pépère.
Autant pour moi. Et puis, ben, en fait, j'ai... Paradoxalement, ce que je disais à Starlet il n'y a pas longtemps, j'ai la même impression que si je les avais lus moi-même, en fait. C'est-à-dire que, comme je suis dans...
Comment
dans
ça, ma tu les avais lus toi-même? C'est-à-dire que... Qui les lit, normalement?
Ben là, c'est de la littérature audio, c'est quelqu'un qui te compte le livre.
Ouais. Oh, ah oui, mais c'est toi qui...
Rien du tout, mais en fait, elle ne suit rien.
Oui, mais en même temps, l'information qu'on te donne, c'est toi qui l'interprète de toute façon.
Exactement, c'est-à-dire que finalement, c'est pas ta voix...
Je sais pas comment le dire, mais...
Alors après,
ça fait 20 ans qu'elle croit qu'elle est mariée à un certain Californien.
Je vais nuancer parce que je vois Mickaël qui fait... Il y a quand même quelques petits inconvénients, mais je veux dire que, mine de rien, quand j'écoute quelqu'un qui me raconte l'histoire, des images se forment dans ma tête comme si je lisais
un imaginaire. Ouais.
Et globalement, je suis porté par l'histoire de la même façon, presque, que quand je le lis.
Oui, alors quand tu dis presque,
néanmoins,
est-ce que l'intonation qui est donnée dans la narration est celle qui correspond à celle que tu aurais lue? Enfin, je sais pas
ce qui est très important dans cette histoire-là,
tu as tout à fait résumé
le conteur, c'est la qualité du conteur,
voilà.
La personne qui te raconte une
autant
histoire.
Autant Gérard Philippe quand il
exemple
quand
Guillaume Gallienne sur Inter,
voilà. Exactement.
Voilà, ça marche super bien. Quoi.
Magnifique. Par moi exemple, j'ai le podcast, je suis fan.
C'est cet esprit-là. C'est-à-dire que
putain, pour un coup, j'allais
dire sur les histoires que j'ai pu lire de Lovecraft, il y a deux conteurs qui sont plutôt bien. Et il y en a un, franchement, j'ai écouté 3 minutes.
Il te lasse.
Non, mais c'est même pas ça lasse. J'avais l'impression d'entendre les directives de mon GPS.
Ah,
c'est-à-dire
merde.
Que, au niveau de l'intonation, le
côté ça
a mais peut-être
mec,
c'était
alors.
Ton GPS, t'as pas fait gaffe.
T'as pas pris la fille.
Par contre, si vous avez l'occasion d'écouter les histoires de Lovecraft racontées par Jean-Luc Fischer, que je ne connaissais pas, mais qui, à maintenant de l'avoir découvert, je trouve que sa voix se prête totalement à l'univers de Lovecraft. Il a une voix un petit peu rauque, un petit peu à la Dussolier, mais un petit peu, une voix un peu chaude, hein, profonde, avec un côté un peu inquiétant, et qui colle vraiment avec l'ambiance. Par contre, il y en a d'autres, j'ai pas retenu le nom, mais l'autre, c'est pas possible, quoi.
Une question. Est-ce qu'ils mettent de la musique?
De temps en temps, tu peux avoir des...
D'ambiance. Bah, je sais pas,
non,
c'est pour ça que
non,
je demande,
ça peut jouer un bruit de tonnerre dans un moment qui colle bien, juste pour passer entre les chapitres, une petite musique d'ambiance, etc. Et ça te fait vraiment un univers. D'accord. Après, on n'y adhère pas. Moi, ça me permet de rattraper un petit peu mon retard sur certaines œuvres que je sais que finalement...
Je rebondis sur ce que tu es en train de dire. En fait, ça, tout dépend de la qualité d'intonation, comme un bon acteur.
Narrateur,
et tu as des très bons narrateurs. Moi, le livre audio, en voiture, j'ai essayé, j'ai du mal parce que quand c'est trop captif, c'est hyper dangereux.
Oui. Moi aussi, je sais.
Et on se laisse envahir.
Embarquer,
et,
ouais.
Par contre, j'aime bien de temps en temps, effectivement, quand j'ai du temps et que je vais être un peu plus cosy chez moi, t'éteins la lumière, t'écoutes le truc. Si c'est bien fait, c'est extra. Et t'as des très bons acteurs, notamment, moi, je pense à Bernard Giraudot, qui a compté Harry Potter en livre audio, ou Gabin, qui a fait à l'époque une diction comme a pu le faire Gérard Philippe sur Le Petit Prince. Lui, il l'a fait sur 20 minutes sous les mers.
Moi, je voulais
c'est absolument captif, quoi.
Danny Boone pour les romans Harlequin aussi, il était très bon.
La Ferrari rouge.
Voilà.
je rebondis sur ce que dit Mickaël. Parce que moi j'ai essayé effectivement une nouvelle de Lovecraft, L'appel de Cthulhu, en voiture.
Là
ouais.
Alors par contre, t'es tombé sur Cthulhu, c'est voilà. Celui-là par exemple, c'est ça le problème. Exemple, c'est ce que j'avais noté. Problème de diction qui peut te faire arrêter
alors,
complètement le
moi,
truc.
Par contre, moi, mon problème que j'avais, voilà, alors bon, il y a un problème de diction, bon, j'étais. Mais c'est surtout que là où je te rejoins, c'est qu'en fait, quand je rentre dans un truc, je rentre dedans. Non mais je suis captif.
Ah oui, non mais toi,
le problème c'est quand
ça, je rentre dedans. Ça, je vais vous le dire. Ça, je vous le garantis.
Quand je rentre dedans, je tamponne jusqu'au bout, quoi. J'y vais. Hein.
C'est pas faux.
On m'appelle pas le vérin italien pour rien. Donc, bref.
L'homme poutre.
Poutreman.
Roy la poutre.
Roy la poutre. Ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, autant un podcast, pour moi, c'est assez facile. C'est-à-dire que tu as des interventions, ça coupe. Donc, du coup, il y a un feu rouge, machin. Le roman, moi, quand je suis dans un bouquin, je suis dans le bouquin. Et c'est. Pour moi, c'est difficilement compatible avec la conduite en bagnole. Pour moi, j'ai juste voilà. Soit je suis complètement dedans, sinon le problème.
Ça c'est propre à l'homme. L'homme est monotache.
Encore que je te dis ça, juste tu m'avais fait découvrir, comment Nico m'avait fait découvrir un c'était pas un roman d'ailleurs, c'était plutôt une fiction en audiorama,
Poséidome,
parenthèse Poséidome, qui m'avait vraiment totalement embarqué, qui est un truc absolument fabuleux, qui peut se rapprocher par peut-être par certains aspects du livre audio, mais peut-être plus de mise en scène peut-être.
Enfin voilà, je voulais juste échanger avec vous sur mes dernières expériences alternatives, je dirais, au papier, même si ça reste quand même un format qui me plaît bien. Je rejette pas tout en bloc.
En gros, ce que tu nous as dit, c'est que t'es pas contre ni sur la liseuse ni sur le livre. Donc
moi, je veux dire, j'ai un peu l'esprit de Michael, c'est-à-dire peu importe un petit peu la façon dont on lit, dont on découvre, dont on sculpte. C'est voilà.
L'important, c'est de lire.
Exactement. Voilà.
Ou découvrir. Il faut lire.
Voilà.
Il faut lire.
Oui, je n'en dirai pas plus.
Il faut lire.
Je propose de passer à la suite avec Didouille.
Sometimes when the rain falls, I think of you. It gives me this peaceful feeling. It's true.
Donc en fait, Nico a dit que c'était autour de Didouille. Bah, en fait, normalement, c'est mon tour parce que c'est la rubrique Starlet à tester pour vous. Mais j'étais vraiment en panne d'inspiration. Donc merci notamment à Monsieur Obi encore qui m'a donné plein d'idées, mais un peu tard. Et honnêtement, c'était pas des idées très... comment dire voir les réactions des gens, machin, en trimballant en supermarché nu, etc. Merci beaucoup, monsieur Obi. Voilà, je m'attellerai à trouver autre chose pour le mois prochain. Là, donc, du coup, j'ai refilé ma chronique à Didouille, qui a quelque chose d'intéressant à nous présenter. C'est à toi, Didouille ! Ouais ! Alors, alors, avant que Ludo ne mette le décor en vrac, voilà, juste, nous avons testé l'Audace, donc restaurant qui se trouve à Rouen, derrière l'ancien Palais des Congrès. Donc, vous avez rue des Carmes, c'est une rue perpendiculaire. Et c'est un resto dont on parle très souvent. Alors, il n'y a pas très longtemps, parce qu'il est c'est nouveau, qui est... qui propose donc soit un menu à la carte très court, soit un menu en 4 services ou en 6 services, c'est ce qu'on appelle le menu dégustation. Et c'est Olivier da Silva qui officie dans les cuisines de ce restaurant. Alors nous y sommes allés parce que nous avions entendu le qu'en dira-t-on à propos de ce restaurant. Il y avait eu l'Origine qui était venue et qui a reçu déjà une étoile au Michelin. Donc on s'est dit tiens, on va aller voir celui-ci parce qu'on a quand même mis un petit peu plus d'un mois avant d'avoir une table. Donc on s'est dit, donc allons-y. Il faut savoir que dans ce restaurant, il n'y a que 24 couverts. Donc ça explique aussi le pourquoi de l'attente au niveau des réservations. Mais pas seulement. Je peux vous assurer qu'on a passé un excellent moment avec Ludo. Alors tout le monde sait, ou pas encore. Mais moi j'adore l'étape gastronomique. Et celui-ci, franchement, j'ai découvert une gastronomie efficace, audacieuse, douce. Alors, je sais pas si l'audace vient de ce nom-là.
Il serait pas étoilé, ce monsieur, là?
Alors, il est pas encore, alors, je suis allée sur Michelin parce que tout le monde m'a dit, il a une étoile. Mais pour moi, il n'a pas une étoile. Par contre, c'est une table à faire encore à Michelin. Il n'est pas encore étoilé. Et, honnêtement.
Audace, c'est O-D-A-S.
O-D-A-S. O-D-A-S. Oui. Oui, oui. Attention, parce que quand vous tapez audace, on le trouve pas forcément tout de suite, hein. Alors, voilà, si vous allez sur le guide Michelin sur internet, vous allez l'avoir de toute façon, parce qu'il est dans les tables à faire et au niveau des avis, ils sont dit tyrambiques, qu'il a pratiquement 4,75 sur 15 sur 5 au niveau des avis, pardon.
Ouais, c'est pas mal.
Oui, ça faisait peu sinon. Et donc avec Ludo, que cela ne tienne, nous avons pris le menu en 6 services, car dans le menu en 6 services, on a 3 entrées, 2 plats et un dessert. Sachant que comme c'est un menu dégustation, vous avez cela en proportion raisonnable, de façon à ce que vous puissiez enquiller. Voilà.
Avec ou sans boisson?
Alors sans boisson, par contre j'ai pris l'accord mets vins. Parce que d'accord. Quand on dit tu choisis un menu en 4 ou 6 services, on ne sait pas ce que c'est.
Voilà.
Ils te laissent porter. Soit tu te laisses porter totalement, soit... bon. Donc moi j'ai dit, je prends l'accord mets vins, 3 verres, pas le 5 verres, parce qu'il y a 3 verres ou 5 verres. Hein. Mais on n'est pas dans les mêmes tarifs. Hein. En général, ils se rattrapent sur les cartes des vins. Et donc on a pris 3 verres, même si on avait une petite coupette quand même, hein, à l'apéro. Voilà, c'est très bien. Alors juste pour vous dire que voilà, foie gras, vous allez me dire c'est surfait machin. Reste qu'avec de la rhubarbe, c'est la première fois que je goûtais ça, c'était divin. Ensuite on a eu un carpaccio
de mulet pressé de citron et émincé fraise. Et puis après, on a eu... Alors ça, c'était une tuerie. On a eu des Saint-Jacques snack et jambon de Parme avec une purée de chou-fleur, une émulsion de bouillon. Enfin, voilà, je vous montre la photo. C'était juste dire. Après, on a eu du bar cuit sur la peau avec une émulsion de sauce hollandaise.
C'était une bar cuite sur la peau. Alors, il n'y avait pas le prépuce, il l'avait enlevé.
Ludo,
hein,
juste un bar sur la peau. Ludo, parle-en. Parle-en parce que ça t'a scotché.
Bah, c'était très bon.
Non, ça.
C'était pas cher, mais monsieur connaît mes goûts.
Il m'énerve. Ouais, moi j'abandonne.
Et juste une précision, il s'agit bien d'un chef étoilé. Hein.
Il est étoilé.
Il avait eu l'étoile Michelin dans son restaurant précédent.
Jardin
des Piqûres dans le Val d'Oise.
Voilà. Dans le Val d'Oise, voilà. Pour l'instant, à Rouen, il l'a pas encore.
Quand je disais le chef étoilé, il est lui-même étoilé.
Donc je vais vous. Ouais, sauf que quand tu changes d'établissement.
Oui, je sais
tu
bien.
Tu vas refaire tes preuves. Non, mais c'est la dure loi du Michelin. Hein. Voilà. Tiens, Ludo, vas-y. Vu qu'il me coupe la parole, il va y aller. Non, parce qu'on n'a pas fini les plats. Et on a parlé du Black Angus. Ce bœuf. Bon, j'arrête.
Mais on continue, c'est vachement intéressant.
Mais le Black Angus, qu'est-ce à dire? Mais je ne le dirai pas. Vous allez sur Wikipédia pour regarder, puisque c'est...
Le Black Angus, c'est viande de bœuf. C'est l'un des bœufs. C'est une des meilleures viandes de bœuf au monde, semble-t-il, à ce qu'on nous raconte.
Est-ce que c'est meilleur que le bœuf de Kobe?
Je ne sais pas, je ne connais pas le bœuf de Kobe.
Ah.
On n'a pas déjà eu cette discussion?
Je ne sais pas te dire.
J'ai déjà vu. Alors.
Kobe, c'est au Japon, non?
Oui.
Oui.
Il est radioactif.
Un bœuf nourri à l'alcool. Ouais, aux hormones. À l'alcool au saké, je crois.
D'accord. En tout cas, le Black Angus, je...
Pardon.
Oh, yeah, yeah. Mais non, il y a un bœuf aussi qui est nourri sur ses derniers jours de vie, qui est nourri au cidre.
Ah bon?
C'est tout nouveau. Ils en font 4 par an.
Si tant que j'ai soulevé un problème là.
Non, mais c'est justement pour reproduire le bœuf de Kobe. C'est pour ça que je me demandais si le Black Angus c'était la même chose. Mais...
J'en ai pas les masses des questions, mais des fois.
Des fois, tu devrais te taire.
Bon, on passe à autre chose?
On passe à la suite avec
le quiz.
C'est
un bœuf américain, le Black Angus.
Mais sinon, c'est vrai que ça donne envie d'y aller à ton
petit restaurant. Non, mais vous n'irez pas. Parce que, c'est pas grave, nous, on y est allé, on a adoré. Hein. Après, vous y allez pas.
Vous avez payé combien?
Alors, le Black Angus, c'est quoi?
C'est une viande de bœuf. Enfin, c'est un bœuf américain.
Vous avez payé combien?
Dont la viande est très réputée pour son goût, en fait.
En plus, nous, ils nous l'avaient fumé dernière minute. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans un fumoir. C'était juste divin. Bref,
alors, le prix pour deux personnes, en gros.
Ce qu'on peut te dire, c'est qu'un menu en 4 services, c'est 45 euros. Et le menu en 6 services, il est à 65 euros. Voilà.
Oui.
Bah voilà, merci.
Pas cher.
C'est
pas cher.
Bah pour tout ce que tu bouffes et la qualité. Alors,
ça commence à faire.
Puis tu connais nos goûts en plus.
Juste, la salle, elle est très intimiste. C'est très épuré au niveau des lignes. Noir, taupe, des fauteuils en velours. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est que vous avez une grande baie vitrée.
Allez,
et vous voyez
quiz.
Les cuisiniers qui savent faire au piano. Et moi, personnellement, j'adore.
Ce qui
te regarde, ils sont à fond.
Il y a de la musique.
Ils jouaient la cuisine debout.
Bref,
allez, c'est parti.
Allez, je propose à Freddy d'enchaîner un peu plus de sérieux.
It's time for the quiz.
Un petit quiz, ça vous dit?
Allons-y.
Oui.
Oui. Bon, devant l'engouement
général.
C'est
quoi le thème?
Eh ben, c'est un thème en lien avec notre invité.
Les
évidemment.
Livres.
Et moi, j'ai pas le droit de répondre.
Alors, tu nous aides,
Mickaël.
Ah oui. On fait appel à toi si l'ensemble des participants ne sont pas capables.
Sachant que je suis en tête, donc.
Allez, première question. En 2013, ils étaient 217 pour 900 boîtes environ. Ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. De qui je parle?
Boîte de quoi?
C'est la question. En 2013, ils étaient 217. On en comptait déjà 200 lors de l'exposition universelle de Paris, début du XXe siècle.
Mais en 1900 alors? Non. Bah, l'expo universelle de Paris, c'est 1900.
Tout à fait.
Les immortels, non?
En 2013, ils étaient 217.
Exposants.
On peut dire que ce sont des exposants.
Les exposants à la foire de Rouen?
Des bouquinistes.
Non. Les bouquinistes.
De livres antiques.
Non, enfin, vous avez la réponse tous les deux, hein, Didouille et Nico.
T'as dit quoi, Nico?
J'ai dit bouquinistes de Rouen.
De Paris, pardon.
De Paris.
Ah, d'accord.
Ouais, bah, c'est moi, j'ai dit.
Alors, on accorde le point à Didouille. Bah, oui, oui. Et c'est, enfin, il s'agit fois, des bouquinistes de Paris qu'on trouve le quai, sur le quai du Louvre.
Oui, d'accord.
Vous voyez de quoi je parlais. Combien tu dis 217
217. Et les boîtes.
200 boîtes, c'est quoi les boîtes? C'était les boîtes qui avaient le long de la scène.
Exactement.
C'est les trucs verts, tu sais.
Alors, point pour Didouille.
Non, non, mais j'accorde le demi-point avec. Parce que j'ai pas été assez précis.
La réponse, c'était bouquiniste.
C'est bon. Par contre, le mois dernier, que tu m'as niqué ma réponse, là, tu n'accordes pas le demi-point.
Sur quoi? Sur quoi?
Allez, deuxième question. Vous êtes prêts? Il a succédé cette année à Edmond Charles Roux en tant que président de l'Académie Goncourt. Ah merde, de qui s'agit-il?
Oh putain, pardon.
Putain, je l'ai sur le bout de la langue.
Très connu français.
Ah, très connu français.
Houellebecq.
Non.
Ah non.
Bon, je sais pas, j'essaye. Hein. À Goncourt en même temps.
Ouais, ouais. Essayez d'explorer quelques pistes, peut-être.
Est-ce qu'il est jeune?
Il a succédé.
Orsena.
Non, il a succédé cette année à Edmond Charles Roux, elle-même écrivain.
Est-ce qu'il est âgé?
En tant que
ou
président de l'Académie Goncourt.
Dormesson. Qu'est-ce que j'allais dire?
Dormesson.
Il est âgé, c'est pas Dormesson.
Ah, bah, il est âgé. Bon, Dormesson,
pourtant, c'était bien là. Non, âgé.
C'est Renaudot, Yann Moix.
Bon, Céline est mort.
Très, très âgé.
Quelqu'un d'incontournable dans le milieu de...
Patrick Poivre d'Arvor.
Henri Troya, lui, pareil, non. Il est cané.
Pivot. Proust,
ouais, Bernard Pivot. Point pour Didouille. C'est Bernard Pivot qui a succédé cette année à Edmond Charles Roux.
Oh, Didouille s'envole.
Oh, mais comme d'habitude.
Allez, question suivante. Sous quels autres noms connaît-on Roman Katsef?
Polanski.
Non.
Bon, j'essaye.
Roman, c'est une femme ou un homme?
C'est un homme. Roman Katsef.
Katsef? C'est un russe? Rien à voir.
Il est français?
Polonais.
Il y a un peu de tout ça. Mais je ne peux pas en dire trop, sinon c'est trop simple.
Écrivain.
Là encore, très connu. Je me tourne vers notre invité.
Écrivain.
Monsieur Reff, tu ne dis pas la réponse, mais peut-être tu l'as.
C'est un écrivain?
Oui, mais pas que.
Il est cinéaste?
Non.
Auteur de bande dessinée?
Non.
Chanteur?
Non, pas du tout. Il est vraiment connu.
Bah, tu dis pas
son
que...
travail d'écrivain, mais c'était pas sa fonction peut-être première.
Non.
Historien?
Non. Journaliste, il est journaliste.
Non. Un indice, c'est le seul à avoir reçu deux fois le prix Goncourt.
Ah merde. Sulitzer.
Non, Sulitzer.
Moi, je peux donner un indice.
Vas-y.
On pourrait dire qu'il est du signe du Gémeaux et qu'il est bicéphale.
Oh bah, il y a une kéfélec, bien sûr.
Non, il est breton, lui.
Très bon indice.
Gémeaux, bicéphale.
Ouais, il pourrait être du signe du Gémeaux.
Un indice.
Et il était marié à une très grande actrice.
Oh, Bernard-Henri Lévy.
Et ils ont fini leur vie de la même façon.
Et... il y a aussi un indice dans le prénom. Hein,
parce qu'il est mort, du coup.
Oui.
Romain Gary, non, c'est pas lui.
Oui, Romain Gary.
Romain Gary, Émile Ajar.
J'ai demandé.
Émile Ajar, oui.
Et un point pour l'invité.
Il était mari de Jeanne Seberg.
Donc, Roman Katsef, c'est en fait Romain Gary et Émile Ajar.
C'est
la même personne.
C'est le mari de Jeanne Seberg.
Non, c'est Roman Katsef et il vient de Russie. C'est pour ça que je ne pouvais pas te dire non, parce qu'il
est... Ah, pour moi,
il est originaire de Russie. Il est russe.
D'accord.
Alors, question suivante. Alors, un peu plus léger, peut-être un peu plus de votre niveau aussi.
Ça.
À retrouver dans cet hebdomadaire cette semaine, au sommaire donc, 20 000 monstres sous les mers, un poster d'Amel Bent, ou encore 10 super énigmes pour tester ton flair.
Quoi?
Je comprends pas ta question. Et alors, c'est quoi le truc?
Là, bah, il faut trouver de quel hebdomadaire on parle.
Redis tout ça.
Donc, au sommaire...
Pif!
Attends.
Au sommaire, 20 000 monstres sous les mers... un poster d'Amel Bent, ou encore 10 super énigmes
Popstar.
Pour tester ton plaisir.
Le journal de Mickey.
Jolie.
Le journal de Mickey, bonne réponse de Ludo.
Oh là, je suis imbattable là-dessus.
Allez, question suivante. Qui est Marcel Marlier?
Proust.
C'est quelqu'un de très connu. Peut-être...
Il est mort ou il est vivant?
Peut-être on trouve ça chez Monsieur Rêve.
Il est vivant ou il est mort?
Il est vivant.
Il est vivant. Voilà.
Connu? Français?
On connaît beaucoup son travail.
C'est un
français? Carnet?
C'est un auteur de romans?
On peut pas dire ça, non.
Non. D'accord. Un cinéaste?
Non plus. On reste dans le thème de la journée. Ah, oui. Alors, je vais vous dire son métier. Peut-être ce sera plus simple pour vous. Il était illustrateur. Marcel Marlier.
Et on veut savoir quel est son nom?
Il est vraiment connu pour illustrer une série de livres.
Ah oui, d'accord.
Arlequin.
Le Club des Cinq.
Non, mais on se rapproche un peu là.
C'est pas le cas
de la bibliothèque verte.
De SAS.
Non, mais on se rapproche encore.
Le gars qui faisait des coups de trucs.
Les scouts sur les scouts.
Signe de piste, non.
Non, non. Une série très connue de livres.
Que j'ai lu moi par exemple quand j'étais petite.
Ah, certainement.
Ah, Martine,
l'illustrateur de Martine. Bonne réponse de Ludo.
Moi je les ai tous.
Bien. Bonne réponse de Ludo.
Mais oui, avec le petit chien là, tu sais le petit chien là.
Ouais, je voyais toujours sa culotte. Patapouf.
Allez, question suivante.
Non, ça c'était Caroline.
Caroline, c'est Patapouf, t'as raison.
Voilà.
Le chien, c'était comment le chien de Martine?
Ah non, Martine, c'est Patapouf. Attends, t'es devant toi quelqu'un. Ah bah oui.
Alors, c'est pas Caroline qui avait un chien.
Elle avait un chien, mais il s'appelait pas Patapouf. Patapouf, c'est Martine.
On y va. Question suivante.
J'ai trois points là.
Vous savez
Caroline, c'était une tortue.
C'était dans Boulébile. C'est dans Boulébile.
Oui, c'est vrai.
Vous savez que chez Monsieur Rêve, on trouve aussi des DVD. Je me trompe pas. Mais que signifient les lettres DVD?
Digital Versatile Disc.
Allez, un point pour Nico, un point pour Ludo.
Là, il y a des gros geeks. Hein.
Un point chacun. Bravo, je savais pas que.
Et je suis à combien de points,
moi? Je pensais pas qu'on trouverait si facilement.
Comme au début.
C'est énorme. Allez, question suivante. De quel écrivain célèbre est la citation suivante? Le doigt de Dieu se fourre partout.
Ludovic Fro. C'est bien.
Cavana.
Des proches.
Non, non, un écrivain célèbre, un classique.
Oscar Wilde.
Non. Marquis de Sade.
Victor Hugo.
Non.
Pierre Louis.
Non.
Français.
Français, oui, plus célèbre.
Auteur érotique ou
Baudelaire.
Pas que.
Rimbaud.
Pas que.
Flaubert. Flaubert.
C'est Flaubert. Bonne réponse de Marius.
Regardez Marius. Je te jure.
Pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir trouvé?
Flaubert, j'ai tout lu. Flaubert.
Regarde.
Et de toute façon, c'est pas écrit.
C'était Mickaël qui lui a dit.
Pas du tout. J'étais là, j'ai rien entendu.
C'est Mickaël qui lui a dit.
Non, moi, j'ai un casque sur l'oreille, j'ai rien entendu.
Moi, menteur.
Bonne réponse de Marius.
C'est le premier bouquin qu'il a fait. Il n'était pas spécialement connu.
On peut encore jouer.
Reste une question.
Flaubert a écrit ça, nom de Dieu.
Elle a écrit des trucs très
dans le dictionnaire des idées reçues. Oui, allez, dernière question. Sous quel autre nom connaît-on Amantine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant?
Comtesse de Ségur.
C'est ce que j'allais dire.
Non.
Ah merde.
C'est pas ce que j'allais dire, en fait.
Française.
Simone de Beauvoir.
Non.
C'est français ou pas?
Oui.
Redis son nom, voir.
Amantine Aurore Lucille
Madame Bovary.
Dupin.
François Sagan.
Colette.
Baronne du Devant.
Non, c'est ça. Baronne du Devant.
Colette. Ça aurait pu, oui.
Non, ce n'est pas.
Donc elle est morte?
Oui.
Oui, depuis longtemps.
Oh, un petit moment.
Elle est dans l'état de décomposition.
Elle est connue pour ses romans.
Est-ce que quelqu'un l'a mangé après?
Duras.
Non, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Hein.
Extrêmement mort. Contemporaine ou classique?
Classique. Mais pas du Moyen-Âge non plus.
La comtesse d'accord. De Clay, non, ça c'est le bouquin, ça. Comment elle s'appelait la nana?
George Sand.
George Sand. Ah, ouais. Bonne réponse de Starlet.
Non, tu t'es. Yeah. Ah ouais?
Amantine.
Ah, c'est l'époque
Aurore,
des romans
Lucille,
alors.
Dupin, baronne du
oui,
Devant.
Oui, tu sais, c'était le truc.
C'était une sacrée déconneuse. Hein.
Et bravo, c'est qui la bonne réponse. Donc, peut-être que maintenant on peut faire un petit point.
Ah, ben
sur
là je suis l'un derrière. Hein. J'ai alors, perdu des places. Ça.
Eh oui, Ludo et Mister Lulu est passé en tête. Assez facilement en tête, avec 12 points et demi.
Fucking yeah!
Devant Didouille, qui est à 11 points. Ça se tient encore.
Ça va.
Ça se tient toujours. Ensuite, à égalité. Non, pas à égalité. Starlet passe avec 6 points. Christophe et moi-même sommes à 5 points. Et Marius arrive à 3 points et nous rejoint.
Je ne prends pas le point. C'était un point. Je préfère avoir des vrais points qu'on.
Mais non,
ah, jamais.
C'est de bon cœur.
Ils sont coupables.
C'est de bon cœur.
Michael, donc tu l'as aidé alors.
Ah,
ah bah,
aidé.
Alors voilà, il dénonce. C'est pas bien ça. C'est pas bien.
C'est pas de la franche camaraderie.
Ah ouais, c'est cool. C'est
ouais,
pas...
mais je sais pas, cas, je me sens un peu comme.
Merci Freddy parce que je pense qu'on a appris pas mal de choses. Je suis pas sûr de tous les retenir.
Non, surtout George Sand. Pour moi, George Sand, c'était George Sand. Ça vous dire un peu comme l'an je suis limité.
Jean-Paul
hein,
mais... Sartre.
Vous allez tous maintenant avoir l'occasion de vous exprimer, mais en une minute, pas une de plus, puisque c'est le moment des 60 secondes chrono. Et pour commencer, bah, puisque c'est le premier à avoir rempli, c'est Marius.
Oh,
par exemple,
super.
Tiens, on va suivre l'ordre du conducteur.
Oh, ça mérite un point, ça.
Attention, c'est parti.
Alors, je vais commencer par un quiz. Alors, qui chante?
Personne.
Personne ne sait.
Paul, personne.
Est-ce que c'est un prénom?
Alors, le, ouais,
c'est est-ce que c'est le nom d'un saint?
Non, ça finit en off.
C'est Sébastien.
Écoutez, chut. Est-ce que c'est un prénom? Non, donc quelqu'un autour de cette table elle-même
à la femme de Dutronc, en fait. Tu sais comment elle s'appelle?
Oh, c'est Christophe. Ouais. Ça ressemble à Christophe.
Ouais, mais hein. Écoute la voix. Il y a un arrière, on croirait Françoise Hardy qui chante. Écoutez-moi ça.
On écoute.
Écoutez.
On écoute.
Écoutez.
On dirait Françoise Hardy, c'est étonnant.
Un petit peu quand même. Enfin voilà, j'ai trouvé ça encore sur Deezer, formidable Deezer. Et donc Cascadeur, je connais pas du tout le groupe.
T'as pas écouté Marc et Christophe qu'on a parlé en
coup de cœur
à l'épisode précédent.
J'ai demandé où.
T'étais où à l'épisode précédent?
C'était chez toi. Ça fait plaisir.
Moi j'avais marre de bosser avec une bande d'amateurs.
Mais c'est pas l'anniversaire de l'autre.
Donc c'est ton coup de cœur, Marius, c'est ça?
C'est mon coup de cœur.
Ah la bite, c'est terminé.
C'était vraiment sympa.
Ah là, oui, hein, c'était bien.
Moi j'adore cette émission en fait.
Sacrée découverte.
Mais t'as pas parlé de Christophe dans Cascadeur?
Non, moi j'ai parlé de l'album. De l'album original de Cascadeur.
Ouais, mais t'as pas parlé qu'il y avait Christophe. T'as pas dit. Donc je rapporte quand même une petite parenthèse à ton.
Je propose donc, bah là maintenant, c'est à Mister Lulu de lancer le truc. Christophe, are you ready? C'est parti.
Oui, un petit coup de cœur tout récent. J'ai eu l'occasion de découvrir Rush, le film de Ron Howard. C'est d'autant plus un coup de cœur pour moi que je suis complètement étranger à tout ce qui tourne autour de la compétition automobile, les courses de Formule 1, etc., etc. Mais le film, est, je le conseille vraiment parce que au-delà de la de l'univers de la Formule 1, le film décrit en fait un duel titanesque entre deux stars, on va dire, de la compétition automobile, Niki Lauda et James Hunt, et décrit sur l'année 76, sur le championnat 76, donc en fait cette compétition et notamment l'accident qui va valoir l'accident de Niki Lauda sur cette saison-là. Et franchement, c'est un film extrêmement fort, très prenant et qui pour une fois n'est pas caricatural. S'il y a bien un film sur une course automobile qui réussit, c'est bien celui-là. On en sort captivé de bout en bout. Et pourtant, je vous dis, au départ, j'étais pas spécialement client. Je vous le conseille vivement.
Je pense qu'on arrive à la fin.
Quasiment. Ouais, voilà.
Parfait. Bravo.
Quel timing parfait.
Là, c'est bon, c'est pro, c'est nickel, tout va bien.
Je propose dans la foulée à Monsieur Freddy de nous présenter son coup de cœur.
Allons-y avec le morceau qui va avec, s'il vous plaît. Alors moi je vous présente Kit Francescoli, le dernier album. Vous voyez Christophe Maé un petit peu?
J'aime beaucoup Christophe
Maé. Bon, rien à voir. Là l'album s'appelle With Julia, c'est une ritournelle électropop. Un son cousin de ce produit par Air, DJ Shadow, Basement Jax, si vous voyez un petit peu l'environnement. De très très bons morceaux comme Prince Vince, que l'on écoute actuellement, ou encore Blow Up, c'est le morceau qui ouvre l'album. Il est accompagné d'un superbe clip que je vous conseille d'aller voir, vraiment tourné façon cinéma. With Julia, c'est la rencontre amoureuse de Kit Francescoli, un artiste marseillais, et Julia Mink, qui est une chanteuse américaine qu'il a rencontrée aux États-Unis. Et visiblement, l'amour, ça inspire. Allez, je vous laisse avec Prince Vince de Kit Francescoli.
Ça me fait penser un peu à Rodrigo et Gabriella. Dans le rythme.
Ça fait penser à plein de choses quand tu écoutes bien.
Tu l'avais fait.
Il y a deux trucs.
Je vous invite à aller lire le billet de Freddy, d'ailleurs,
oui,
sur ce sujet, sur son blog. Du son la joie, on mettra le lien. Consacré à cet artiste. Eh bien, Christophe, je crois que tu as une surprise pour nous, parce que personne n'est au courant. De quoi vas-tu donc nous parler?
Alors, je vais encore parler de musique. Malheureusement, ce ne sera pas illustré par un fond sonore, parce que c'est un groupe normand, donc dont j'ai envie de défendre la créativité et tout un tas de choses qui seraient un peu difficiles à expliquer. Toujours est-il, c'est que hier, j'ai eu l'occasion d'assister à une de leurs séances de travail sur le mixage. Ils vont sortir un album fin mai. Je pense que ce groupe va faire un sacré tabac. Ça s'appelle Kenkyu. quatre musiciens, une chanteuse. Surveillez bien à la fin du mois de mai. Vous allez avoir de très très grosses surprises. C'est un groupe qui va cartonner.
Je suis très impatiente de les écouter.
Je connais pas du tout.
Eh ben, tu vas découvrir très très bientôt Kenkyu. Retenez bien ce nom.
Ouh, est-ce qu'il joue à
Il joue.
Est-ce qu'il joue?
Eh ben, écoute, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, très prochainement. Ça y est, au bout d'une minute, c'est parti. Didouille, c'est parti.
Go.
Alors moi, comme je suis allée à Londres, je voulais vous parler d'un blog d'une demoiselle qui s'appelle voilalondres.com. Alors je vous invite à y aller si jamais vous avez l'envie d'aller à Londres. Allez sur son blog parce qu'elle est très très bon conseil. Elle vous donne en plus toutes les prestations qui ont lieu dans le mois. Donc si vous voulez découvrir des choses, ben passez par elle. Et j'ai un deuxième coup de cœur, ça s'appelle Lloyd Charmers. Je l'ai écouté hier en regardant l'émission Trax. C'était un vinyle, ça date des années 70 et j'ai pensé à Christophe. Voilà, je vous laisse écouter. Et d'accord, Nico, il n'a pas lu le conducteur que j'avais pour une fois rempli. Et il y avait le lien. Merci, si, Nico.
Je le retrouve pas.
Dommage.
Si, ah bah alors là, c'est la Schumann. C'est un artiste d'origine jamaïcaine et qui s'est fait connaître, qui était produit. Non, franchement, c'est super beau ce qu'il fait. Enfin, moi, c'est du reggae que j'aime bien, ça, par contre. Voilà.
Bon, bah dommage.
Ah putain, j'avais fait en sorte de faire ma 60 minutes chrono pour en présenter deux. Bravo, merci. Bonjour la France, 20 sur 20.
En fait, tout ce que t'as fait ce soir, c'était naze.
C'est ça. En gros, aujourd'hui, j'ai moi la loose.
Non, mais là, elle trahit par la technique, encore une fois. Bon, l'électronique. L'électronique.
Ouais, mais là, du coup, on l'entend pas.
Je sais pas, je me sens moins seul ce soir. Je me sens nettement moins seul.
Non, c'est un vieux truc des années 70. En plus, c'était bon.
Eh bien, je suis désolé, ma didouille. Maintenant, on va passer à un truc assez dramatique. Je passe la parole à Starlet pour parler de son coup de gueule, je crois.
Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule ce mois-ci. J'écoute la radio en voiture et là, ça fait à peu près 2 mois que je suis bousillée par le nouveau tube des Enfoirés.
Hein?
2014.
Il y a eu quoi?
Le tube 2014 des Enfoirés, donc qui s'appelle la chanson des bénévoles, qui me met mais hors de moi. Bon, déjà musicalement c'est très pauvre, mais ça c'est comme d'habitude. Et pour vous donner une petite idée, en fait, M. Pokora chante « Mes chaussures sont aussi pourries que celles des gens qui passent ici ». Tina Arena, je ne dis pas trop ce que je fais, l'humanité par ici c'est suspect, enfin c'est n'importe quoi. Le clip, en fait, on montre la clique des Enfoirés qui sont déguisés en gens ordinaires, chemise un peu râpée, boutonnée jusqu'en haut, machin. Ça met juste mal à l'aise, en fait, que ce soit des personnes comme ça qui ont un compte en banque blindée, qui chantent que eux, ils sont bénévoles, mais c'est vraiment un acte bienveillant, etc. Enfin,
c'est vraiment des enfoirés.
Mais oui, mais vous, clairement.
Je sais pas si tu.
Je suis pas d'accord, moi, j'adore Christophe Maé. Je trouve que c'est un mec super intègre, et franchement, tout ce qu'il signe, c'est
non,
bon.
Non, mais c'est un peu écœurant comme truc. Ouais, comme esprit, c'est que tant qu'il reprend.
Alors,
les
moi, je vais être plutôt mitigé. Alors qu'on remette en cause le contenu, ceci dit, c'était un mouvement qui est lancé par Coluche au départ, qui était censé n'exister que pendant une courte durée. Ça fait des années que ça existe.
Il faut différencier les Enfoirés des Restos du Cœur. Je pense que c'est deux choses différentes.
Je te parle de ce tube.
C'est ce que je te dis. Le contenu, après la forme, la mise en forme, après si tu prends le fond
après qu'ils fassent chanter des vrais bénévoles de terrain.
Mais là, ils se mettent en scène, c'est de la mise en scène.
Est-ce que tu crois qu'un vrai bénévole de terrain vendrait autant par rapport aux gens?
C'est d'autant plus des magots.
Mais je suis d'accord. Mais je dis.
M. Pokora est quand même Robin des Bois. Moi, je trouve que vous êtes un peu dur là.
C'est clair. Moi, je suis tout à fait d'accord avec.
Mais
toi.
Je m'inscris. Hein.
Je suis d'accord avec ce que tu dis.
Non, mais tant qu'il reprenait du Goldman, des trucs comme ça, je dis pas.
Ça pourrait faire l'objet d'un prochain débat.
Qui a écrit cette chanson? T'as été voir? C'est Goldman.
C'est
Goldman.
C'est pas ça. C'est pas ça le succès. C'est le fond du truc où tu les vois en disant, en gros, c'est nous qui. Je suis d'accord qu'elle soit un hommage aux vrais bénévoles, mais c'est quand même eux qui se mettent en scène. On pourrait juste mettre des images de bénévoles.
Oui,
mais c'est eux qui se mettent en scène comme s'ils étaient des bénévoles.
J'ai bien compris.
Et ça, c'est
déguisé, quoi.
C'est un peu fourbe.
Mais ils sont bénévoles.
Ouais, bien sûr.
Ils sont bénévoles dans leur tête, dans leur façon de faire. Ils font ça, c'est pour aider les gens.
Tous les has-beens qui continuent d'exister à travers ça, c'est ça qui me dégoûte aussi. Mmh. Il y en a beaucoup qui font. Tu te demandes s'ils font pas ça juste pour continuer d'exister. Mais bon, ça, c'est mon
côté. Et donc, la petite phrase qui résume bien, je trouve, l'action des Enfoirés People. C'est des millionnaires qui demandent à des smicards de donner de l'argent à des RMistes.
Ouais.
Ça m'écœure un peu.
Voilà. Autant c'était pas forcément le cas jusqu'à présent, mais ce clip-là, je trouve, l'illustre bien cette phrase. Mais bon.
On va pas se faire des amis.
C'est pas grave, on est pour ça.
Non, mais
on est là pour partager.
La dernière phrase est significative. Là.
Mais oui.
Je trouve qu'elle résume très bien les choses.
Voilà. Et on a eu quelques petits bugs techniques là sur les trucs. On va finir.
Parce qu'on a déjà un peu explosé le timing. Je vais moi-même, et puis on laissera à Mickaël l'occasion de parler.
Lulu, non ?
Lulu, t'es fait, toi ?
Ouais, j'étais pas là.
Donc, moi, ce sont deux ouvrages qui sont conseillés par des chroniques BD, que ce soit Le Move ou La Sélection Comique. Donc, deux émissions disponibles en podcast que je vous conseille vivement, vivement d'écouter. Donc, le premier, c'est La Grande Guerre, et plus particulièrement Le Premier Jour de la Bataille de la Somme, qui est reconstitué heure par heure par Joe Sacco. C'est un livre imagé qui a la particularité de n'avoir aucun texte et d'être constitué d'une fresque de près de 9 mètres de long. Alors, le seul bémol, ça pourrait être le prix, qui est de 25 euros tout de même. Mais c'est un bel objet qui est accompagné d'un livret assez documenté qui présente notamment le détail et l'explication planche par planche. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et le second, c'est Lucy Lloyd's Nightmare, une BD d'horreur à tendance gore, rappelant un peu Stephen King et les séries américaines du type des contes de la crypte. On a plusieurs histoires courtes qui sont a priori éditées comme une anthologie, mais qui se révèlent finalement toutes liées les unes aux autres avec une sorte de mise en abîme plutôt réussie. C'est très sympa, avec un dessin qui est très réussi également, mais c'est quand même réservé à un public averti. Et je pense que peut-être que parmi vous, certains le voudront. Pour finir, notre invité, honneur à notre invité, je ne sais pas si tu as un coup de cœur, un coup de gueule, quelque chose à partager avec nous.
Ah bah
de ce que tu nous as déjà
j'ai
dit.
J'ai plein de coups de cœur. Les coups de gueule, j'essaie de les éviter. D'accord. Mais le coup de cœur, ça serait peut-être le DVD le Blu-ray ou le DVD pour ceux qui ont, de le Congrès de Futurologie, qui est tiré d'un roman de Stanislas Lem, qui est plus connu pour ses livres, notamment Stalker et le Solaris. Voilà. Et donc, le Congrès de Futurologie, c'est avec Robin Wright. C'est un film qui est fabuleux, qui est complètement passé inaperçu. C'est un film de Harry Folman, celui qui avait fait Valse avec Bachir. Et en fait, ce film, il est absolument fabuleux parce qu'il est segmenté en deux. Une partie film traditionnel avec Robin Wright et une partie dessin animé, un petit peu à la façon des Beatles dans Yellow Submarine. Et l'histoire, c'est une femme qui est grande actrice et qui va céder ses droits à l'image à des grands studios et qui ne va plus avoir ce droit à l'image. Donc, on va pouvoir exploiter son image dans n'importe quel film. Et elle va être reléguée dans un monde pseudo-parallèle qui est ce monde de cartoon coloré et elle va essayer de revenir sur le devant de la scène. Voilà, c'est magnifique.
Bah, j'ai vu ce film, ouais, effectivement. Je l'ai pour ceux que ça intéresse.
Ouais. Tu nous prêteras le DVD. Ouais. merci, monsieur Rêve, pour ce coup de cœur. On mettra les références sur le billet du blog pour ceux qui veulent en savoir plus. Et qui voudrait se le procurer. Eh bien, en conclusion, je vous propose de faire un petit tour de table, donc, enfin, notamment auprès de notre invité, savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, tu as déjà un petit peu dit au fur et à mesure, mais un petit résumé de là où on peut te retrouver sur Internet ou même dans ta bibliothèque.
Alors, on peut me trouver de manière physique au Rêve de l'Escalier
IRL.
14. Voilà. Physiquement au Rêve de l'Escalier du lundi au samedi. On peut me retrouver de manière virtuelle sur Facebook, soit par la page du Rêve de l'Escalier, soit par la page de Monsieur Rêve. Et puis, on peut me retrouver à l'extérieur après ma journée de travail, puisque moi, j'aime bien me déplacer et découvrir plein de choses. Donc, soit on me retrouve dans les salles de spectacle comme le Trianon Transatlantique, l'Omnia, le 106, le Hangar, enfin, toutes les choses qui proposent des choses innovantes et nouvelles.
Écoute... On mettra toutes ces références également. Et puis, nous, pour tout le monde autour de la table, vous pouvez nous retrouver sur le site de l'Anthropode. Vous trouverez toutes les références pour nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, etc., etc. Mais peut-être que Monsieur Lulu a une nouvelle passion ce mois-ci à nous faire partager. On peut peut-être le retrouver quelque part en particulier. Nous t'écoutons.
Oui, on peut me retrouver à « Et si je te touche là, ça te fait quoi ?» .com.
Ah, écoute, encore tout un programme. Je pense que... Mais de toute façon, on va pas te quitter comme ça, Ludo, puisqu'après notre générique, tu vas nous enchanter, je pense, oui. Avec ta rubrique Fais gaffe, Patrick, t'es vachement au bord de la falaise.
Tout à fait.
Et encore un moment magique, un moment de rêve pour rester dans la thématique. Et puis, pour ma part, je vous remercie tous. Autour de la table.
Merci
aujourd'hui à tout le monde.
Merci à vous.
Et puis merci aux auditeurs qui nous ont écoutés, parce que visiblement, je pense que cet épisode va encore être très très long.
Très, très long.
On va être plus rigoureux et plus
sérieux. Mais on a des choses à dire.
Mais quand on a des choses à dire, le partage, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de limite.
De temps.
Donc on va continuer comme ça. Et puis on sera à l'écoute de. Si vous nous dites que c'est trop long, on essaiera de faire plus tard. Mais je pense que c'était
plus court.
C'était plutôt pas mal.
Pas plus tard, plus court.
Plutôt. Ouais, Au bout d'un moment, je fatigue. Là.
Mais donc, peut-être qu'on pourrait le faire plus tard pour qu'il soit plus court.
Je vais m'arrêter là et puis on va laisser la parole à Ludo après le générique de fin. A plus, salut.
Bonjour.
Eh bien, après une présentation d'un morceau au dernier épisode qui était d'une tristesse infinie, hein, je vous rappelle la fin du monde, on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger pour cette émission, puisque je souhaite rendre hommage à un de nos grands disparus beaucoup trop tôt. Il s'appelle Rissé Barrié et il est décédé, cet homme, le 20 mai 2011 à 78 ans. Mais il nous a quand même laissé un héritage magnifique, puisqu'il a écrit plusieurs, il a fait plusieurs albums, notamment il avait une chanson, enfin un album intéressant, Les Spermatozoïdes. Il a également fait Le cul de la patronne. Bref, que du bon. Et là, je vais vous proposer donc quelque chose d'assez bucolique, assez campagnard, puisque la chanson s'appelle Isabelle, v'là le printemps.
Isabelle, debout, là le printemps. Eh ben oui, te fais bon Dieu, là le printemps qui s'amène. Va falloir retourner aux gens, labourer, sarcler toute la semaine. Bon Dieu, le printemps c'est fatigant. Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Quand printemps vient, tire la ridelle, tout le monde au champ jusqu'au coucher. Oh ouais, vieux. Isabelle, faut que je ferme le cheval, amène l'enclume. Eh ben oui, le printemps dit que ça sent la rose, le lilas et puis le jasmin. Pour moi le printemps ça sent autre chose, puisqu'on sort la tonne à purin. Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Le printemps fait gonfler les mamelles, c'est celle des vaches qu'il faut tirer. Et Isabelle, tiens bon le taureau, j'amène Blanchette. Au printemps, on dit que les gamines à se mettre des robes claires à pompons. Je la vois, Isabelle en mousseline, en train de curer l'auge à cochon. Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Il n'y a plus de mâle, il n'y a plus de fumelles, quand le charançon il se met dans le blé. Isabelle, pousse un peu le tracteur, je suis embourbé. Eh ben oui, le blé jaunit, le printemps se termine, arrive le repos de la Saint-Jean. Les gars vont courir, les gamines, ils vont se faire des choses, les malounettes. Oh, on va faire la cour aux fumelles, puisque la Saint-Jean est revenue. Viens-t'en par là, mon Isabelle, on va rattraper le temps perdu. Et ben, vas-y, oui, je te fais un lieu.